Bonjour à tous et bienvenue sur le site du service après-vente de la F1 pour cette deuxième édition des SAV d'or. Nous allons donc vous présenter le palmarès 2010 avant d'ouvrir la saison 2011 du championnat de Formule 1. Et pour cela, pour m'accompagner dans cette deuxième édition des SAV d'or, je vais répéter SAV d'or tout le temps, pour m'accompagner dans cette édition des SAV d'or, je me rends compte en fait, Shinji, que j'ai perdu l'habitude, mais c'est pas grave. Pour m'accompagner dans ces, répétez tous en cœur, SAV d'or, je vous demande d'accueillir avec moi, à mes côtés, Shinji. Bonjour Shinji.
Merci. Bonjour Dino. Grande année quand même, faut le dire, que cette année 2010, hein, et on espère des grands SAV d'or.
Oui, c'est vrai. Mais nous avons déjà commencé avec un SAV d'or de prestige, parce que nous on fait pas les choses en petit, hein. On va tout de suite, on va garder.
On fait comme la NASCAR, on commence par le top.
Voilà. Et donc nous allons commencer avec un SAV d'or un peu spécial, puisque c'est le SAV d'or des auditeurs. Et cette année, nous avons décidé d'inviter un auditeur, de faire participer à un jeu qui consistait simplement à reconnaître les titres des magnifiques catégories que nous vous avions données. Il y avait 19 titres de films. Il a réussi à répondre correctement à 18 titres. Et là, il est dans les coulisses, hein, il est derrière les rideaux et il nous attend. Mm. Et on va le faire attendre si on est des gros crevards. En plus, on sait qu'il est occupé avec quelqu'un, non? Et donc, le représentant des auditeurs pour le SAV d'or des auditeurs, cet auditeur exceptionnel qui nous rejoint, n'est autre que...
Oui, Bûcheur.
Bienvenue, Bûcheur.
Bienvenue, Bûcheur.
Merci, bonsoir.
Wouh, Bûcheur,
Alors maintenant, Bûcheur, on veut savoir ce que tu faisais exactement...
Attends, j'avais entendu au fond, il disait, encore lui. Qui a dit ça?
Ah bah, mais tu as été le meilleur.
Oui, c'est vrai, t'as été très fort, hein. Il y avait vraiment aucune contestation sur ce coup-là.
Et si il y a des années comme ça, hein. L'an dernier c'était l'année de l'aubaine, cette année c'était l'année Bûcheur.
Ouais. Ouais. Alors Bûcheur, tu sais que tu as une charge très importante, tu dois attribuer, non seulement tu dois représenter les auditeurs, à toi tout seul.
Les millions d'auditeurs.
Mais en plus... Tu inaugures le palmarès.
Pas des trop.
Ah non, comme toute bonne cérémonie, il faut un président de cérémonie.
C'est vrai, il faut un président de cérémonie.
Voilà. Donc Bûcheur, si tu l'acceptes, nous voudrions que tu fasses office de président de cérémonie.
Je t'assurerai d'en être digne.
Voilà. Même si tu ne seras pas là tout le temps.
C'est juste deux phrases à dire, hein.
Oui, c'est vrai, hein. Mais tu ne seras pas là tout le temps
parce que... Oui, mais c'est pas grave.
Puisque, comme on a été victime d'un complot mondial.
Oui, c'est clair. À ce niveau, c'est mondial.
Qui fait que nous n'enregistrons pas dans les conditions habituelles dans lesquelles nous enregistrons, et il est actuellement 17h, après 3 heures de préparation quand même. Ben voilà, tu ne seras pas là pour toute l'émission, puisqu'on va être obligé d'enregistrer en plusieurs fois. Mais il y aura toujours un petit clin d'œil pour toi, Bûcheur.
Oui. Ouais. Tu seras toujours avec nous dans nos cœurs.
Ouais.
Ouais, c'est gentil, Shinji. Merci.
Quant à Fab, tu sais pas, enfin, on sait pas où tu seras avec Fab, mais tu seras quelque part.
Bûcheur, à toi l'honneur d'inaugurer cette cérémonie.
Et donc, je déclare solennellement la cérémonie des SAV d'or 2010 ouverte.
Le service après-vente de la F1 présente le SAV d'or des auditeurs.
Allez Bûcheur, montre-nous comment t'as bossé comme un gros dur.
Montre-nous comment t'as réfléchi pendant des semaines.
Il faut quand même préciser que Bûcheur a gagné, je lui ai envoyé un mail.
Ce matin.
Dans ce mail, il me dit, c'est quoi un SAV d'or des auditeurs déjà? Donc, j'ai dû m'expliquer hier ce que c'était qu'un SAV d'or des auditeurs, quand même.
Non, tu m'as envoyé le mail, moi j'étais en train de dormir.
Voilà, donc tu l'as
lu. Donc je l'ai eu que ce matin.
Voilà.
Et que, bien sûr, la journée était très simple à tous les points de vue. Hein.
Oui.
Je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer quelque chose. Puisque réunion, imprévu, neige, bouchon, on fait que... Voilà.
Ouais.
Mais vous allez voir mon talent en improvisation.
Oui. On attend que ça.
C'est là. Non, tu n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir m'enfoncer davantage.
Alors là, c'est pas bon.
J'ai une bonne bouée de secours.
Ouh, ah, il y aurait bien Fernando Alonso dans les nominations.
J'y ai pensé, mais je me suis dit, non, ça se fait trop plaisir à Dino. Je ne peux pas. Je ne savais pas la facilité.
Non, faut pas faire ça pour pas me faire plaisir.
Non, mais surtout que ça aurait été la session de facilité, j'avais deux mots à dire, Fernando Alonso, et tu partais dans un monologue des 10 minutes. Donc non, je vais le faire moi-même. Et donc, on a beaucoup parlé des têtes d'affiche, mais il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup parlé aussi, mine de rien, de par leurs prestations en piste et des répercussions qu'ils ont pu avoir, des rookies. Parce qu'on a eu quand même pas mal de rookies, pas forcément que dans les petites nouvelles écuries, mais faut pas oublier qu'on a eu Petrov chez Renault, on a eu Hülkenberg chez Williams, Kobayashi chez Sauber, un petit nouveau aussi Schumacher chez Mercedes.
Oui. Bah tout ça c'est que des écuries en déclin.
Oh oui.
Mais ça n'est pas quel point de vue. Si tu chez Renault, si tu es du point de vue Renault, c'est en déclin. Si tu es du point de vue Lotus, non, c'est en progression. Par exemple.
Ouais.
Donc voilà. Donc moi, je vous tenais à remettre ce SAV d'or aux rookies qui ont mine de rien participé à ce niveau d'excellence qu'on a eu cette saison, qui ont parfois semé un peu la zizanie au niveau du championnat de l'année, quoi. On pourrait parler notamment d'un certain russe à Abu Dhabi.
Oui.
Ou en Malaisie. C'est là que je prie encore. Ou en Malaisie. C'est là où on prie encore.
Le retour de coup droit.
Non. Donc je sais pas après si les autres auditeurs auront le même avis que moi, et à la limite je dirais j'espère que non, mais je vois j'ai pas la prétention de vouloir représenter tous les auditeurs, c'est mon point de vue personnel, et c'est vrai que c'est pour moi c'est un des éléments qui a marqué la saison en dehors de tous les autres qui font partie de la sélection officielle des SAV d'or.
Mais c'est vrai que t'es pas le seul, parce que par exemple je sais que Iceman Air m'a révélé son SAV d'or, et il s'agissait effectivement de Hülkenberg, qui est un rookie, pour des raisons un peu différentes des tiennes, mais bon globalement effectivement je pense que il y a pas mal d'auditeurs qui auraient sans doute pensé au rookie.
Bah, c'est vrai que Petrov, Hülkenberg, même Kobayashi. Kobayashi n'a fait que deux courses avant.
Oui. Mais voilà. Effectivement, Kobayashi a fait deux courses en 2009. On peut le considérer comme un rookie cette année. Il nous laissait présager du bon avec seulement deux courses en 2009. On peut dire honnêtement qu'il a concrétisé. Personnellement, si on m'avait obligé à remettre le SAV d'or à un des rookies, je pense que ça aurait été Kobayashi. Mais je préfère le remettre à l'ensemble des rookies, parce que voilà, c'est pour moi, ils ont quand même montré de bonnes choses. On a vu Hülkenberg, il a fait une position au Brésil. Et voilà. Et d'ailleurs, en plus, c'est un beau jour. Petrov on a la confirmation, il a signé deux années de plus chez Lotus Renault. Chez Lotus Renault. Donc, GP, il faut préciser lequel, en fait.
Oui,
c'est
oui. Lotus Renault. Lotus Renault ou Team Lotus.
Voilà.
Ouais, pour moi, c'est une bonne année de rookie. Déjà, on en a eu plusieurs cette année, ce qui n'est pas forcément le cas tous les ans.
Oui, c'est vrai.
Et pour moi, ils ont montré de bonnes choses. On peut dire qu'effectivement, il y a eu un bon parcours avant, une bonne formation. Et presque, j'ai tendance à dire, quand Petrov a été annoncé, moi le premier, je rigolais doucement. Il faut être honnête. Hein,
oui,
de toute façon, il va rien faire. Il fait que acheter sa place en F1. Et il nous a quand même montré de belles choses qui nous ont fait remettre, nous ont fait un peu ravaler nos propos, quoi.
Mais on peut aussi, derrière les rookies, moi, enfin, c'est la manière dont j'interprète aussi, on peut aussi parler des jeunes qui ont débuté un peu moins dans la lumière que Petrov, etc. C'est Di Grassi, Chandok, Senna, qui ont commencé dans des conditions difficiles. Et qui pour certains sont pas trop mal sortis. On peut dire que Shandok a été assez étonnant parce qu'il il a alors qu'on pensait qu'il allait se faire dominer par Bruno Senna, ça a été un peu plutôt l'inverse.
Oui. Mais sinon, c'est quand même incroyable cette densité qu'on a eu. Bon, on a beaucoup parlé de la densité en haut pour le championnat. Mais c'est vrai que justement, avec les rookies, que ce soit avec les petites équipes ou au milieu avec des Hülkenberg et des Petrov, ça a aussi contribué à cette fantastique saison qu'on a eue.
On peut aussi mentionner peut-être Alguer Suari qui a quand même commencé relativement tard dans la saison dernière et qui était un peu en apprentissage et qui a vraiment fait de beaux progrès cette saison au point de quasiment mettre en doute l'avenir de Buemi au sein de Red Bull. Donc
avec en plus une Toro Rosso qui était honnêtement catastrophique cette année.
Oui.
Et c'est pour la première fois il devait faire la voiture.
Complètement, mais c'est là où tu vois qu'il y a eu un sacré changement. Hein.
Ouais.
Faut être honnête, dans la hiérarchie, tu avais au fond, tu avais les trois nouvelles écuries. Derrière, au-dessus, tu avais Toro Rosso et à un niveau juste au-dessus, tu avais Sauber, Williams. Voilà, c'était clairement marqué. Pour moi, la baisse de performance était flagrante chez Toro Rosso.
Ouais.
Et malgré ça, effectivement, l'adversaire a réussi à sortir son épingle du jeu.
D'ailleurs, on en a extrêmement peu parlé hein, quand on y repense de Toro Rosso cette année.
Ah ben oui,
par rapport même à d'autres équipes.
Dans le SAV, vous en avez pas mal parlé, grâce à la place du con.
Mais finalement, ouais.
Mais c'est ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que finalement, Toro Rosso, on est venu au fur et à mesure de la saison à devenir la valeur de référence sur laquelle on jugeait les petites écuries. Donc on parlait plus de Toro Rosso.
Ce qui est terrible.
On en parlait toujours du point de vue des petites écuries. Comme tu dis, Shinji, ce qui est quand même assez alarmant.
Alors à noter que pour 2011, on a déjà notre premier rookie qui a été annoncé.
Bah même plusieurs.
D'Ambrosio.
C'est D'Ambrosio. Bah, il y a D'Ambrosio qui a été officialisé.
Maldonado.
Chez Virgin. Ah, c'est vrai, j'ai oublié Maldonado chez Sauber.
Perez.
Ah oui, mais c'est vrai. Et Hülkenberg, il a toujours pas trouvé de volant.
Pour l'instant, non. Il espérait Force India. Là, on sait pas trop.
Bah Force India, apparemment, ça devrait jouer entre Perez et entre Hülkenberg, Di Resta et Yuji sont en course.
Donc Yuji revient pas, on le reverra pas en F1, quoi.
Non.
Apparemment.
Ça a l'air mal barré. Hein.
Bah lui, il semble accroché à son contrat. Je pense que c'est le petit truc en fait qui empêche l'officialisation pour le moment, c'est qu'il a, il a apparemment un contrat. Maintenant, je pense que si Force India veut s'en séparer, ils vont y arriver. Il a pas fait grand chose l'année dernière, malheureusement pour lui. Il avait été brillant quand il était revenu en fin de saison en 2009, et là, il a été très transparent cette saison, alors qu'il avait une bonne voiture. Il s'est fait piétiner par Sutil.
C'est ce que j'allais dire. Sutil, ouais, il a complètement éclipsé. Hein.
Mais c'est ça le truc, c'est que il y a eu une bonne voiture en début de saison, et Sutil a été bon en début de saison. Ouais. Et à la fin, il a pas su profiter du moins bien de Sutil et de Force India pour se mettre un peu en valeur. On a fait le tour des rookies alors.
Des rookies,
on a fait le tour des rookies.
Et on peut même se poser la question sur les rookies dont on connaît, puisqu'on parle un peu de, on fait un peu une analyse de la saison. Quel est le rookie que l'on verra l'année prochaine entre Maldonado, Pérez et D'Ambrosio?
Bah, j'ai peur que mécaniquement, ça soit forcément Maldonado, ou peut-être Pérez.
Ah, bah oui, forcément,
Voilà.
Bah, chez Williams, il y a plus de probabilités qu'effectivement, avec sur Williams, qu'il fasse quelque chose.
Après, j'aimerais quand même que D'Ambrosio, fasse quelque chose, parce que c'est vrai que les pilotes belges, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu, il s'est distingué, donc, ça serait sympa, puis c'est un pilote francophone, alors on a plus de pilote français, alors essayons de nous raccrocher à un pilote belge.
Ouais, c'est clair.
En plus, c'est vrai que Maldonado, l'an dernier, quand même, c'est vrai que c'est un pilote d'expérience en GP2 maintenant. Mais l'an dernier, il a été assez impressionnant en GP2. Même si c'est vrai qu'en face, il y avait une concurrence qui était encore un peu jeune. Hein, j'ai pas trop suivi le championnat GP2, mais j'ai quand même l'impression que les Sam Bird, Bianchi, etc., c'est un peu une année de transition avant de vraiment jouer la gagne en 2011.
Bah, tu sais, c'est comme ça le sport, c'est-à-dire que t'as des périodes très fastes. Faut oublier quand même que les premières années de GP2 nous a sorti quand même un bon paquet de bons pilotes.
Oui.
C'est peut-être un peu naturel qu'il y ait un petit creux, ça va peut-être repartir.
Oui.
Ou peut-être qu'on va avoir des pilotes moyens en GP2 qui vont se révéler en F1, hein. Ce serait pas une nouveauté.
Oui. Généralement, il faut le rappeler, c'est pas un bon pilote de la catégorie juste inférieure qui va faire un bon pilote de F1, et inversement, un pilote moyen en catégorie inférieure peut faire un excellent pilote de F1. Ça reste des univers assez différent et particulier, et dans ce sens-là, ouais. On peut avoir des surprises.
On l'a vu avec Kobayashi. Hein. Il n'a pas été forcément très très brillant en GP2, mais même s'il a eu un titre en GP2 Asia, ça reste entre guillemets que le GP2 Asia, le plateau n'est pas complet, il n'y a pas tous les pilotes de la saison régulière, etc. Mais il n'était pas forcément très à l'aise en GP2. Et par contre, c'est vrai que dès qu'il arrive en Formule 1, il y a des ailes qui lui ont poussé. Enfin,
alors, je suis quand même rassuré de voir que mon SAV d'or est pas si ridicule que ça.
Non, pas du tout.
Honnêtement, il était bien.
Donc voilà, c'était à peu près tout sur les rookies. Alors, on va pas reprendre un extrait parce qu'il y en aurait des tas, parce qu'on en a parlé quand même toute la saison. Hein.
Puis bon, on est quand même revenu globalement en synthèse assez bien sur les rookies. Hein.
Voilà. Et comme les SAV d'or, c'est comme une saison de F1, donc vous savez qu'après Monaco, il y a la Turquie. Hein. Donc après l'excellence, on passe à un truc un peu moins bien. Donc on passe à un autre trophée, n'est-ce pas Dino?
Le service après-vente de la F1 présente le SAV d'or du mec si t'as pas Google, tu peux pas donner son nom. Ah oui, tiens, c'est vrai, tu peux pas donner son nom.
Bonjour à tous et bienvenue sur le site du service après-vente de la F1 pour cette nouvelle rubrique des SAV d'or 2010 qui est consacrée donc aux grands anonymes de la Formule 1 dont vous ne trouverez pas le nom si vous n'avez pas Google, et je me suis donc intéressé à Google. Parce que... Si vous cherchez sur Google le nombre de résultats obtenus par nos trois nominés, dont nous tairons le nom par élégance, puisque on ne connaît pas leur nom.
Bah oui.
Mais si vous avez trouvé leur nom et que vous cherchez leur nom dans Google, vous tomberez sur le nombre surprenant de 83 930 000 résultats de recherche.
Ouh, quand même.
Alors, il faut avouer que un seul d'entre eux cumule à lui seul 83 700 000 résultats de recherche. Et il faut signaler que rien qu'aux États-Unis, ce nominé a 598 homonymes. Donc autant de comptes Facebook, autant de pages et d'actualités. Donc voilà, 87 millions, c'est parce que il a un nom qui est quand même très répandu. C'est l'anonyme de chez Force India qui est passé chez Sauber, pour ceux qui savent qui c'est.
Ah, ça aide.
Sinon les autres, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Je crois qu'il y en a un, c'est 200 000 et l'autre, ça doit être 19 000.
Là, c'est pas énorme du tout, ouais.
Donc voilà. Mais pour vraiment, parce que là on dit, bon, un total de 83 939 000 résultats de recherche, faut vraiment être habitué de Google pour que ça nous parle. Je me suis dit, faut trouver un point de comparaison. Et donc, afin de prendre véritablement la mesure de ce chiffre, qui me semblait personnellement relativement énorme, j'ai fait le compte des résultats de recherche que cumulent nos 5 champions du monde en activité. Et d'après toi, Shinji, quel nombre obtient-on
En cumulé.
Les 5 en cumulé.
Ah, c'est des stars de la F1. La ouais. F1 est quand même un sport mondial. Allez, je vais me lancer. Je vais dire en cumulé. Allez, soyons fous. 300 millions.
Oh. Eh ben, c'est 10 fois moins. C'est 28 340 000 résultats de recherche. Avec, je crois, le record qui doit être pour Alonso, qui doit à lui seul faire 8 millions de recherches. Mais c'est la preuve tout de même que Google n'est pas forcément un bon indicateur de popularité, puisque, par exemple, même Lada fait plus que nos 5 champions du monde cumulés avec 30 800 000 résultats de recherche.
Ah oui.
Rassurez-vous, fans de Ferrari, hein. Ferrari fait quand même déjà plus que nos 3 nominés du jour avec, je crois, 107 millions résultats de recherche. Ce qui est grave, c'est que Renault fait encore plus que Ferrari. En même temps, c'est vrai qu'il y a plus de
Ferrari. En même temps, ils vendent plus de Renault que de Ferrari.
Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que nos nominés, anonymes pour certains ou simples ombres dans les coulisses de la F1 pour d'autres, n'en méritent pas moins, comme nous y incite le nombre de résultats de recherche obtenus dans Google qu'il cumule, à les honorer comme il se doit. D'où l'objet de ce SAV d'or, des grands anonymes de la F1, mais qui quand même ont eu un rôle important. Il est cependant des hommes et des femmes qui œuvrent avec passion dans l'ombre des paddocks, et qui, contrairement à nos nominés, n'ont pas eu le droit à l'honneur du célèbre moteur de recherche. Et si vous me le permettez, j'aimerais leur rendre hommage. Ainsi, par exemple, j'aimerais vous parler de Maxime de Saint-Dast. C'est en 1947 que naquit le discret Maxime dans une famille de la haute société de Châteauvieux-les-Fossés et ses 7 habitants. Fils de Francis de Saint-Dast, maire du village, facteur, garde forestier et apiculteur de son état, Maxime hésita de longues années avant de prendre la succession de son père dans ses quatre métiers différents. Sa véritable passion fut l'automobile. Et personne au village n'ayant de voiture, sauf Mamie Ginette qui avait gardé la Peugeot type 190 de son défunt mari, mais qui ne roulait plus depuis belle lurette, la voiture, hein, pas Mamie Ginette, Maxime n'ouvrit jamais, comme il en rêvait, son garage de réparation automobile. Pourtant, c'est en regardant le journal télévisé du 31 janvier 2010 que celui qui avait fini par marcher sur les traces de son père trouva le moyen d'allier sa passion et ses professions. En effet, en découvrant la Renault R30, l'apiculteur de Châteauvieux-les-Fossés décida de devenir apiculteur spécialisé dans la culture de Formule 1. Aujourd'hui, malheureusement, avec le retrait de Renault en tant qu'écurie à part entière, et après une saison, il faut l'avouer, sans qu'il puisse récolter le moindre gramme de miel, Maxime de Saint-Dast s'en est retourné à l'élevage d'abeilles traditionnel après avoir songé un temps à se reconvertir dans l'oléiculture. Mais Maxime de Saint-Dast n'est pas le seul grand anonyme de la F1. C'est en 1966, dans la petite bourgade de Vaasa, à 420 km d'Helsinki, que vit le jour Niki Karjakoskipiäinen. Le fruit du destin amena notre optimiste finlandais, dont le nom le prédestinait déjà à ne pas apparaître dans Google, à fréquenter Mika Häkkinen sur les bancs de l'école. Karja, comme l'appelait alors le futur pilote McLaren, assistait avec admiration aux longues séances d'essais d'un double champion du monde en sommeil. Cependant, Niki Karjakoskipiäinen, refusant d'être bûcheron comme 99,7% des Finlandais, et n'ayant pas l'aisance sur les pistes de terre, de glace ou encore de bitume des 0,3% de Finlandais restants, se retrouva face à la nécessité d'inventer une nouvelle profession en Finlande. Peintre en sauna, éleveur de tartes caréliennes ou encore vendeur de sombreros dans les rues malfamées d'Helsinki, toutes les tentatives de Niki échouèrent et le condamnaient un peu plus à la misère. Pourtant, il n'en est pas tardé à voir le bout du tunnel. En effet, c'est en 1998, alors que son ancien camarade de classe vient juste d'être titré pour la première fois, que Karja obtint un rendez-vous de recrutement auprès de la FIA. En effet, Pierluigi Zanong, artiste sino-italien, venait de prendre sa retraite. C'est ainsi que le destin amena Niki Karjakoskipiäinen à devenir sculpteur de vibreurs. Il révolutionna la profession en changeant les couleurs traditionnelles des vibreurs à Valence ou encore en créant les controversés petits boudins de la chicane de Singapour que les organisateurs furent contraints de raboter alors que le Museum of Art, le célèbre MoMA de New York, venait d'élire Niki Karjakoskipiäinen Artist of the Year. Karja se retira ainsi en Finlande suite à ce scandale, après avoir pris soin cependant de transmettre son savoir-faire à son successeur. Tous n'ont donc pas droit aux éclats du soleil en Formule 1, mais le service après-vente souhaitait répondre à la promesse d'Andy Warhol en offrant à quelques-uns leur quart d'heure de gloire. Nous espérons que ce sera aujourd'hui chose faite. Monsieur le Président,
les nominés pour le SAV d'or du mec que si t'as pas Google, tu peux pas donner son nom, récompensant l'inconnu qui mériterait d'être connu, quoique sans...
Le mec qui est parti de Force India pour aller chez Sauber et qu'apparemment ça a changé pas mal de choses. Le mec qui détient 75% des parts de chez Renault, c'est vrai ça, c'est quoi son nom déjà à lui? Le mec qui se cachait derrière Epsilon Euskadi, mais qu'il est tellement bien caché que j'ai oublié son nom.
Le SAV d'or du mec que si t'as pas Google tu peux pas donner son nom, récompensant l'inconnu qui mériterait d'être connu, quoique, est attribué à...
Et le vainqueur est... Le mec qui se cachait derrière Epsilon Euskadi, mais qui est tellement bien caché que j'avais oublié son nom. Avec un score total de 41,2%, devant le mec qui détient 75% des parts de chez Renault. C'est vrai ça, c'est quoi son nom déjà à lui? 35,3%. Et bien évidemment, en dernière position avec 23,5%, le mec qui est parti de Force India pour aller chez Sauber, et qu'apparemment ça a changé pas mal de choses.
Des pourcentages, on voit, un peu serrés, on va dire.
Oui, c'est une catégorie assez serrée.
J'ai même envie de dire qu'il y avait des favoris, parce qu'on ne les connaissait pas.
Voilà. Donc on peut quand même donner leur nom. Hein. Celui qui a quitté Force India pour Sauber, c'est James Kay. Le fameux qui a 83 700 000 en recherche à lui tout seul.
Oui.
Et 598 homonymes aux États-Unis.
Le gars s'appelle Kay. Non mais attends, le gars s'appelle Kay. C'est-à-dire que dès qu'une personne fait une recherche pour des clés...
Oui, voilà.
En plus...
Ensuite, le mec qui détient 75% des parts de chez Renault, c'est Gérard Lopez.
Il détient encore 75% d'ailleurs. Maintenant, 50
maintenant c'est 100%. Puisqu'en fait, Renault a revendu ses parts à Genie Capital. Et Genie Capital, pour le moment, Lotus ne saurait pas encore rentrer dans le capital. Mais c'est un objectif à terme. Et enfin, donc, le mec qui se cachait derrière Epsilon Euskadi, mais qu'il est tellement bien caché que j'ai oublié son nom, c'était...
Qui a gagné?
Rohan Villa del Prat, le propriétaire, je crois, de Epsilon Euskadi.
De Epsilon Euskadi, hein. Donc, qui était candidate à la 13e place. L'an dernier, déjà, je crois, ils étaient candidats, hein, la fournée...
Ouais, bah déjà, dans le premier appel d'offres, et puis là, ils avaient... c'était un peu les favoris, hein.
Oui, parce que ça, ce qui paraissait quand même le plus solide, on va dire.
Ils ont claqué, ils ont préparé une voiture et tout, et...
Ouais.
Bon, ils ont peut-être aussi pâti du fait que c'est un projet espagnol et qu'on a vu que le projet HRT a du mal à vraiment s'installer, à trouver des financements, notamment au niveau des sponsors, etc. Ça pêche.
En même temps, Epsilon Euskadi aurait peut-être pu trouver des financements plus facilement. Parce c'est plus réputé, faut le dire.
Oui. Mais avec la situation espagnole aujourd'hui...
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est difficile de trouver un extrait sur nos anonymes.
Oui,
Donc je pense qu'on peut peut-être... Au moment où on a appris la FIA, je crois que c'est pas toi qui avais fait un drive-through.
Un drive-through, je crois, oui, en effet, sur le fait qu'il n'avait finalement choisi personne.
Donc, retour, je crois, c'était au mois d'août.
Oui, ça t'a annoncé, oui, juillet-août. Ce qui était très tard, parce que je me rappelle, oui. On disait qu'il fallait que ça soit annoncé au mieux, plutôt en juin, ou plus tard, pour que les équipes aient le temps de se préparer.
Ouais, c'est fin août.
Finalement, ils ont choisi personne. Donc, non, là, même si c'est vrai qu'ils voulaient plus d'assurance, notamment financière, la FIA, comme on dit, c'est pas cool.
Ouais.
Donc, la FIA n'a pas choisi de 13e équipe. Ça serait très facile de taper sur la FIA, puisque après tout, ils ont fait un appel d'offres. Les équipes ont dépensé de l'argent. J'ai aussi un peu envie de défendre la FIA. Faut avouer quand même que les candidats qu'on avait cette année, c'était... Bon, déjà, l'an dernier, quand on a appris les nouvelles équipes, on se posait des questions. Faut avouer que cette année, c'était pas super emballant. Il y avait des projets qui étaient intéressants, comme Art, mais ils sont partis avant.
Surtout que Art, c'est un projet qu'on attend depuis très longtemps.
C'est vrai que, bon, à la rigueur... On connaît Epsilon Euskadi, mais comme ça a été dit sur le site, ils ont même pas réussi à récupérer de l'argent pour aller au Mans. Et c'est pas les mêmes budgets.
Bon, c'est pas non plus la même exposition.
Non, c'est pas la même expo, on est d'accord.
Un sponsor va peut-être plus claquer, mais il sait qu'il aura plus de visibilité, donc il aura un meilleur retour sur investissement en sponsorisant, en tout cas en aidant une équipe de Formule 1 qu'en aidant un prototype qui n'est quasiment pas filmé, qui n'est quasiment pas regardé, sauf par un cercle du sérail très très fermé.
Stéphane Grand Prix, c'est une chimère. Et quant au cas Jacques Villeneuve Durango,
mais c'est ça qui est problématique aussi, c'est que dire que on a à la fois des projets qui sont assez sérieux, Epsilon par exemple, ou même Villeneuve Durango, même si Durango c'est un peu comme HRT, quoi, ils ont quitté le GP2 comme Campos parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre financièrement, et après ils veulent s'engager en Formule 1. Ah oui, bah c'est le même destin que Campos qui les attend. Ce qui les rendait solides, c'est l'appui de Villeneuve, les soutiens financiers, notamment nord-américains, qu'il aurait pu ramener. Mais encore une fois, Villeneuve n'étant pas capable de ramener de l'argent pour faire ne serait-ce qu'une demi-saison de NASCAR, comment est-ce qu'il peut ramener de l'argent en Formule 1? L'inconvénient, c'est qu'il y a un mélange des genres qui fait que t'es obligé de te retrouver. Tu te retrouves avec des projets pas sérieux comme Stéphane Grand Prix, qui ont totalement... de mon point de vue, décrédibiliser les nouvelles écuries et qui mettent un petit peu tout le monde dans le même chapeau alors qu'ils ne le méritent pas forcément.
Le service après-vente de la F1 présente le SAV d'or du coup de pub de l'année.
Quel paradoxe, hein, puisque aujourd'hui la publicité et le marketing sont partout dans nos vies. On voit des centaines de messages publicitaires par jour, et s'il y a un domaine qui a parfaitement assimiler les règles du marketing et de la publicité, c'est bien le sport automobile, et particulièrement la F1, puisqu'ils ont même été presque des précurseurs, puisque ça a fait 40 ans qu'en gros, la F1, c'est quand même des panneaux publicitaires sur roues. Le paradoxe d'aujourd'hui, c'est que l'on est de plus en plus à penser que la publicité est partout, et qu'il y en a tellement que ça en devient même insupportable. Et pourtant, quand on y pense, cher Dino, cher Buchor, le sponsoring, c'est comme le nez de Cléopâtre. Si ça avait été différent, la face même, l'image même, ce que l'on considère même comme la F1, aurait été changée.
C'est vrai.
Et si un beau jour de 1968, un certain Colin Chapman ne s'était pas dit « Tiens, je vais mettre une marque de clope sur mes bagnoles. »
C'est vrai.
À quoi aurait bien pu ressembler la F1 en 2010 ?
C'est vrai.
Imaginez une F1 où il n'y aurait jamais eu de sponsoring extra-sportif, comme on dit, c'est-à-dire au-delà des marques de frein, de marques d'huile, tout ce que vous voulez. Ce qu'on appelle un exercice du chrony. Et ça aurait eu une grande influence sur le résultat en 2010, c'est que Red Bull et Toro Rosso n'existeraient pas.
Ah oui,
le concept même d'équipe comme celle-là, on peut même penser à Benetton qui n'aurait jamais existé.
Ah.
McLaren serait peut-être encore en orange, ouais. Puisque c'est la couleur d'origine de McLaren. Et d'ailleurs, oui. Les ingénieurs de McLaren, ils auraient dû se prendre la tête cette année pour trouver un nom potable à leur conduit, puisque c'est une de nos nominations.
Ah oui, c'est vrai.
Et oui.
Ah
oui.
Le Duck,
le Orange Duck peut-être. Mais ça aurait pu avoir des conséquences plus graves. Pensez à ce pauvre Mark Webber. Il a quand même été un petit peu freiné par ce panneau DHL. Peut-être qu'il se serait fait beaucoup plus mal. Merci la pub. Sans pub et sans sponsor, est-ce que Williams F1 existerait encore? Est-ce que même elle aurait existé? Mais plus grave encore, sans sponsoring, les grands prix chiants seraient encore plus chiants, puisqu'on n'aurait même pas l'occasion de regarder les panneaux publicitaires, qui est quand même le truc le plus intéressant à Bahreïn. On est bien d'accord.
Oui.
Avec aussi les petites décorations colorées. Hein.
Oui, c'est vrai.
Par contre, on fait bien plus la différence entre la course et les spots de pub.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Les combis de pilotes seraient vachement moins bariolés.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Mais par contre, les décos de casque ne seraient pas massacrés par les sponsors.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Sans sponsoring, nos blagues sur le sponsor de Sauber cette année auraient été beaucoup moins drôles.
Oui, c'est vrai.
Puisqu'il n'y en aurait pas eu.
C'est vrai.
Par contre, Maillet à l'abeille serait devenu un surnom historique de Renault F1.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
La F1 serait divisée donc entre des constructeurs pleins de thunes et des petites équipes avec des pilotes qui doivent ramener un budget. Ah non, excusez-moi, ça existe vraiment dans la réalité.
C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui,
c'est vrai.
Les pilotes, ils amènent du pognon grâce aux sponsors, donc ça n'existerait même pas, du coup, les pilotes.
Oui, ça n'existerait pas. Bernie serait peut-être moins riche, mais je dis bien peut-être.
Oui, c'est vrai.
Finalement, il n'y a qu'une seule certitude, c'est qu'avec ou sans sponsor, les Ferrari seraient rouges.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Eh oui.
Ah,
alors... Enfin, elles n'auraient pas forcément le même rouge, mais elles seraient rouges.
Oui. Elles seraient peut-être jaunes.
Mais ça, non, elles seraient rouges. C'est vrai qu'il y a
Attends. Mais je signale quand même que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient,
oui, c'est vrai.
C'est le jaune, la couleur officielle des Ferrari.
Oui.
Mais la couleur officielle en course de l'Italie, c'est le rouge.
Et oui. Donc, si vous voulez soutenir la F1, faites en sorte qu'elle ait des sponsors pleins de pognon, hein, pour qu'on ait plein de bonnes équipes, qui ait plein de fric. Donc, buvez de la Red Bull, rasez-vous en Philips, allez chez Virgin acheter des disques, volez sur Eradia, et faites pas la gueule, parce que Viagra ne s'est pas encore intéressé à la F1.
Et achetez des Ferrari.
Oui.
Buvez déjà de la Red Bull, c'est moins cher.
Oui.
Ouais, mais n'abusez pas quand même.
Monsieur le Président.
Et donc, les nominés pour le SAV d'or du coup de pub de l'année, récompensant la meilleure opération marketing volontaire ou involontaire, sont...
Marlboro qui interdit Ferrari au moins de 18 ans avec son carré blanc. Red Bull, constructeur de Formule 1, mais aussi d'un petit bateau qui vont sur l'eau à Suzuka. Vodafone, pour avoir donné son F au duct.
Et donc, le SAV d'or du coup de pub de l'année récompensant la meilleure opération marketing volontaire ou involontaire est décerné à...
Voilà.
Suspense.
Un petit enveloppe.
Eh bien, c'est Red Bull, constructeur de F1, mais aussi de petits bateaux qui vont sur l'eau à Suzuka. Et oui, c'est un peu une surprise quand même.
Pour moi, c'est une énorme surprise, mais je la comprends. T'es vraiment parti dans le truc. C'est le petit bateau. Est-ce que c'est pas un coup de pub, quoi, le petit bateau? Et je pense que les gens sont vraiment partis dans l'idée de se dire, Red Bull pour la saison qu'ils ont fait, les titres qu'ils ont eus, c'est un formidable coup de pub. Donc finalement, c'est d'une catégorie un peu décalée sur les sponsors, qui franchement était pas non plus, elle avait juste le but de faire rire, c'est devenu une catégorie offrant une vraie récompense avec un sens derrière, je pense.
N'empêche que même pour leurs petits bateaux, ils avaient des petits bateaux beaucoup plus travaillés que la concurrence.
Ah, c'est vrai.
Comme quoi,
mais ils ont
même sur des petits bateaux, ouais.
À Suzuka, ils ont une petite
avec une demi-canette de Red Bull et tout. Des catamarans de Red Bull.
En plus,
quand
même,
c'est le boulot des ingénieurs.
Les mecs qui travaillent dans l'usine de petits bateaux en canette de Red Bull travaillent 24 heures sur 24, puisque avant d'utiliser les canettes, il est vide. Donc comme ils boivent tout le temps des canettes, ils n'y tombent jamais.
Waouh.
C'est le double effet qui se coule.
Voilà.
Donc à noter que Red Bull donc, a fini en tête avec 52,9%.
Ouais.
Devant, en fait, les deux autres nominations ont eu toutes les deux 23,5. Donc les votes sont répartis à égalité entre les deux autres. Et pourtant, c'est vrai que les deux autres ont... Franchement, des trois, moi, paradoxalement, c'est celle que j'imaginais de moins, c'est le Red Bull. Parce que c'est vrai que Vodafone, avec le coup du F-Duct, et vu toute l'importance du F-Duct cette année, et puis Marlboro et cette fameuse histoire du carré blanc, surtout Marlboro, je croyais beaucoup en Marlboro.
Moi, j'étais carrément sûr que ce serait un truc qui serait... Moi, j'étais sûr qu'on allait Marlboro, ça serait autour de 80-85%. Et en fait, quand j'ai vu évoluer les votes, je me suis dit, ah ouais, merde, les gens, ils ont... Mais c'est bien, ils se sont réappropriés, en fait, ce SAV d'or qui était totalement décalé au départ pour en faire une vraie récompense qui... Enfin, moi, en tout cas, c'est la manière dont j'allais. Je pense que... T'as voté quoi, toi, Bouchard, par exemple?
Je me souviens plus, justement.
Ah...
Je me souviens plus, mais j'hésitais vraiment entre les trois et je vais être honnête, il y en a aucun des trois qui m'a plus inspiré que ça, donc c'était un peu non, mais si tu veux, il y en a, quand j'ai vu les trucs, il y en a pas un des trois qui pour moi est clairement sorti du lot. C'est j'hésitais vraiment et du coup c'était un peu sur le au moment l'humeur mon humeur quoi. Donc, je suis incapable de te dire lequel pour lequel j'ai voté.
mais c'était justement ça, peut-être que aussi certains n'ont pas forcément voulu départager les trois et ont peut-être rajouté un sens supplémentaire au fait que ils ont dit tiens Red Bull, c'est vrai qu'ils ont été champions au-delà même du fait de faire des petits bateaux, c'est quand même un formidable coup de pub pour eux.
Ah ça me rappelle le coup de Mercedes qui a dit pour changer des constructeurs.
Oui
mais Red Bull n'est pas un constructeur, mais en même temps Benetton ne l'était pas.
Voilà.
Mais justement, tu vois, justement, c'est ça le truc, c'est que pour moi, clairement, Marlboro, Vodafone sont des sponsors et Red Bull, je n'arrive pas à les voir en tant que sponsors, mais pour moi, c'est un constructeur.
C'est un constructeur
de F1. Ouais.
Comme Williams,
un constructeur de F1.
Je suis désolé, mais Williams n'est pas un constructeur automobile, ils construisent que des Formule 1.
Oui.
Et voilà.
S'il y en a une, quelle que soit l'activité à côté. Tu construis des F1, je veux dire, c'est pas comme si Red Bull, par exemple, a été propriétaire d'écurie et faisait concevoir le châssis à Dallara ou j'en sais rien.
Oui.
Non. Là, ils ont leur centre de R&D, ils ont tout, ils le conçoivent, ils le construisent eux-mêmes, ce sont des constructeurs, pour moi, point.
Et c'est vrai que, bon, en même temps, on entend Mercedes, on a l'impression que ça les dérange, ils font pas partie des champions du monde des constructeurs.
Ils ont été
champions du monde associés par le fait qu'ils étaient motoristes, mais ils ont jamais été champions du monde des constructeurs, puisqu'ils ont été champions du monde avant même que le championnat du monde constructeur soit mis en place. C'est Ferrari qui
s'est senti
refusqué, c'est McLaren.
Oui,
c'est clair.
Renault,
c'est clair. Pour moi, il faut rien voir d'autre dans cette déclaration que de la mauvaise foi. C'est tout.
Ah oui, voilà, tout à fait.
Bah, surtout que l'an dernier, il y avait quand même l'écurie qui se battait, enfin, Brown se battait contre Red Bull. Et donc, on a tendance à oublier que c'est quand même deux écuries qui ont été rivales l'année dernière et qui cette année, il n'y a pas eu photo entre les deux, quoi.
À noter que, bon, pour être constructeur de petits bateaux, il faut quand même deux circonstances. Un, qui est beaucoup de flotte, parce qu'on a eu beaucoup de grands prix sous la flotte, mais il en faut quand même beaucoup. Hein. Et deuxièmement, il faut pas l'oublier, il faut une ligne des stands en pente.
Oui.
Parce que si c'est tout plat, c'est pas drôle. Hein.
Il a
et on sait bien, à Suzuka, c'est en descente. Voilà.
Non, mais je dis déjà, s'il n'y a pas un minimum de pente, la ligne des stands
est
demandée. Donc.
Oui, en plus.
Donc, tu auras toujours forcément un peu de pente.
Et donc, je vais dire ce joker.
La question super vache. Tu verrais quoi comme extrait là-dessus?
Bah, on peut parler de Suzuka, justement, on a parlé du fait qu'il pleuvait beaucoup, 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 beaucoup à Suzuka. Je me rappelle même que j'avais raconté une anecdote sur Nick Heidfeld, sur un petit échange radio.
Qu'on va réécouter alors.
Son ingé. Oui.
Oui.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix du Japon à Suzuka. Un grand prix, un week-end même marqué par la pluie et gagné par un type qui a quand même un nom d'eau minérale. On ne me le refusera pas. Pour m'accompagner ce soir, il va nous dire est-ce qu'il sait faire des petits bateaux en papier parce que c'était quand même très tendance ce week-end. Bonjour Dino.
Bonjour. Excusez-moi, mais je vais devoir quitter cette émission. Je ne peux pas faire cette émission après un jeu de mots aussi pourri, Sidi.
Ce n'est pas le droit. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est un fait.
Bonjour chers auditeurs, et pour vous répondre, non, j'ai pas suffisamment poussé les études en aérodynamique pour pouvoir réussir un bateau trimaran avec des bouteilles de Badois.
C'était très tendance ce week-end. Déjà en 2004, ouais. Il l'avait fait. Et d'ailleurs, il y a une scène absolument géniale, c'était les essais libres 3.
Oui.
Il restait quoi, 8 minutes, et on entend la communication radio d'Heidfeld. Alors, faut dire que tout ce qui a été dit sur un ton très professionnel, hein, très sérieux. Et donc, l'ingénieur de course dit à Heidfeld, bon, il reste 8 minutes, tu as peut-être le temps de faire 3 tours. Bon, il est même pas sorti, mais bon, il dit, t'as le temps de faire 3 tours. Donc, Heidfeld lui dit, ouais, ok et tout. Et faut pas oublier que Heidfeld étant chez Sauber, il est en fin de grille, donc il est en haut, l'allée des stands est en pente à Suzuka, et donc il dit, oui, j'ai vu, un bateau à papier. Parce que, pleuvait tellement.
Oui.
Et là, l'ingénieur de course lui répond, mais d'une façon très sérieuse, oui, c'est notre façon de faire passer des messages à Mercedes.
On va vous battre.
Je crois que voilà, le réalisateur réagit exactement de la même façon que Dino. C'est pour ça qu'il nous a offert ce petit moment d'humour, ce petit moment léger.
J'étais un petit peu déçu parce que il y a Red Bull qui a fait des petits bateaux. Il y a Mercedes qui a fait des petits bateaux. Moi, j'aurais aimé que, tu sais, tout le monde voit Red Bull en train de faire un beau bateau avec Red Bull.
Qu'il y ait une compète? Compète de petits bateaux?
Je serais les ingénieurs chez Ferrari et chez McLaren, et je serais sorti les doigts du cul, quoi. Je sais pas.
Le service après-vente de la F1 présente le SAV d'or. Bon, conduire, il faut choisir. D'accord? Alors, tu choisis. C'est pas grave. Non, on y reviendra plus tard.
Rebonjour à tous et re-bienvenue sur le site du SAV de la F1 pour découvrir cette fois-ci donc le SAV d'or. Boire ou conduire, il faut choisir. Je me suis dit, c'est bizarre, le SAV d'or, boire ou conduire, il faut choisir un récompensant. Hein, disons, pas forcément quelqu'un, mais c'est ce qu'on aurait peut-être pu se passer de faire cette saison. Je me suis dit, ça c'est le genre de truc qui pourrait se faire sur plusieurs années, quoi. C'est une catégorie qui pourrait rester à terme. Et on aurait déjà pu avoir des lauréats en 2009, en 2008, en 2007. Si vous voulez bien, avant même d'attribuer le SAV d'or, boire ou conduire, il faut choisir 2010, je vous propose de choisir le SAV d'or, boire ou conduire 2009, 2008 et 2007. Comme ça, on va vraiment trop
mieux, toi. Hein. Ah. Alors, on voit que ça arrête à 2007.
Donc, pareil que dans le SAV d'or 2010, j'ai choisi à chaque fois 3 nominations, et vous me direz, d'après vous, qui aurait pu gagner, ou même qui va gagner ce SAV d'or de façon rétrospective. Donc, le SAV d'or, boire ou conduire, il faut choisir en 2009. Les nominés auraient pu être Luca Badoer remplaçant Low Cost chez Ferrari.
Ouais. Si, là déjà il y a un gros favori là.
Oui, c'est clair. Nelson Piquet reconduit une deuxième saison de suite chez Renault.
C'est du challenge aussi. C'est du lourd, hein.
Et enfin, la nouvelle configuration aérodynamique des voitures imposée par le nouveau règlement de la FIA. Ah, déjà celui-là, il suffit d'un peu moins les passions.
Oui, ouais. C'est clair. Et donc, non, je crois que j'ai vraiment envie. Ouais, je sais pas quel est ton préféré, Shinji. Je vais te dire le mien, et puis tu feras en fonction. Mais j'ai vraiment envie de dire Luca Badoer, et surtout de lui dire à Luca, va boire.
En fait, c'est ça, voilà. Oui, va boire. Oui, oui. Et on va donner à Luca Badoer.
Va boire.
Va boire. C'est peut-être le dernier secteur où il peut encore être performant, donc...
Et donc, le lauréat du SAV d'or, moi, au conduire, il faut choisir 2009, et Luca Badoer, remplaçant en low-cost chez Ferrari.
Vous avez vu le magnifique cadeau qu'il a eu, auquel il a eu droit pour son départ de Ferrari.
Ah, j'ai vu ça, mais je me rappelle plus ce que c'est...
Une Fiat 500.
Oui, oui.
Je m'attendais, il va avoir une Ferrari, quand même. Mais non, non.
Ah, je m'en rends compte, Ferrari.
Il s'est eu peur qu'il se tue avec s'il fait une Ferrari.
C'est une voiture digne de son pilotage.
Je sais même pas si c'est une Abarth 500 ou c'est...
Non, non,
c'est
plus. Une 500.
Mais c'est la série spéciale hommage à Ferrari, là.
Bah d'ailleurs, je pense qu'ils vont, ils vont donner son nom à une série de Fiat 500.
Ah, ben ce sera la Fiat 500 électrique.
Non, à pédale.
Non, ce sera des vieilles Fiat 500.
Recyclées. Garantie sans utilisation pendant 10 ans. Alors, messieurs, je vous propose une deuxième fois de retourner vers le futur, enfin vers le passé, puisque nous allons remonter en 2008. Et attention,
oui.
Les nominés pour le SAV de boire ou conduire, il faut choisir 2008, auraient pu être le circuit de Valence, pour le circuit de Valence, la piste en plâtre du circuit Jacques Villeneuve,
tu vois partout,
et enfin les pneus à rainures vertes à Fuji.
Les pneus à rainures vertes à Fuji.
Oui.
Oui, parce qu'il y avait la campagne. Car Green.
Oui.
Si je me souviens bien. Et donc, pour rendre les voitures plus écolo, les rainures avaient du vert.
Voilà, donc
ce qui rend les voitures beaucoup plus écolo.
Et voilà.
Bah oui, surtout une affaire, ouais.
D'ailleurs, demain, je vais repeindre ma voiture en vert pour qu'elle pollue moins.
Voilà, non, mais surtout, c'est logique. Surtout, ce qui était très très intéressant dans cette idée, c'est que pendant toute la saison, il y avait un pneu sans rayure, et il y avait un pneu avec une rayure blanche qui indiquait que c'était le set de pneus tendres. Et donc là, du coup, à Fuji, en fait, le set de pneus durs, il avait que des rayures vertes, et le set de pneus tendres, il avait trois rayures vertes et une rayure blanche. Mais comme je crois qu'il pleuvait, en tout cas, on voyait pas du tout la différence entre la rayure blanche et la rayure verte. Donc les commentateurs étaient tout le temps en train de se demander, est-ce que c'est des pneus tendres ou des pneus durs? Et donc, ils étaient en train de chercher de la rayure. Et donc, messieurs, quel aurait pu être le vainqueur?
Oula.
Quel était quelque chose que vraiment, voilà, dont on aurait pu se passer, finalement. On se demande si c'est bien raisonnable de l'avoir fait.
Moi, j'ai dit, entre Valence et pneus.
Le problème, c'est qu'avec avec le recul Valence, c'est quand même difficile de lui filer le
salé d'or. Faut se mettre dans l'état d'esprit de 2008.
C'est vrai que sur le coup, on pensait... Enfin, c'est vrai qu'on avait quand même la grosse impression que Valence était une grosse merde, hein.
Bon, la course qui avait été merdique, ça c'est sûr, mais...
Oui.
C'est vrai.
Oh, je dirais quand même les pneus, parce que pour le coup, c'était vraiment quelque chose d'inutile.
Donc, le lauréat du SAV d'or, boire ou conduire, il faut choisir 2008, sont...
Et puis en plus, les rayures, ça fait un effet stromboscopique et tout, un peu comme quand t'es bourré, donc...
Il me coupe dans l'annonce officielle des résultats de 2008. Non, mais je sais. Je recommence.
Mais vas-y.
Le lauréat du SAV d'or, boire ou conduire, il faut choisir 2008.
Attends, je te coupe.
Alors, pardon. Je répète, le lauréat du SAV d'or, boire ou conduire, il faut choisir, et s'il y en a un qui touche sa gueule, je vous garantis, je lui pète sa gueule à la récré, sont les pneus à rainures vertes à Fuji. Je les intimide vachement, parce que là, j'aurais fait peur.
Voilà.
Donc, on passe en 2007, messieurs, vous êtes d'accord?
Oui, oui, 2007.
Oui, oui.
Donc,
c'est l'année qu'on estime couramment avant 2008, donc, ouais, je pense qu'on peut dire que
c'est... Et après 2006. C'est ça la subtilité.
Non, on va s'arrêter à 2007.
Non, mais je veux dire que 2007, c'est avant 2008, mais attention, c'est aussi après 2006.
Donc, les nominés pour le SAV d'or boire ou conduire, il faut choisir 2007, auraient pu être le Grand Prix du Japon à Fuji, la nouvelle livrée Renault ING, Rubens Barrichello, qui n'est même pas classé au championnat du monde pour sa 15e saison, et c'est une grande première dans son histoire personnelle. Alors, messieurs, remontez le temps.
Fuji.
Revenez à cette glorieuse saison de 2007.
Qu'est-ce qui s'était passé à Fuji?
Bah, le Grand Prix de
Fuji.
Japon.
Ah ben oui, c'était pas Suzuka.
Voilà.
Sinon, c'est vrai qu'il y a Renault et sa livrée quadricolore.
Ah oui, la fameuse livrée ING. On critiquait la maille à l'abeille, mais ING, c'était pire. Hein.
Ah bah oui. Non mais disons que ING, le problème, c'est que les couleurs étaient mal choisies, étaient mal agencées. Bon, la livrée maille à l'abeille, les couleurs étaient belles, mais mal agencées. C'est voilà. On remarquera que cette année, les couleurs sont belles et mal agencées aussi. Donc
oui.
Ça stagne. Alors messieurs, il faut choisir. Remplacez-vous. On est en 2007. McLaren est au fond du trou. Lewis Hamilton est un petit débutant qui sera pas champion du monde. Kimi Raikkonen est un grand génie, un grand héros.
Un grand génie.
Ferrari a conçu les deux meilleures voitures du plateau.
Oui.
Rappelez-vous.
Fernando Alonso s'est fait avoir par son nouveau, son jeune équipier rookie.
Non, il a magnifiquement résisté à l'un des plus grands talents du siècle, en étant ex aequo avec.
Donc tu reconnais que le plus grand talent du siècle, c'est les Hamilton.
Bah non, c'est Alonso puisqu'il a résisté et qu'il est deux fois champion du monde.
Imagine-toi en 2007, Dino.
Ah,
qu'est-ce que tu pensais d'Alonso à ce moment-là?
Oui.
Oh, le connard. Je veux pas que tu parles.
Eh oui, voilà.
Avec sa barbichette. Merde. Ah là là. Et tu crées
pas qu'il a mis en gris.
Je peux même te dire, Bouchard.
Ah oui.
Hey, honnêtement, je n'en veux pas chez Ferrari. Oui. Il vient chez Ferrari.
Ferrari. Je suis fan de Ferrari.
Je change d'écurie. Je deviens fan de McLaren. Vous pourrez me le redire. Vous pouvez me le rappeler. Hein, en 2007, j'ai dit ça.
Et puis de toute façon, moi, chez Ferrari, Schumacher Forever.
Oui, bah oui.
Et puis Raikkonen Forever.
Bon alors, messieurs, ça nous dit toujours pas qui est le nominé dans cette catégorie.
J'ai tendance à dire Fuji, mais pas ça n'engage que moi.
Prenons Fuji.
Oui. Et donc, le lauréat du SAV d'or pour reconduire, il faut choisir 2007, et le Grand Prix du Japon à Fuji, et non pas à Suzuka. Et donc, messieurs, maintenant que nous avons l'historique de ce SAV d'or, mais il reste à savoir qui va leur succéder cette année, monsieur le président.
Les nominés pour le SAV d'or boire ou conduire, il faut choisir, ou on se demande si c'était bien raisonnable, sont
Michael Schumacher dans Papy Blues, Virgin Racing, Hispania Racing Team et Lotus Racing dans Les Abonnés du Dernier Rang, le circuit de Corée du Sud dans 10 ans moins le quart avant d'être fini.
And the winner is... Et nous n'avons pas un vainqueur, mais nous en avons deux, puisque nous avons des vainqueurs ex aequo. Et il s'agit de Michael Schumacher dans Papy Blues et du circuit de Corée dans 10 ans moins le quart avant d'être fini. Avec chacun 41,2% et seulement 17,6% des voix pour Virgin Racing, Hispania Racing Team et Lotus Racing dans Les Abonnés du Dernier Rang. Félicitations à nos deux vainqueurs.
Bravo.
Deux vainqueurs, mais ils ont écrasé complètement le troisième, hein.
Oui, voilà.
Ouais, de notre côté, pour moi, le troisième, il a pas vraiment lieu d'être, mais bon.
Ça dépend. Il y en a certains qui pensent que est-ce que c'était raisonnable de mettre dans la cour des grands ces équipes sans expérience, notamment à Chartres, par exemple, sans forcément les moyens financiers des autres. Je pense que la question, elle est légitime de se demander est-ce que vraiment c'était bien raisonnable de faire débuter ces équipes cette année.
Donc, Choumi dans Papy Blues, je pensais que les gens soutiendraient quand même un peu plus Choumi, il y a quand même 41% qui disent peut-être qu'il aurait dû partir, ne pas sortir de sa retraite.
Ouais, je sais pas.
Et moi je pense
reste encore...
Il est motivé pour l'an prochain.
Au mieux que ce soit. Hein.
Moi personnellement, je pensais qu'il aurait pu se battre pour le titre, mais quand je vois la saison qu'il a faite, il peut gagner, mais de là à être champion, non, aujourd'hui ça me semble impossible.
Ouais. Faut pas oublier une chose, hein, c'est que faut voir la bande de morphales qu'il y a devant.
Mais c'est ça, il est entouré de loups affamés, hein.
C'est pas, ouais, il n'a pas à se battre contre un ou deux très bons pilotes. Ils sont quand même plus nombreux que ça.
Avec des voitures qui sont meilleures que la sienne. Donc il a un bel effort. Et donc sinon, il y avait aussi le Grand Prix de Corée, l'Arlésienne de la saison 2010. Mais non, on a fini par voir.
Voilà, c'est ça, ça peut pas être l'Arlésienne, parce que l'Arlésienne, on voit jamais. Les Grands Prix de Corée, on l'a vu.
Mais on l'a vu.
On l'a même apprécié.
Oui, c'est ça qui est agréable. Bon, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas finies.
J'ai envie de dire, la première chose qui n'était pas finie, c'était les commissaires, quand même. Parce qu'ils ont bien gardé grave, hein.
Ouais. Mais le vainqueur, c'est pas le Grand Prix de Corée, mais c'est le circuit de Corée. Voilà, ouais. C'est vraiment le circuit. Est-ce que vraiment c'était raisonnable d'aller sur ce circuit et d'attendre autant de temps sur un circuit qui n'était pas fini? qui honnêtement n'était pas du tout beau à regarder. Moi, j'ai pris aucun plaisir à regarder ce circuit.
Ça a été apprécié quand même par les pilotes, pour beaucoup de téléspectateurs. Hein.
Oui.
Même si tu dis que t'as été déçu.
Mais non, mais le
Grand Prix. C'est le cas, surtout que t'as déçu.
Non, mais voilà, je pense que le Grand Prix était intéressant et que le circuit dans son tracé, voilà, je le mettrais plutôt dans le bas du classement que dans le haut du classement. Maintenant, oui, quand tu prends dans le contexte de la course, etc. Finalement, on se rend compte avec la Corée que peu importe l'endroit où ça se trouve, même si ça se passe à Disneyland ou dans les chutes du Niagara ou en plein cœur de New York, à la limite tu t'en fous. C'est ce qui se passe en piste, c'est ce que tu regardes, c'est pas le décor que tu regardes. Parce qu'en Corée, on n'a pas regardé le décor. Maintenant, c'est vrai que si tu
regardes
le décor, voilà, mais voilà, c'est ça le truc. C'est que, malheureusement, s'il y a rien qui se passe, généralement quand il y a rien qui se passe, on montre le décor. Et s'il se passe rien en Corée, en ce moment, si on montre le décor, c'est pas joyeux, quoi. Alors que quand tu vas à Singapour, s'il se passe rien en piste, bon, tu peux montrer la piscine qui est sur un toit à 300 mètres de hauteur, tu peux montrer la vue du circuit de nuit, voilà, tu peux montrer plein de trucs, quoi. Mais en Corée, tu peux montrer un arbre, tu peux montrer un bloc de béton,
un autre arbre,
un autre arbre, kilomètres de bouchons,
et bien sûr les maisons de passe hein, où sont hébergés puis les journalistes.
Au moins, ce qui est bien avec la Corée, c'est qu'on va pas manquer de d'extraits.
Oui.
Parce qu'on a dû en parler, je pense, franchement, toute la saison.
Oui.
Non, alors, faudra en faire un sur Shumi en Corée. Tu vois, tu combines.
Ah ouais. Oh oui, bah, c'est pas comme ça.
Qui sait que ça avait fait un Shumi? Qui sait que ça avait fait en Corée?
On passe au podium.
Alléluia.
Au top 3.
Alléluia.
Et en troisième position...
Oh oui, mon frère, en troisième position, oui.
Oui, nous allons parler...
Oh oui, nous allons parler en troisième position, mon frère, vas-y, parle.
Nous allons parler d'un vainqueur.
Non,
que dis-je? Nous allons parler d'un champion. Que dis-je? Nous allons parler d'un septuple champion.
Tu fais mal au cœur, parfait.
Nous allons parler de Michael Schumacher, qui, quand il ne joue pas dans Astérix aux Jeux Olympiques...
Monaco, Monza... Imola ou Yongan
peut faire des bonnes courses en 2010.
Je la rends à Globen, celle-là. Hein. Je crois que c'est Globen qui l'a fait sur Twitter.
Donc quand il ne fait pas des courses de chars, il peut faire des bonnes courses en Corée.
Ah, c'est mythique, ça.
Troisième place. Je l'ai mis troisième. Les auditeurs l'ont mis quatrième. Dino, tu l'as mis deuxième.
Ah ouais, putain, je me suis lâché. Mais revenons quand même sur sa participation dans Astérix. Qui est quand même très kitsch.
Ouais.
Ce que j'ai aimé chez Schumacher, pendant toute sa carrière chez Ferrari, c'est son travail,
c'est vraiment le petit détail, là où voilà. Tu te dis, ouais, là, on, pour une fois, on a notre Schumacher, c'est vrai, c'est quand on l'a vu en safety car, un peu, pas naviguer, mais tu sais.
Tester les trajectoires.
Tester les trajectoires. Il observait vraiment pour se dire, attends, lorsqu'il va y avoir le restart, où est-ce que je peux passer?
Et on retrouve le Schumacher qui était capable de rester 7-8 tours derrière un pilote en course à la grande époque, de rester 7-8 tours derrière, de chercher la faille, et dès qu'il avait la faille, il attendait un tour, et clac, il l'attrapait et ça passait. Voilà, moi ça m'a rappelé ce que j'aime chez Schumacher, l'homme qui est tactique, qui a le sens de la course.
Ça fait quand même, depuis le début de la saison, parfois on se demande, est-ce qu'on a encore le Schumi qu'on connaissait? Il y a ces fulgurances ou...
Il y a ces fulgurances, mais Schumacher, il a 40, va avoir 42 ans en 2011. Il est confronté à un coéquipier qui en a 26, qui a la même voiture que lui cette année et qui fait deux fois mieux que lui.
C'est vrai que malgré tout, Rosberg aurait pu faire beaucoup mieux que lui. Hein.
Voilà, il a beau essayer de se retrancher derrière ces histoires de voiture qui est pas adaptée à son pilotage, etc. Ça n'empêche pas que Schumacher a toujours su se dépatouiller des voitures qu'il avait. C'est juste que ça se comprend. Il a plus l'âge de faire ça. Tout le monde était très enthousiaste à l'idée de le revoir et pensait qu'il allait pouvoir se battre pour le titre ou au moins se battre pour la victoire. Moi, honnêtement, aujourd'hui sur 2011, je suis prudent. On verra en 2011. Peut-être qu'effectivement la voiture va bien aller, etc. Mais je reste quand même dubitatif. Je pense que voilà.
C'est vrai que bon, il finit quatrième, mais quand il pense, il y a les deux Red Bull en moins. Ça fait 6. Il y a Rosberg en moins.
Oui.
Ça fait 7. Et là, déjà, on peut même dire Button.
Oui, parce que Button, il aurait...
Ouais, il a fait
non, quoi qu'il avait dépassé Button, donc...
Mais disons quand même que sur une course normale,
oui, voilà.
Button aurait fini devant. Donc, ça fait que... il se retrouve plus vers la 8e place théoriquement.
Ouais.
Là, faut pas oublier qu'il y a les faits de course qui sont là.
Mais en même temps, sous une course au la pluie, il n'y a pas que les faits de course qui comptent, il y a aussi la sagesse et l'intelligence de passer au travers.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le SAV d'or Bridgestone. Stone, le monde est stone.
On aborde désormais un grand classique. J'ai même envie de dire un très grand classique de la F1. Car oui, en F1, il y a des monoplaces, il y a des ailerons, il y a le Grand Prix de Monaco, plein de choses qui arrivent tous les ans. Et il y a aussi ce grand classique qui est la polémique.
C'est vrai.
La polémique, cet élément indispensable de toute bonne saison de F1, il faut bien le dire. Hein. Puisque la dernière fois qu'on n'a pas eu de polémique en F1, ça remonte au moins à... 1950, au moins,
minimum.
Au bas mot, minimum. Hein. La F1 sans polémique, ça n'existe pas. C'est comme Justin Bieber sans sa mèche, c'est comme l'ambassadeur sans ses Ferrero Rocher, c'est comme Sarkozy sans ses talonnettes, c'est comme Ricoré sans son ami, c'est comme l'iPhone sans iTunes, c'est comme une Laguna sans panne, c'est comme Paris sans ses bouchons. C'est comme l'hiver sans la neige. C'est comme Delarue sans la poudre. C'est comme Darth Vader sans sa ventoline. C'est comme le Sahara sans le sable. C'est comme les bisounours sans antidépresseurs. C'est comme la Wii sans sa Wiimote. C'est aussi comme le Seigneur des Anneaux sans ses hobbits homosexuels. Et aussi, c'est comme Youth Ball et le talent. C'est pas dans le même sens, mais en fait, ça non plus, ça n'existe pas. C'est pour ça que je l'ai mis. Il existe plein de choses immuables dans ce monde, comme les quiches lorraines, les lapins et les polémiques en F1. Et pourtant, il faut bien dire que cette année, on s'est quand même fait un petit peu peur, parce que faut avouer que 2009, c'était un grand millésime.
Oui.
Très grand millésime. Oui. Alors, merci. Merci à tous ceux qui ont fait de belles conneries cette année, et j'ai envie de vous dire, big up.
Ouais, big up les gars.
Alors, cher Président, les nominés.
Les nominés pour le SAV d'or Bridgestone récompensant la polémique de l'année sont...
Ferrari dans La Radio grésillera trois fois. Lewis Hamilton dans Fast and Furious, Melbourne Drift. Red Bull dans Un aileron pour deux.
Le SAV d'or Bridgestone récompensant la polémique de l'année est attribué à...
Alors, enveloppe.
Et c'est une vraie enveloppe, je peux en attester. Moi, c'est juste des vulgaires feuilles, mais lui, c'est des vraies enveloppes.
C'est une vulgaire enveloppe qui traîne.
On voit qu'il y a du budget, hein. C'est chez notre ami Shinji.
Voilà. Et, oh, quelle énorme surprise, puisque c'est Ferrari dans la radio grésira trois fois.
Tout. On en a un cette année. Au moins un titre qu'on aura, les mecs. Ouais.
Avec un score de 76,5%.
Encore mieux, putain, c'est un sacre ultime.
Devant Red Bull dans Un aileron pour deux avec 23,5. Et si vous savez calculer, 76,5 et 23,5, ça fait 100. Et donc, eh bien, le cramage de pneus de Lewis Hamilton, hein, à Melbourne a obtenu 0%.
Alors je dois dire que c'est sur la fin que ça s'est décidé Ferrari, parce que au début je crois que tous ceux qui étaient remontés contre Red Bull ont voté en premier, parce qu'au début c'était quand même assez serré. Je me suis dit c'est quand même bizarre quand même, parce que Ferrari quand même. Alors, et vers la fin je crois qu'il y a eu 4 ou 5 votes de suite Ferrari.
Mais ce qui est dingue c'est que c'est une polémique qui n'en serait peut-être plus une l'an prochain.
Oui. D'ailleurs, je crois qu'on va en reparler. Je sais plus quand, mais on va en reparler à un moment donné.
On va en reparler à un moment donné. Voilà. Oui, c'était quand même le super favori. C'était quand même la polémique de l'année qui n'est arrivée qu'en Allemagne. Hein. Donc, ce que je disais dans l'intro, c'est vrai. Parce que bon, hein, le petit Lewis Hamilton qui fait joujou à Melbourne, c'était quand même du menu
bah
protein.
Oui, il y avait ça, et puis il y avait aussi la micro polémique du début de saison sur comment ça s'appelle, les ravitaillements, enfin sur le manque d'action en course, parce que c'était pas vraiment une polémique quoi, c'était
Non. Oui, non mais attends, les gens ont dit ça.
Voilà, il y avait vraiment pas
apparaît.
Il y avait vraiment pas, il y avait vraiment pas grand chose en début de saison qui pouvait nous émoustiller. Et c'est aussi pour ça que la F1 a du succès. C'est parce que il y a aussi cette dramatique qui est rajoutée par les polémiques.
Oh oui. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, d'après toi, quelle polémique, on pourrait déjà avoir pour l'an prochain? Est-ce qu'on est capable d'anticiper les trucs qui pourraient faire polémique? Et je parle de l'an prochain, je parle pas de 2013.
Moi, je pense que Lotus c'est pas fini. Je pense que il y aura l'année prochaine, ça sera une saison très tendue et qu'il y aura des propos, il y aura un ensemble de choses l'année prochaine qui seront plutôt bénéfiques pour un contexte polémique. Puis bon, il y a toujours Bernie Ecclestone qui est présent en Formule 1, donc forcément, il va bien nous trouver un. Il nous a dit qu'Hitler c'était un bon dirigeant. Il nous a dit plein de conneries. Il va bien trouver un truc pour parler de l'Holocauste ou un truc dans le genre. Vous inquiétez pas. On peut faire confiance en Bernie. Il est toujours là.
C'est dommage, on a perdu Max. Parce que Max et Bernie.
Max fait un peu son retour là sur la fin de saison.
Non, puis de toute façon, si les voitures sont encore plus au top, c'est ce qu'on disait tout le temps. Par exemple, chez McLaren. Normal que tout va bien. Mais s'ils ont une voiture au top, l'embauche.
Oui, voilà. Non, puis je pense qu'il y aura encore, comme l'a dit Fernando Alonso dans une interview récemment, selon lui, l'une des données clés l'année prochaine, ce sera l'aérodynamique. Et je pense qu'il y aura encore, des astuces du genre double diffuseur ou F-duct. Voilà, c'est pas parce qu'on les a abolis qu'il y aura pas une autre innovation qui fera gagner une voiture. Et que je suis convaincu qu'il y aura un truc en début de saison, qu'on va voir apparaître une innovation, un aileron, un truc dans le genre.
Ou même avec les pneus.
Oui, voilà, ou même avec les pneus.
Il y aura un truc.
Il y a toujours sur cette polémique. Puis je pense aussi que la polémique, moi ça a toujours été un peu mon point de vue. Je pense que la polémique, elle se fait pas toute seule. Je pense qu'on en fait aussi des polémiques.
Non.
Je reste quand même globalement convaincu que l'histoire de l'aileron à Silverstone est une polémique. Qui a un peu été gonflé par l'émotion des gens et parce que aussi Weber en a fait tout un cinéma autour. Bon, c'est pas le cas de Ferrari parce que là ça s'était déroulé en piste, etc. Mais je pense aussi que
tu sais ce que c'est, les garçons n'aiment pas qu'on leur pique leur jouet. Bah lui il a pas aimé qu'on pique son aileron.
Oui. Mais la F1 et les médias ont peur du vide et je pense que s'il y a rien, il y aura forcément quelque chose. Quoi.
Quelque chose à dire. Lewis qui est bien sorti.
Non, je n'ai rien à dire parce que tu sais très bien quel extrait on va mettre et que dans cet extrait, il y a quand même de fortes chances pour que je parle énormément. Donc je n'ai rien à dire.
Non, mais je voulais embrayer sur les deux autres.
Oui.
Sur notamment Lewis, le fait qu'il n'ait pas été sanctionné. Enfin, il a eu quoi finalement en Australie? Il a eu une amende?
Oui, une amende, un truc dérisoire quoi. Alors qu'ils étaient très remontés au mois de mars. S'ils parlaient de
super licence et tout.
Super licence et compagnie. Et puis finalement, je crois qu'il a eu une amende de $300.
Par contre, ils n'ont pas changé le règlement en ce sens-là. Maintenant, ils vont devoir se tenir à carreau.
Ah
les
oui,
pilotes.
Maintenant il y a. Mais c'est ça aussi. C'est dans le sens où c'est une polémique, c'est que finalement on a vraiment deux nominés, Ferrari et Lewis Hamilton, qui ont quand même ouvert un débat, une réflexion et appelé à la nécessité de revoir le règlement en conséquence, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des comportements qu'on peut pas tolérer en Formule 1. Et indirectement, l'affaire de l'aileron se rapproche de Ferrari et des consignes de course, donc.
Oui, tout à fait, c'est le même ordre d'idée.
Ce qui est peut-être le point bénéfique cette année, c'est qu'on a eu des polémiques, mais qui ont quand même abouti sur des débats, et sur des décisions et sur des actions.
Oui, c'est à peu près tout. On va mettre notre extrait.
Oui.
Qui, espérons-le, ne sera pas trop long. Je veux peut-être citer justement ce qu'ont dit les auditeurs sur Massa et Alonso.
Oui, parce que je parle trop.
Donc sur Massa, donc Fab007 l'a mis premier. Donc il aurait mérité de rester en tête. On ne sait pas s'il aurait tenu jusque là, mais perdre une place de cette manière, ça fait mal au sport.
Bah tiens.
Au vrai. Hein. Sato Kamikaze, lui, l'a mis 9e.
Ouais.
Lui, il a pris une optique différente. Et oui, vous vous demandez pourquoi je l'ai mis si bas. Tout simplement parce que je trouve cela pitoyable de s'être laissé marcher sur les pieds de cette manière quand on voit son potentiel. Cela prouve simplement qu'il n'en veut pas assez, qu'il n'en voudra jamais assez pour être champion du monde. Et ça, franchement, ça m'a déçu de sa part.
On parlait du modèle de Weber.
Buchor l'a mis deuxième, rapide, et fait jeu égal avec son coéquipier. Il ne lui manque plus qu'un peu de charisme pour vraiment être au même niveau.
Bilot sur Massa, il l'a mis premier, il a dit « Un an tout juste après son accident, il a prouvé qu'il était de retour, faisant taire les critiques et à son encontre. » C'est vrai. Il gérait bien son duel avec Alonso, jouant avec lui au yo-yo, au niveau des meilleurs tours. Il défendait sa position comme il le fallait, apparaît l'attaque de son équipier de façon très propre et très correcte. C'est tout à fait vrai. Certains pilotes devraient en prendre de la graine. Là aussi c'est vrai. Quand on lui a lâchement demandé de laisser passer Fernando Alonso, le pleurnichard, car celui-ci n'y arrivait pas tout seul. J'espère que ses performances vont le motiver pour la fin de saison. Voilà.
C'est vrai qu'en plus on a dit de Massa qu'il avait des mauvais résultats, que ça pouvait être plus ou moins conséquence. Moi personnellement, j'ai jamais eu l'impression que c'était à cause de ça.
On a nous-mêmes tempéré la dernière fois en disant que voilà, tout simplement, c'est fallait regarder Massa comme un numéro 2 et pas comme un numéro 1, mais le regarder comme un numéro 2, un excellent numéro 2. Et là, ses résultats sont pas décevants. Il fait une bonne saison. Voilà, c'est un excellent numéro 2. Aujourd'hui, c'est évident, il est dans. C'est même là, c'est même sans que Ferrari ait eu besoin de prendre la décision, le fait qu'il acquiesce et qu'il obéisse montre qu'il n'a pas le statut d'un numéro 1. Ce qu'a fait Weber la dernière fois, Massa peut pas le faire et il le fera jamais. Tu ne te transformes pas comme ça. C'est un team player. Voilà, c'est un team player. Mais il n'a pas suffisamment la hargne pour gagner. C'est dommage.
Et donc concernant Alonso, alors Fab 007 l'a mis 5e. Belle course, mais je n'ai pas aimé la victoire. Ouais. Celui-là, on comprend. Sato Kamikaze l'a mis 10e, donc il l'a quand même mis derrière Massa. Celui qui parlait de course manipulée, Avalanche. Hein, c'est vrai. Avec un point d'exclamation. J'espère qu'il est heureux de sa victoire. Le mec chouine que c'est ridicule simplement parce qu'il a encore des chances de titre, et Massa non. Bah désolé Ferdi, une victoire ça se demande pas à mon grand, ça s'obtient. Mais bon, c'est compréhensif de la part de Ferrari, ils ne veulent pas perdre leur championnat. Pas foutu de gagner sans être numéro 1, bah oui, ça serait si bête.
Oui, cette phrase est complexe.
J'ai pas compris la phrase, mais c'est pas grave. Et donc Buchor l'a mis premier, Alonso. En fin de retour sur la plus haute marche du podium, grâce à une voiture compétitive, on retiendra qu'il décroche officiellement, entre guillemets, le statut de numéro 1 au sein de la Scuderia. Voilà. Je sais pas ce qu'a mis Bilot.
Il a mis Alonso, mais en 10e position, alors qu'il a mis Massa en premier. S'il avait été sobre et honnête, je l'aurais mis 2e, mais son attitude d'enfant gâté à la radio, insultant quasiment son équipe au passage, dire que Massa est en tête, soit un fait ridicule, j'appelle ça une insulte, effectivement. Je suis pas d'accord. N'est pas ce qu'on attend d'un vrai pilote qui a fait preuve de lâcheté ensuite, n'amusant pas ses caprices qui ont abouti à cette situation. Adopter l'attitude du mec qui est allé décrocher la gagne à la force du poignet n'est pas respectueux vis-à-vis de Massa, c'est vrai. Ensuite, il a simulé ne pas avoir compris ce qu'il se passait, c'est vrai. Mais bien sûr, ce pilote ne mérite pas les louanges que les journalistes aveuglés lui font. Quand on est champion du monde, on ne se rabat pas sur son équipe quand on n'arrive pas à doubler son coéquipier. Je nuancerai quand même sur...
Il met quand même une pression terrible, hein.
C'est affolant.
Dans ses com radio, hein. C'est affolant. Hein.
Mais
je veux dire, Ferrari, pourtant, ils ont l'habitude d'avoir des phares personnalités. Hein. C'est une grosse équipe. Mais là, c'est limite, ils ont pas la trouille de leur propre.
Je pense qu'ils ont, pas l'habitude des mecs qui veulent autant mettre leur équipe à leur botte. Voilà, Massa est pas ce genre, Raikkonen n'est pas de ce genre.
Mais j'ai même envie de dire, Schumacher, à sa façon, n'est pas de ce genre non plus.
Oui, non, mais en plus,
dans le sens où il était plus dans la construction.
Et puis c'est vrai que les mecs qui aujourd'hui qui sont dans l'équipe n'ont pas forcément connu Schumacher au début de l'équipe, mais plutôt dans la période où déjà Schumacher avait l'équipe autour de lui. Voilà. Oui. Aujourd'hui c'est vrai qu'il se retrouve avec un mec qui veut son équipe. Voilà.
Ah oui.
Je dis clairement. Et faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ferrari, ils ont engagé Alonso pour être un nouveau Schumacher. Et pour le moment on a l'impression qu'ils se donnent pas les moyens. Bah oui, malheureusement. Il faut sacrifier Massa si tu veux avoir un Alonso en pleine forme. Mais sur, je reviendrai sur le fait de l'insulte d'Alonso. C'est pas une insulte, il est juste voilà, c'est ridicule. Moi, c'est ridicule d'avoir à se battre pour la première place si lui est plus rapide alors qu'on se bat entre coéquipiers. Voilà, c'est son point de vue. Maintenant, il insulte pas Massa de dire que c'est ridicule que Massa soit en tête. Il insulte juste la situation. Il dit juste que la situation est ridicule d'avoir à se battre avec son coéquipier alors que lui est plus rapide.
Ce qui est dommage, mais c'est juste une remarque que je fais, c'est que c'est vrai que depuis le début de cette saison, la saison 2010 avait été un peu épargnée par ça, justement. depuis le début de la saison, on ne parlait que de sport. Les résultats étaient, voilà, il n'y avait pas eu de, il y a eu des petits déclassements, des choses comme ça, mais rien de profond par rapport au championnat. 2010, c'était une année où on parlait que de sport et c'était très agréable. Et là, bon, bah, ça vient un peu casser tout ça.
Et j'avais même dit que c'était dommage, d'ailleurs, que les médias cherchent à monter en épingle l'histoire de l'aileron et faire du drame et de la polémique autour de ça, alors que ça n'en est pas. Là, par contre, oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente le SAV d'or. Non, non, Bernie n'a pas Alzheimer.
Combien de fois faut-il vous le dire avec style ? Bernie ne perd pas la raison. Non, 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 non. Bernie n'a pas Alzheimer. Non, 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 non. Il n'a pas le cerveau en beurre. Non, 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 non. Il fuit pas de la cafetière. Non, 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 non. N'appelez pas les infirmières. C'est juste qu'il nous a ressorti les médailles. Tolé, refus total. Il y a 12 mois, il ne s'en souvient pas. Non, il n'a pas perdu la boue. Il n'est pas devenu ma boue. Non, il ne faut pas l'interner. L'enfermer à jamais, et bien sûr jeter les clés. Non, vraiment, ça serait trop con. Non, 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 non. Bernie n'a pas Alzheimer. Non, 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 non. Il n'a pas le cerveau en beurre. Non, 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 non. Il fuit pas de la cafetière. Non, 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 non. N'appelez pas les infirmières. C'est juste qu'il nous a mis sans dessus dessous. Privé rue de Monaco, le championnat, ça ne l'effraie pas. Non, il n'est pas devenu sénile. Le cerveau rendu stérile. Non, il ne faut pas le fagoter. Du camisole doré, l'enfermer pieds poings liés. Vraiment, ça serait trop con. Non, 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 non. Bernie n'a pas Alzheimer. Non, 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 non. Il n'a pas le cerveau en beurre. Non, 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 non. Il fuit pas de la cafetière. Non, 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 non. N'appelez pas les infirmières. C'est juste que dire du mal, il adore ça. Parler de Clotus Virgile, pas d'Hispania. Viens pas.
Ça faisait longtemps.
Oui, c'est vrai, ça faisait très longtemps. Mais là, j'étais obligé. J'ai vu le titre de cette. Il faut dire que j'ai négocié avec Sudi pour pouvoir récupérer cette rubrique-là. Parce que dès que j'ai vu le titre, je fais ah ouais, non, mais ça, faut impérativement. Et vous, j'espère que vous m'en serez reconnaissant parce que j'ai subi cette chanson pendant plusieurs heures que je me suis répété en boucle et en boucle. J'adore la chanteuse, mais cette chanson-là est pas terrible. Donc, monsieur le président.
Les nominés pour le SAV d'or. Non, non, Bernie n'a pas Alzheimer. Récompensant de la plus belle envolée lyrique de Bernie Ecclestone sont.
Bernie qui ne se rappelle pas avoir déjà proposé un système de médailles. Bernie qui ne se rappelle pas que Monaco est intouchable. Bernie qui se rappelle de Lotus et Virgin, mais bizarrement pas de HRT.
Le SAV d'or, non non, Bernie n'a pas Alzheimer, récompensant la plus belle envolée lyrique de Bernie et Ecclestone, est attribué à...
And the winner is... Le vainqueur est... Oh ! J'en connais un qui va être content. C'est Bernie, parce qu'il va avoir un SAV d'or.
Bah ouais.
Mais c'est aussi Shinji, puisqu'il s'agit de Bernie qui ne se rappelle pas que Monaco est intouchable avec 52,9% des suffrages devant Bernie qui ne se rappelle pas avoir déjà proposé un système de médailles, 35,3%, mais Bernie qui se rappelle de Lotus et Virgin, mais bizarrement pas de HRT, 11,8%.
On ne touche pas aux vaches sacrées, voilà. Là, je suis content, c'était mon favori, je suis content, voilà.
On a chacun une petite victoire.
Voilà. Comment on peut imaginer que Monaco puisse partir de la F1? Alors déjà qu'ils ont paumé le rallye de Monte Carlo, hein.
Oui, qui est en IRC, je crois, non?
Oui, il est en IRC.
Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'en IRC, ils reviennent à la vraie, enfin, ils essayent de revenir à la formule ancienne.
Oui, ça marche tellement bien qu'en WRC aussi, ils veulent y revenir. Non, que dire. Le truc avec Monaco, c'est qu'il n'y a rien à dire. Parce que Monaco, enfin, je veux dire, voilà, rien que d'y penser, ça se suffit à soi-même.
Oui.
Voilà. Et que dire de plus? Sainte dévote, virage du casino, l'arrêt de bus, la nouvelle chicane, le bureau de tabac, voilà, la rascasse. C'est quand même un des rares circuits où beaucoup de gens connaissent une bonne partie des virages.
Ouais.
À tel point c'est mythique.
Bon bah je pense que niveau extrait, t'avais fait un drive-through, oui, je crois, à ce sujet-là.
Soit c'était un drive-through, soit c'était une actualité. Mais je pense que ça devait être un drive-through.
Oui, bon, te connaissant, ça devait être un drive-through. On en dit des choses dans les drive-through, mine de rien.
Eh oui. Mais en même temps, il en dit beaucoup de conneries.
Ouais. Bah, puis il a vraiment la mémoire courte, quoi.
Oui. Parce que, bon, ne serait-ce que, la proposition qui est arrivée deuxième, les médailles, voilà, avec 35% quand même. Joli score, quand même, hein, 35%. Ouais. C'est pareil, tu veux dire, il l'a proposé une fois, on lui a dit non. Eh ben, pas tout.
Il revient.
Il propose. Voilà. Tout ça parce que, alors, quand même, le nouveau système de points n'a qu'un an. Et on porte déjà des jugements dessus.
Non, mais surtout, ce qui est rigolo, c'est que il avait fait cette proposition, enfin, il avait renouvelé sa proposition, alors que la saison 2009 avait déjà eu lieu, et oui. On aurait vu que Jenson Button, avec le système de médailles, s'il avait été en vigueur cette année-là, que Jenson Button aurait été titré, je crois, de l'Italie ou.
Oui, le système des médailles met en valeur les victoires, mais peut en effet rendre un championnat court, on va dire.
Puis on le voit que cette année finalement sans médaille mais juste en attribuant une prime à la victoire comme c'est fait cette année, enfin même si c'est plus une prime
même si faut reconnaître que si on était resté quand même au barème à 10 points
ça n'aurait rien changé.
Ça n'aurait rien changé, faut bien l'avouer. Ça aurait changé les choses aux marges, donc en fait plutôt vers le milieu de classement, ouais. Puisqu'on aurait eu des pilotes qui ne marquaient pas de points avant qui en ont marqué, ce qui fait aussi des beaux classements où on a plein de pilotes avec plein de points.
Oui.
Aujourd'hui, c'est vraiment pitoyable d'avoir qu'un seul point en fin de saison. Je pensais à quelque chose. Attends. Pilote, point. Tiens, en début d'année, j'avais parlé de Georges Amick.
Ouais.
Qui était qui était à l'époque le premier avec 6 points, puisqu'en fait, il avait participé à une course. Qu'il avait fini 6 points, ça devait être la deuxième place.
Ah oui.
Et donc, voilà, ça avait fait une moyenne 6, et on avait dit, je crois, si je me souviens bien à l'époque, que finalement, je crois que le deuxième, ça devait être
Hamilton
ou Schumacher.
Hamilton, je crois.
Voilà, à l'époque. Qu'en est-il aujourd'hui?
Je pense aussi que ça n'a pas changé, parce que ça veut dire 6 points en moyenne par course. Il faudrait que ce soit un rookie. Est-ce qu'il y a un rookie cette année qui a été capable de faire 6 points en moyenne par course? Je suis pas sûr.
Non. Eh bien, Lewis Hamilton est passé premier.
Ah!
Avec 6,99.
Oui.
Devant Vettel, 6,15. George Amick reste troisième, 6 points. Fangio, 5,44, ça n'a pas bougé. Schumacher est cinquième, 5,38.
Ouais.
Qui pourrait bien doubler, peut-être pas Amick, mais au moins Fangio, parce que c'est toujours pareil, ce que j'avais dit. Ouais. Comme c'est une moyenne, Schumacher a beaucoup de grands prix au compteur. Et sixième, Alonso, 5,25. Donc ça a quand même pas mal bousculé le début, le haut de ce classement. Ouais. Qui pour le coup ne veut plus rien dire maintenant.
Voilà.
Voilà.
Mais c'est ça déjà, il voulait déjà plus dire grand chose, vu que le nombre de points attribués avait changé. Mais là, c'est vrai que le nombre de points, on est passé de 1 ou 2 points en plus à 15 points en plus pour le vainqueur, quoi.
Oui. Et sinon, Bernie qui ne se rappelle pas en fait des petites équipes. C'est vrai que bon, s'il avait un paddock avec que des Ferrari, des McLaren et des Red Bull, il dirait pas non, je suppose.
Et en plus, c'est le paradoxe, c'est que finalement, si je me rappelle bien, c'est lui qui avait, en début d'année, aidé à sauver HRT, et à la fin, finalement, il les enfonce, oui. Quoi. Donc ça veut dire, je te sors de l'eau pour mieux te renfoncer la tête sous l'eau, quoi. C'est du sadisme.
Non, mais, comment dire, il joue beaucoup sur l'effet médiatique. Donc quand les nouvelles équipes arrivent, ça fait un coup médiatique pour la F1. C'est clair.
Oui, voilà.
C'est tout positif pour lui. Après, oui, c'est clair que Bernie n'est pas un philanthrope, ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Donc voilà, si les petites équipes, par exemple, avaient fait de bons résultats, vraiment, avaient pu se mêler, entre guillemets, avec les équipes déjà installées, je suis sûr qu'il aurait été beaucoup plus élogieux.
Oui, c'est vrai.
Mais là, voilà, comme elles sont derrière, qu'elles sont presque un poids, il a dit même qu'elles servaient à rien, en fait... Oui, c'est pas étonnant de sa part.
Moi, je crois même que quand il a parlé du retour de Schumacher, il avait été plutôt enthousiaste. Et je crois qu'il y a, quelques mois, quand il parlait de Schumacher, c'est voilà, on sent
pareil,
on
sur le coup,
que la valeur Schumacher avait perdu de sa superbe sur le marché, quoi, parce que il était beaucoup moins enthousiaste.
Mais après, Bernie, c'est un mal nécessaire. C'est ça le problème pour les équipes.
C'est quelqu'un qui a su se rendre indispensable. Maintenant, dire que c'est un mal nécessaire, je pense que la F1 pourrait survivre à Bernie. Le problème, c'est qu'il a aujourd'hui, il a su placer ses pions correctement pour faire qu'aujourd'hui la Formule 1 sans lui ne peut pas vivre.
Non, ça c'est vrai. De même qu'on ne peut pas nier que la F1 ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est sans lui.
Ouais.
Voilà. Une chose à dire sur ce grand personnage.
Oui.
Le jeu de mots,
oui, il est petit.
Qui est Bernie. Pour ça, je dis ce grand personnage.
Non, moi je pense que le mieux c'est qu'on te laisse parler, puisque c'est toi qui vas parler pour une fois. Profite-en, j'ai dit.
Oui.
Qu'on te laisse parler par le biais de l'extrait de ton drive.
Un amour de Monaco. Notre amour de Monaco.
Ouais.
Même s'il est chiant en jeu vidéo, même s'il y a des rails partout, même si
c'est un circuit que je ne supporte pas.
Même si c'est pas forcément le plus grand circuit, même si c'est pas les grands prix les plus passionnants au monde, c'est Monaco. Et d'ailleurs, j'en profite, hein, c'est un petit drive-through. Hein. Ah mais, parce que traditionnellement, le Gala FIA a lieu à Monaco. Lieu quand même. Voilà, il a eu lieu cette année. Voilà, Monaco, Rallye Monaco, Grand Prix de Monte Carlo. Monaco, c'est quand même un endroit très prestigieux. Enfin voilà, ça convient parfaitement au gala de la FIA.
Ah ouais, non, ils veulent le déménager pour le mettre à Abu Dhabi ou tout dans le genre, non?
C'est même pas qu'ils veulent le déménager, c'est que l'an prochain, le gala de la FIA aura lieu à New Delhi.
Ah d'accord.
En Inde. Tu sais, le pays qui va découvrir la F1 l'an prochain, qu'on sait pas encore si les tribunes vont être remplies, parce qu'on sait pas vraiment si les Indiens sont des grands fans de F1.
Ah, puis en plus, c'est surtout dire, grosso modo, que le gala FIA, c'est avant tout un gala F1, et que le WTCC et le WRC sont que des invités secondaires, quoi.
Qui ne vont pas, eux ne vont pas en Inde, ouais. Donc vraiment, alors que Monaco, voilà... C'est pas que du clinquant, c'est une place historique du sport auto. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il pourrait avoir lieu à Paris, hein. La FIA est à Paris. Ouais. Et donc voilà, c'est un petit coup de gueule, quitte à défendre encore un petit peu plus Monaco. Extrait?
Extrait.
Bernie a eu, comment dire, il a eu une phrase. Et, comment dire, pour faire simple, on ne doit pas toucher aux vaches sacrées. Hein. Et, Bernie, la semaine dernière, a émis l'idée, alors, sans doute que c'était plus pour mettre la pression hein, que véritablement avec une idée en tête, il a osé dire qu'en gros, il n'y avait que deux choses indispensables à la F1. La marque Formule 1, ce qui peut se comprendre, et Ferrari, ce qui se comprend aussi aisément. Mais évidemment, quand on aime la F1, on a envie de dire qu'il y a une troisième chose qui est indissociable de la F1, c'est le Grand Prix de Monaco. Or, il ne l'a pas dit.
Non.
Car, pour la première fois, alors je le répète, hein, c'est sans doute seulement un coup de pression, il a émis l'idée que même le Grand Prix de Monaco pouvait risquer de disparaître, pour les mêmes raisons que d'autres Grands Prix européens risquent de disparaître, c'est-à-dire que, tout simplement, l'argent, la monnaie, parce que c'est le monnaie, hein, la monnaie qui fait tout, et notamment en F1. Hein. faut savoir qu'actuellement, pourquoi il y a cette phrase? C'est parce que Bernie est en train de renégocier avec les organisateurs de Monaco, qu'on a appris d'ailleurs à l'occasion qu'en fait Monaco payait beaucoup moins que d'autres circuits, hein, là où d'autres circuits payent facilement 20 à 24 millions de dollars par an.
C'est la preuve que Monaco n'est pas si dispensable que ça.
Dispensable, exactement. En même temps que Monaco paye moins, en effet, ça paraît compréhensible, parce que Monaco, c'est quand même, c'est le Grand Prix. Pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas la F1, qui ne connaissent pas la Sport Auto, ils connaissent le Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix de Monaco a une aura qui dépasse notre sport. Le Grand Prix de Monaco est connu pour être une des plus grandes courses du sport auto, une des plus anciennes d'ailleurs aussi. Monaco aussi, c'est ce qui nous rattache au passé. Beaucoup de circuits, beaucoup de Grands Prix, même quand ils sont anciens, ne roulent plus forcément sur les circuits d'il y a 60 ans. Rares sont les cas comme le Royaume-Uni.
Quand on voit par exemple les changements qu'on t'a apporté à Silverstone, c'est le seul circuit qui, quoi qu'il arrive, ne peut pas perdre son âme. Voilà. Sur les changements qui ont été faits par exemple à Silverstone ou à Monza, certains diront qu'ils ont perdu leur âme. Mais là, Monaco, lui, ne peut pas perdre son âme. Le cadre, même le tracé est imposé par l'existence même de la ville.
Monaco a une âme. Oui. C'est important. Voilà, on parle de passion. Monaco a une âme. Monaco nous rattache au Fangio, nous rattache aux Ascari, nous rattache au Graham Hill. C'est ce qui nous rattache à notre passé, à cette passion. On parlait d'éthique, de passion. On est en plein dedans. C'est l'essence même, sans mauvais jeu de mots, de la F1 qui est à Monaco. Alors, on va pas s'affoler plus que ça. C'est certain que c'est sans doute plus un coup de pression par rapport aux organisateurs.
Il avait osé dire l'an dernier qu'on pouvait se passer de Ferrari. Et cette année, il dit qu'on peut plus se passer de Ferrari. C'est le discours de Bernie.
Mais voilà, on touche pas aux vaches sacrées, on touche pas au Grand Prix de Monaco. Et je pense même que si on prend tout ce qui est enquête mondiale, LG, choses comme ça, je veux dire, Monaco est c'est peut-être pas le premier, quoique, je suis pas sûr qu'il arrive quasiment tout le temps premier, il doit être aller dans le trio de tête. C'est l'évident, tout simplement, Monaco. Donc voilà, c'était mon drive-fou.
Bon drive-fou.
Je sais qu'il y avait d'autres choses ce week-end, mais voilà, j'y tenais à celui-là.
Le service après-vente de la F1 vous présente le SAV d'or 2.0.
Mon cher Dino, je souhaite profiter de l'auditoire qui nous est permis en cette cérémonie pour dénoncer une injustice. Oui, une injustice. Et réhabiliter un pan entier de notre civilisation. Car, et tu me comprendras parce que toi aussi tu as fait des études d'histoire, l'histoire a souvent mis en valeur les inventeurs et découvreurs de talents. Les Galilée, les Magellan, les Alexander Fleming. Elle a souvent, par contre, complètement ignoré les presque inventeurs. Des gens qui ont presque failli être célèbres pour leur découverte, mais qui sont passés injustement pour des débiles par leurs contemporains, alors que leurs recherches ont aussi permis de faire de grandes avancées. Des quasi-génies qui auraient presque pu révolutionner notre société grâce à leurs approximatives révolutions. Je veux vous parler du néerlandais Anton Brendel, qui inventa presque le téléphone mobile en 1964. Invention passée sous silence, parce que ce système marchait à rallonge. Ah oui, en 64, il n'y avait pas de batterie. Je veux saluer la mémoire de Michael Thornton, qui nous a quittés récemment, qui fut injustement licencié en 1977, après avoir trouvé la formule du Coca-Cola salé. Tout ça parce que 30 personnes ont été envoyées aux urgences le lendemain de la première journée de test. J'ai une pensée émue pour l'anglais Peter Linfield, qui en 1803, 50 ans avant la naissance de la fédération, codifia pour la première fois les règles du football. Et je te le demande, Dino, qui aurait pu à l'époque lui dire que l'on aurait besoin de buts pour pratiquer ce sport? Mais je peux remonter bien plus loin. Pourquoi a-t-on oublié le français Louis Poyer, qui inventa en 1650 la montre bracelet, qui certes pesait 3 kilos, mais Nous savons tous que par le passé, les hommes étaient plus physiques, ils n'étaient pas assistés par les ordinateurs, les voitures, hein, ils allaient au champ, c'était beaucoup plus musclé, hein. Donc à la limite, 3 kilos, ça leur a musclé le poignet.
C'est vrai.
Hein. C'est complètement injuste. Je ne peux que finir en évoquant le malheur de Grut. Grut qui fut massacré par ses voisins de caverne. Oui, parce qu'à l'époque, les manières étaient quand même plus rudes qu'aujourd'hui. Hein. Hein. Pour avoir inventé la roue. D'accord, elle était triangulaire. Mais les gars, on parle de la roue. Tout ça pour vous rappeler que nous ne devons pas nous moquer, car derrière une idée à la con peut se cacher une découverte qui va révolutionner le monde.
Oui.
Ou pas. Président, c'est à vous.
Les nominés du SAV d'or 2.0 récompensant l'écurie qui a peut-être révolutionné la F1, qui sait, sont...
Sauber, première BMW à moteur Ferrari. Virgin et sa voiture conçue par ordinateur, mais avec le réservoir d'un Solex. HRT, qui utilise la même configuration aérodynamique à Monza qu'à Monaco.
Le SAV d'or 2.0 récompensant l'écurie qui a peut-être révolutionné la F1, qui sait, est attribué à...
And the winner is... Vous remarquez qu'on utilise tout le temps l'anglais parce qu'en fait on sait pas le dire dans d'autres langues.
Il vincitore est...
Comment on dit les vainqueurs en pluriel?
I vincitori.
En italien. Vincitori. Eh bien, ce sont des vincitori.
Oh, nous avons des ex-échos. Encore.
Ce sont des ex-échos. Avec 35,3% chacun. Donc ça a été très 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 ouais. Serré. Sauber, première BMW à moteur Ferrari.
Ouais.
Et Virgin et sa voiture conçue par ordinateur, mais avec le réservoir d'un Solex. Ex-aequo. Il faut quand même noter que le troisième est troisième avec 29,4.
Oui, pas très loin.
Donc, c'est pas très loin. C'est vrai quand même que c'était de belles conneries, ces trucs. Enfin.
Et ils ont peut-être révolutionné le, voilà, c'est ça le truc, c'est que,
ils ont peut-être sans le savoir, révolutionné la... C'est vrai que Sauber Ferrari, enfin, BMW Sauber Ferrari, ça nous manquera quand même l'an prochain.
Oui. Ça sera juste Sauber.
Sauber. Enfin, il y aura des sponsors dessus, ça sera une voiture. Ouais. Tu te rends compte, ça s'appellera Sauber.
Ouais.
Il y aura des vrais sponsors.
Ouais.
Il y aura des vrais pilotes.
Ouais.
C'est la révolution l'an prochain chez Sauber.
Tu veux dire que De La Rosa n'est pas un vrai pilote?
Bah, autant que Luca Badoer. Excuse-moi, mais on lui a mis aussi dans les mains des McLaren.
C'est vrai. Et il va peut-être en récupérer.
Tu crois que ça fait plaisir à BMW d'avoir son nom sur une voiture qu'il ne paye même pas? Et qui en plus. Enfin, non, ça va, les résultats. Son alliance améliorant.
Je pense que ils auraient été plus contents d'avoir leur nom sur la Braun l'an dernier que sur la Sauber cette année. Quitte à choisir.
Et donc Virgin qui avait annoncé dès l'intersaison, oui, on va réduire les coûts, mais en même temps on va faire un truc de malade. On va concevoir notre voiture sur ordinateur.
Mais ils vont continuer.
Tout sur ordinateur. Donc les gars, tu vois, ils essaient de se doter d'une image high-tech, progressiste, du genre, vous voyez, nous, on est une petite équipe, mais si ça se trouve, ça va tellement bien marcher que toutes les autres vont faire la même chose.
Ouais.
Ça arrive parfois. Et au final, ils se retrouvent avec un réservoir trop.
Oui, c'est ça qui est quand même con, parce que c'est ce qui les a handicapés, ça, et on sait pour les petites écuries, c'est le système hydraulique qui a été un vrai handicap. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment deux parties dans la saison des nouvelles écuries. C'est là vraiment où on se dit qu'on a peut-être dû leur laisser un peu plus de temps, ces nouvelles écuries. Enfin, surtout pour Virgin et Lotus, parce que la HRT, c'est un peu un cas à part. C'est qu'il y a vraiment une première moitié de saison où ils ont été confrontés à tout un tas de problèmes de fiabilité, etc. Et finalement, vers la fin de saison, ils n'ont pas eu grand-chose à envier aux écuries, entre guillemets, traditionnelles pour leur fiabilité, parce que souvent, ils finissaient les courses avec les deux voitures. Ils devenaient compétitifs entre eux, et ils se sont vraiment beaucoup rapprochés de Toro Rosso. Et voilà, il y a vraiment une deuxième partie de saison où ils ont été un peu plus compétitifs, alors que certains comme Lotus par exemple ont arrêté le développement, quasiment dès le départ ils avaient arrêté le développement des Bahreïn.
Et encore, ils ont eu de la chance, ils ont eu l'accord des autres équipes, parce que pour changer le réservoir fallait changer la monocoque.
Ah, fallait tout changer, hein.
Voilà, fallait tout changer, mais normalement, t'as pas le droit maintenant. c'est une monocoque par saison. Enfin, faut l'accord de toutes les équipes. C'est-à-dire que c'est... limite, si Lotus ou Acherté voulu être chiant, ils auraient pu dire non, vous restez avec votre réservoir plus petit.
Puis en plus, que...
sachant qu'avec avec le réservoir plus petit, on n'avait pas l'assurance qu'ils finissent les courses.
Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en plus, en 2011, Virgin va devenir Marussia.
Oui. Enfin, ça reste Virgin quand même.
Ça reste Virgin, mais ce qui est rigolo, c'est que c'est quand même une écurie qui fait des F1 virtuelles avant de les concevoir et de les faire rouler sur une piste. Ils les conçoivent que virtuellement, qui s'associe avec un constructeur automobile virtuel. Puisque Marussia n'a pas encore d'usine, c'est un constructeur automobile qui pour le moment a fait que des prototypes, mais qui va commencer la production qu'en 2011, puisque la première usine va ouvrir en 2011, je crois. Donc finalement, ils vont bien ensemble, quoi.
Oui. Et on peut quand même parler du troisième, qui n'a pas été très loin au niveau du classement. Donc HRT, avec cette étrangeté, c'est vraiment la preuve du manque de pognon.
Oui,
parce
voilà.
Que on se dit quand même qu'une équipe qui manquerait de pognon, elle ferait, on va dire, trois configs aéro. C'est en gros, tu fais une config aéro pour Monaco, tu fais une config aéro pour Monza,
et une config pour le reste de la saison.
Enfin, t'en fais une moyenne, on va dire.
Voilà.
Médiane. Et ensuite, t'as juste entre les trois. Plus ou moins, voilà. Et non. HRT a utilisé donc la même config aéro à Monza qu'à Monaco. Sachant que la voiture n'avait pas de F-duct particulièrement, donc ça veut dire des ailerons plutôt braqués
ouais.
Pour aller à Monza, c'est très utile. Tu me diras, la différence n'était pas forcément flagrante, puisque sur les autres circuits, ils se prenaient déjà plusieurs secondes. Donc finalement, entre se prendre 4-5 secondes et se prendre 6-7 secondes, bon, là... et puis... Dallara, faut le dire, a fait un boulot de sagouin sur cette voiture.
Ouais.
Enfin, il y avait des éléments qui habituellement sont en carbone, enfin des choses qu'on voit depuis 20 ans en F1 qui ne l'étaient pas, enfin.
Non, et puis c'est pareil, Dallara, c'est toujours le même problème, c'est quand tu vois arriver, quand t'as un projet, tu te lances dedans, puis quand tu vois que on te paye pas, est-ce que t'as vraiment envie de te casser le cul pour la voiture? C'est voilà, oui. c'est une écurie qui c'est l'exemple type de c'est-à-dire qu'on peut pas mettre toutes les écuries dans le même panier. On peut pas mettre Lotus dans le même panier que Virgin, dans le même panier que HRT, c'est des configurations différentes. HRT, c'est le scénario catastrophe qu'on aurait pu avoir cette année avec les trois écuries. Finalement, il y a qu'une écurie qui a vraiment été à la traîne aussi bien techniquement que financièrement. Les deux autres, Virgin a survécu comme elle pouvait et Lotus, ils s'en sont très bien sortis. Leur financement, il est sur 3 ou 4 ans, je crois. Donc, il y a quand même des destins différents.
Et puis sportivement, on a vu des choses.
Oui, voilà. C'est pour ça que j'aime pas trop qu'on mette les trois dans le même panier. Il y a des situations différentes. Pour moi, les trois écuries ont leur place en Formule 1. Faut leur laisser le temps. Elles peuvent pas devenir des McLaren ou des Ferrari. Putain, j'ai commencé par dire McLaren. Qu'est-ce qui m'arrive? Elles peuvent pas devenir des Red Bull comme ça du jour au lendemain.
C'est ce qu'on disait, hein. Toutes les grandes équipes vont commencer par être des toutes petites équipes.
Ouais. Et c'est peut-être ça, je pense que j'ai peut-être dû le dire en fin de saison, c'est peut-être ça aussi le problème avec la victoire de Red Bull, c'est que maintenant on va avoir l'impression qu'une écurie en 5-6 ans, elle peut être championne du monde.
Oui.
Oui, mais il faut avoir le budget qui va derrière, ce qu'est le cas de Red Bull. Ils ont,
et les talents.
Ils ont le budget derrière, ils ont les talents, ils ont une filière de recrutement de pilotes qui motive tout le monde. Enfin, voilà, il y a un ensemble de choses, faut pas comparer Red Bull à HRT par exemple, ou même à Virgin. C'est vraiment des configurations particulières et faut aussi accepter que dans une saison de Formule 1, il y a une championne du monde et que il y en a 11, puisqu'il y a que 12 écuries en ce moment, il y a 11 écuries qui ne sont là finalement que pour faire de la figuration au final, parce qu'elles n'auront rien à la clé.
Donc question extrait, je crois qu'on a parlé de Virgin et son réservoir en début de saison. Quand justement il était question de changer les châssis, puisqu'il a fallu changer les châssis, en plus ils n'ont pas pu, si je me souviens bien, les changer les deux en même temps. Oui, je crois que c'était au retour de Chine, où en plus, comme il fallait modifier les...
Oui, voilà, c'est parce qu'en fait, ils n'avaient pas eu le temps à cause
des châssis, ça avait été compliqué, ouais.
À cause du volcan, en fait, ils avaient pas eu le temps de faire tous les châssis, donc finalement, ils avaient fait qu'un châssis et ils avaient attendu le Grand Prix suivant.
Et puis donc, pour Sauber et sa première BMW à moteur Ferrari, je suis pas certain qu'on soit
Oh, je pense qu'on en a parlé dans l'émission de pré-saison.
Ouais, sans doute. Si c'est quelque part, c'est dans l'émission de pré-saison. Si un jour vous tombez sur une question de Trivial Pursuit qui vous demande « Y a-t-il déjà eu une BMW avec un moteur Ferrari ?» Eh bien, vous pourrez dire « Oui !»
Oui,
oui. Puisque nous allons parler de BMW Sauber.
Ferrari.
Ferrari, c'est 29. Donc, l'écurie suisse qui n'est plus BMW, mais qui s'appelle toujours BMW, même s'ils n'ont pas récupéré officiellement la place de BMW, mais qui vont quand même récupérer le pognon de BMW. Voilà. Voilà.
Rien suivi, c'est normal, c'est la FIA.
Non, mais ce qui compte surtout, c'est qu'ils vont avoir le pognon de BM.
Voilà. Et
surtout ça.
D'ailleurs, ça n'a pas choqué. Ils avaient très tôt dit qu'ils garderaient le nom BMW et que Ferrari n'avait pas opposé de veto.
C'est vrai que ça fait bizarre, BMW Ferrari, BMW Sauber Ferrari.
Voilà.
Ce qui est drôle, c'est que quand c'était BMW, ça s'appelait déjà BMW Sauber, mais on disait plus Sauber.
Voilà. On disait juste BMW.
Et là, en même temps, on n'a pas trop envie de dire BMW, quoi. Donc, avec une livrée, d'ailleurs, qui elle aussi est dans le prolongement.
Ah, je croyais que t'allais dire avec une moyenne de Yannick.
Ah,
non.
Je pense qu'il y a tes moyennes ce soir.
Ah oui, non mais je...
Vas-y, donnez tes moyennes.
Ne méprise pas les auditeurs, Shinji. Tu les méprises, là, comme ça. Tu méprises les auditeurs. Voilà, c'est, je prends juste le classement.
Je t'ai dit, je t'ai dit. Nouveau concept 2010, on insulte les auditeurs.
Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, on s'en fout, alors. Alors, une moyenne générale de 12,91. Meilleure note proposée par Sato, un 17. Et par Berthaillot aussi, un 17. Et plus mauvaise note, un 8, proposée par Enzo. Et une moyenne générale de 11, puisque moi, je lui ai donné un 13, et que toi, Shinji, tu lui as donné un 12.
Oui. J'ai failli lui donner un peu plus, mais c'est vrai que quand j'étais très enthousiaste quand j'ai vu la présentation.
Moi après.
Et un petit peu moins, mais pas beaucoup, mais un petit peu moins en la voyant tourner.
Ouais.
Mais c'est ce blanc sans sponsor. C'est... Et sinon, oui, une livrée qui, elle aussi, donc pour le nom de BM, hein, parce que globalement, ils ont juste changé le bleu pour du noir. Et qu'ils ont enlevé tous les sponsors. Bon, ça, c'est moins... Il n'y en avait déjà pas beaucoup chez BM,
ouais.
Mais c'était BM.
Est-ce qu'ils n'ont pas enlevé exprès pour faire pitié, ou dans l'espoir de répéter le montage financier qui avait été fait par Braun, il y a un sponsor par Grand Prix?
Bah, souhaitons-le, parce que s'ils doivent avoir une voiture comme ça toute la saison, donc globalement, elle restera noire et blanche toute la saison.
Voilà.
Reste à attendre les quelques sponsors, et pas simplement le nom des pilotes sur le capot moteur.
Voilà.
Où peut-on placer cette voiture? Parce que c'est vrai que
derrière Ferrari.
C'est pas vraiment une nouvelle équipe, mais c'est plus BM. Mais en même temps, c'est plus BM, mais ça reste Sauber. Mais c'est plus BM. Donc,
mais ça reste
Sauber. C'est une nouvelle équipe, mais c'est une nouvelle équipe, mais sans être une nouvelle équipe.
Virgin, l'écurie britannique propriété de Richard Branson, pourrait revoir sa copie concernant la VR01 qui devrait prochainement bénéficier d'une version B. En effet, les ingénieurs ont sous-estimé la consommation du moteur Cosworth et ont opté pour un réservoir limite qui ne permet pas à Timo Glock et Luca Di Grassi de finir les courses, à moins bien évidemment de rouler en mode économie à 3 secondes des Lotus. Virgin a donc obtenu l'autorisation de la FIA pour revoir son châssis, mais devra passer de nouveaux crash tests. Tout espoir n'est donc pas perdu quant à un retour de Ralf Schumacher.
D'ailleurs, Richard Branson se fixe un objectif clair, atteindre les top teams d'ici 3 ans. En attendant, ses pilotes aimeraient tout simplement atteindre l'arrivée.
Le service après-vente de la F1 vous présente le SAV d'or, 5 étoiles, crash test, Rune Cap.
Alors, bonjour ou rebonjour à tous. Nous nous retrouvons pour ce nouveau SAV d'or, qui consacrait cette fois-ci au SAV d'or 5 étoiles au crash test Orion Cap, récompensant le crash de l'année, hein, comme nous aimons aussi la F1 parce qu'il y a des crashs. Et
oui,
j'avais envie de comme je fais souvent cette saison, j'avais envie de te piquer une idée. Et on va faire un petit chiffre.
Ouais.
On va faire le chiffre 179,8.
179,8.
Ouais, c'est une vitesse.
Non. Ouais, c'est un nombre de G. Ça ferait beaucoup, mais...
Ah, ça ferait beaucoup, oui.
Mais c'est pas ça.
Ah, je voudrais des précisions.
Est-ce que c'est le plus gros G pris, en fait, sur un...
Bûcheur, dépêche-toi, Bûcheur.
Sur un choc.
Oh, oh Bûcheur, tu t'es séparé, là.
C'est pas le gars qui s'est arrêté sur un demi-mètre ou un truc comme ça?
Oui, c'est David Perley.
Ah oui, oui.
C'est le nombre de...
David Perley est un miraculé, faut le dire.
qui a encaissé lors de son crash pendant les essais préqualificatifs du Grand Prix de Grande-Bretagne 1977, 179,8 G, c'est-à-dire qu'il a encaissé 179,8 fois le poids de son corps.
C'est pas son corps. Mmh.
Donc pour un homme, alors je crois que j'ai calculé pour un homme de 70 kilos, pendant un court instant, il a pesé 12,6 tonnes.
Je crois qu'il a freiné, je crois, peut-être de 200 à 0 sur une distance extrêmement réduite.
Ça correspond à un passage de 173 km/h à 0 sur une distance de 66 cm.
Oh là là.
Et comment il a réussi ça?
Je pense que
comment il a fait ça?
Ouais. Je pense qu'en fait, la force d'impact dans un mur fait que au moment de l'impact, la voiture continue quand même d'avancer.
Oui, oui, oui.
D'accord, tout se détruit, mais la voiture continue d'avancer. Donc je pense que 66 cm, c'est entre le début de l'impact et le moment où elle s'arrête, il avait parcouru 66 cm. Donc, il faut savoir quand même qu'un homme peut encaisser une centaine de G sur une période courte, hein. C'est-à-dire que si on vivait dans un monde soumis continuellement à 100 G, l'homme n'existerait pas. Mais sur une période très courte, l'homme peut encaisser 100 G, comme on le voit avec David Perley, qui finalement s'en est sorti bien, puisque il n'a eu que des fractures au crâne et aux jambes, ce qui est quand même très important. Il a eu plusieurs mois de convalescence, mais il s'en est finalement sorti vivant.
Ouais.
Parce qu'il est surtout à une époque, en 1977, c'est pas encore la sécurité ultime. Et alors on a un record. Alors, il faut savoir que c'est le record officiel du Guinness Book des records.
Mmh.
Hein, pour un homme ayant survécu à un accident aussi violent, c'est le record officiel. Et il y a un record inofficiel qui est attribué à Kenny Brack, qui est un pilote d'IndyCar, qui a assuré sur son site internet qu'il avait encaissé un choc de 214 G lors d'un crash sur le Texas Motor Speedway en 2001. Alors sur ce même circuit, la course du championnat kart avait été annulée 2 heures avant le départ en 2001, suite aux inquiétudes manifestées par les médecins et par les pilotes, qui lors des séances d'essai s'étaient plaints de désorientation à cause de la vitesse. C'est l'un des circuits
rapide, ouais.
Ils s'étaient plaints de désorientation, de perte de repères, et donc les médecins se sont mis d'accord pour annuler finalement la course. Alors, j'aimerais savoir, alors attention, tu parlais des G que peuvent encaisser les pilotes, j'aimerais savoir, vous allez chacun me faire une proposition, le plus proche l'emporte, hein, c'est comme ça, c'est entre copains, combien de G latéraux peut encaisser un pilote?
6.
J'ai une G.
15.
Alors c'est 5,5, donc c'est plus sur le plus proche.
Hein? Sûr, ouais.
À 15, tu verras que techniquement c'est pas possible, Fiji.
Ah, d'accord.
C'est possible, mais il y a des conséquences.
Oui, je m'en doute.
Lors de freinages brutaux, par
exemple, 7 ou 8.
À la chicane comment ça s'appelle, la première chicane de Monza, au freinage, combien en caisse de G? Tu dis 8, Bûcheur, Shinji?
Non, plutôt 7.
7.
Ouais, 5.
32, j'ai dit.
32?
Non, tu dis combien, tu dis?
Non, 5.
Eh ben, c'est 4.
4, ah.
D'accord.
Quoi?
4, j'ai
dit. Mais 4, c'est déjà beaucoup.
Non, mais c'est surtout ce qui me surprend, c'est qu'une F1 en latéral, ça permet de générer 5,5 G, mais au freinage, alors que normalement, l'adhérence est meilleure, ça qu'est-ce que 4G?
Bah oui.
C'est ça.
En tout cas, bon. Suzy est plus proche que toi. C'est le principal.
Oui, 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 je...
C'est vrai que, alors moi j'ai trouvé 5,5G pour les latéraux, mais j'ai aussi trouvé 4, donc j'ai retenu le truc le plus fort. Maintenant je pense que c'est 5,5G, c'est surtout par rapport à la tête, et que la tête est quand même beaucoup plus mobile.
Elle est
plus exposée en latéral, donc je pense qu'il y a peut-être plus de G qui sont subis du fait que la tête soit plus mobile, alors qu'au freinage c'est tout le corps qui avance, donc peut-être que l'ensemble est peut-être ralenti. Enfin, je suis pas.
Justement, j'avais tendance à dire que maintenant les casques sont très très bien tenus latéralement, donc ils peuvent encaisser pas mal de G latéralement.
Par contre, effectivement.
Si le point faible, c'est effectivement au freinage, c'est que le corps lui ne bouge pas, vu comment ils sont harnachés avec les harnais. Et par contre, du coup, la tête et le cou supportent vachement de vers l'avant.
Ouais, mais ouais, c'est seulement très récent qu'ils ont relevé les bords. Je crois c'est l'année dernière, parce qu'ils ont relevé les bords autour du casque, qui font que les pilotes aujourd'hui peuvent se reposer sur le casque. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que je suis tombé sur internet sur une vidéo de Martin Blundell. Enfin, c'est Blundell ou Brundle qui est commentateur à la BBC. C'est Blundell.
Brundle.
C'est Brundle. De Martin Brundle, qui avait essayé la Williams il y a 2-3 ans et qui avait fait un tour embarqué, et dans le commentaire il disait qu'à chaque virage à Silverstone c'était une vraie souffrance, que même si bon, il y avait le fait qu'ils soient en activité, qu'il ait fini de piloter depuis longtemps, etc., que même par rapport à son souvenir qu'il avait des F1 que lui a pu piloter, les F1 aujourd'hui étaient beaucoup plus exigeantes physiquement encore que les F1 de son époque. En même temps, il n'avait pas forcément des F1 qui allaient vite. Donc. Oh non, il était chez McLaren, je dis que non. Il était chez McLaren, Brundle.
Me semble, mais pas... Je me demande si c'est pas l'époque que, tu sais, genre McLaren, Peugeot et tout ça.
Ouais.
Ah, la mauvaise époque.
Voilà, c'est pour ça.
Vu que c'est français, c'est pourri.
Non, mais Stick, c'est Peugeot en Formule 1, c'est pourri.
Et donc, on a fait les G latéraux, on a fait les G au freinage, maintenant les G à l'accélération.
Vas-y,
accélération. Bah, l'accélération est quand même moins brutale que le freinage. 3G.
Ouais, Bouchard.
4.
Eh ben, c'est Shinji qui est le plus proche, moi j'ai trouvé le chiffre de 1,5G.
1,5.
Parce que l'accélération finalement est plus progressive, là où le freinage est très brutal, l'accélération est beaucoup plus progressive, donc on monte peu à peu en G, donc je pense qu'il y a un temps
C'est ce que disent souvent les gens qui ont la chance de monter parfois dans une F1, ils disent c'est pas l'accélération qui est le plus impressionnant, même si on monte très haut, c'est au freinage. Surtout avec les freins carbone et tout, ça freine très très bien, ça freine très très court, donc très très brusque.
Alors, puisqu'on est dans l'accélération, est-ce que vous pourriez me dire à peu près combien de G ont encaissé Fernando Alonso et Felipe Massa lorsqu'ils ont essayé le Formula Rossa du Ferrari World d'Abu Dhabi récemment?
C'est 1,7 je crois, non?
Alors Philippe, t'as pas le droit de te tromper, toi tu devrais être obligé de me donner le chiffre exact, puisque je te rappelle que j'ai fait une petite fracture qui passait d'aperçu là-dessus.
Bah écoute, bon, ça reste quand même un roller coaster, les gens ont pas de casque, pas de... Enfin, ils ont des protections, mais pour pas non plus... peut-être 7G. Ouais.
Mais 7G, il faut une préparation physique hein, pour le FIC. Hein.
Ouais, bah, c'est... Prenez plus de chasse, donc je calcule, attends. 1, 2, 2... Ouais, c'est toi le plus proche, puisque c'est 4,8G.
Ah, quand même.
C'est quand même énorme, hein, 4,8G à l'accélération.
Oui,
c'est quand même énorme.
4,8. Bah ça, il faut un certificat médical pour monter dans le truc. Mais
c'est ce qu'ils indiquent sur le site officiel du Formula Rossa, quoi. Ils indiquent 4,8G. C'est impressionnant.
Non, ils annoncent une vitesse de pointe à 200 et quelques, hein.
Ouais, voilà.
Ouais, je sais que l'accélération aussi, elle est de, ouais, le temps d'accélération est impressionnant au démarrage, puisque ça passe de... C'est quoi, 0 à 200 ou 160 une ou deux secondes, là, c'est impressionnant. Après, quoi.
Alors, est-ce que vous vous rappelez le dernier gros crash qu'aurait pu soumettre DG, dont on aurait pu s'intéresser au nombre de G?
Kubica.
Kubica,
bah, oui. Kubica, effectivement, qu'elle a dans 2008, en 2008 ou de, non, 2007. Oui, c'est ça, c'est 2007 qu'il a eu son crash. Il avait encaissé combien de G?
Là, ça a dû être conséquent, ouais.
Tu dis combien, Bouchard, toi?
50.
50. Shinji?
70.
Eh ben, c'est Shinji qui est le plus proche, 75.
Oh.
75G, c'est quand même quasiment deux fois et demi, presque, moins que David Perley ou que Scarlett et Kelly Brack, quand même. Mais c'est quand même énorme. Ouais.
Il était, ce crash, il était impressionnant, hein.
J'ai jamais vu.
Ouais, il m'a marqué. Tu trouves facilement des vidéos, honnêtement.
Oui, oui. Bah, mais c'est pas pareil quand tu vois en direct, quoi.
Mais faut le voir. Le truc, c'est que si tu vois une vidéo maintenant, tu te dis, tu sais que ça s'est bien terminé.
Voilà, c'est bien terminé.
J'ai dit que j'ai vu le crash, pour moi, c'était 94 bis.
Ah, il a détruit la voiture, quoi.
Mais pulvérisé, et le pire, c'est que on le voyait pas bouger. Je me souviens, Moncé, tu sentais les commentateurs qui craignaient le pire, quoi. Il bouge pas, c'est le premier truc. Ah, moi, ça, il m'a marqué, celui-là.
Alors, tu disais, Shinji, tout à l'heure que, tu parlais de 15G, en force latérale ou au freinage, je sais plus. Je disais que c'était techniquement pas possible. J'aimerais savoir, à peu près, à quel nombre de G un homme peut-il supporter, avant de perdre connaissance?
Bah, théoriquement, ça doit être,
Oui, j'aurais tendance à dire.
5-6G? Ouais, je sais pas, 6G?
Plus. En plus, je dirais 20 ou 30.
Donc t'as dit combien, toi, Shinji?
6.
6? Et toi, plus sûr, tu dis 20 ou 30?
Ouais, je dis 30.
De toute façon, même avec 20, t'étais trop loin. C'est 9.
9.
À savoir que 9G, c'est à peu près...
Ah. Oui, mais ils ont les combinaisons anti-G, justement, voilà, qui permettent de réduire l'information, effectivement.
Ce que plus les pilotes de chasse...
Pour un chemin normal, déjà, prendre 3-4G, normalement, c'est déjà éprouvant. Alors,
et enfin, vraiment une toute dernière question, là, mais vraiment pour votre culture personnelle. J'aimerais savoir combien on prend de G dans Reggae.
2.
2.
Bravo, plusieurs.
Elle était nulle, celle-là.
Et donc, monsieur le président, il est maintenant temps de s'intéresser aux lauréats 2010. Oui. Et d'abord aux nominés.
Et donc, les nominés pour le SAV d'or 5 étoiles au crash test Euro NCAP, récompensant le plus beau crash de l'année, sont
Sébastien Buemi dans Ceux qui m'aiment perdront leur train. Vite Antonio Liuzzi dans L'homme qui murmurait au ponton de Choumi. Marc Weber dans Vol au-dessus d'un nid de Kova.
Et le SAV d'or 5 étoiles au crash test Euro NCAP, récompensant le plus beau crash de l'année, est attribué à...
Alors je prends l'enveloppe, je ne ferai pas de suspense inutile. D'accord, faites-moi confiance, surtout qu'il n'y a pas de suspense.
C'est
clair. Le vainqueur est... Vite Antonio, non je déconne. Non, je recommence. Allez. C'est pas de suspense, ça. Et le vainqueur est Sébastien Buem. Non, je déconne aussi. Et donc, j'ai pas besoin de faire de suspense parce que le vainqueur est donc Marc Weber dans Vol au-dessus d'un Kova avec le score affligeant de 70,6%.
C'est pas vrai.
Contre 23,5% pour Sébastien Buem dans Ceux qui m'aiment perdront leur train, et 5,9% pour Vite Antonio Liuzzi et Michael Schumacher aussi, puisqu'il a aussi eu un petit crash dans cette histoire, dans L'homme qui murmurait au ponton de Choumi. Donc félicitations à Marc Weber.
Comment il peut avoir que 70%?
Oui.
C'est étonnant.
Non, c'est une des grandes images de la F1, c'est une des grandes images du sport en général cette année en 2010.
Mais c'est vrai que c'est l'une des images de l'année. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas une seule photo. Il y a des images qui sont prises sur la télé, mais il n'y a pas de photo. Tous les photographes disent non, ce coin-là, on a vite égalé parce qu'il n'y avait rien de bon à prendre et tout, les images étaient pourries. Donc personne
n'y allait.
Et voilà, donc de bol, c'était l'endroit où il fallait être ce week-end-là.
Ah bon, oui.
Ça dépend de la contribution de Kova aussi, hein, dans ce crash. Faut pas l'oublier.
Alors, comme extrait, on va vous passer un petit souvenir de Valence.
Pour une fois que c'est passé un fricateur, ça, voilà.
On en parle beaucoup trop par rapport à ce que ça mérite.
Déjà, bon, ce départ était pas terrible. Quand est venu Donc, ce huitième tour, c'est bien ça?
C'est rapidement.
Non, il a fait qu'un tour, là.
Enfin, le tour est long hein, à Valence. Il fait près de 5 km. J'ai huitième tour, c'est ça. Hein, safety car de la 9e à 14e, donc. Où il est tombé, donc, sur Kovalainen. Et où, en effet, il nous a fait du patinage artistique, de l'aviation, du...
Il n'est pas tombé sur, il est retombé bien devant. Hein.
Mmh. Ah oui, il est bien devant. Un vibrant hommage à sa course au Mans, hein, puisque on l'a fait remarquer,
oui.
Hein, ça lui était arrivé sur les fameuses Mercedes, pareil, Looping.
D'ailleurs, j'ai un petit surnom pour lui, soit Looping, hein, comme dans, soit Monsieur 720 degrés.
Donc rappelons-le, hein, quand on voit le fond plat d'une voiture, c'est mauvais signe.
Mais c'est rare parce que je crois que le dernier précédent que moi j'ai trouvé, c'était... D'accord, ok.
Attention.
Je ferme ma gueule.
Donc,
non mais je crois que c'est rare quand même. Hein.
Oui, on parlera.
Très impressionnant. Pour l'instant, la saison n'est pas finie, c'est quand même le crash de l'année pour l'instant.
Bah, il est pas sans rappeler par son côté impressionnant parce que bon après une fois qu'on a vu la voiture,
oui,
on a plus eu trop d'inquiétude. Moi finalement j'étais plus inquiet pour son arrivée dans les pneus que pour son
oui.
son looping, mmh. Mais quasiment aussi impressionnant que l'accident de Robert Kubica en 2008.
Alors la voiture était quand même moins à Montréal, Kubica il a pulvérisé sa voiture.
Voilà, non mais c'est bien justement pour ça que j'ai précisé avant, c'est moins impressionnant sur le résultat de la voiture, mais sur le coup, moi j'étais devant mon écran, j'étais scotché.
Ouais, puis quand on connaît un peu le sport auto, c'est vrai que c'est pas forcément les incidents les plus spectaculaires qui sont les plus dangereux.
Oui, regardez la sortie de Soumy.
Voilà, la sortie de Chimini, même l'an dernier massage, à part le choc. Après, si tu vois pas le choc à l'origine, c'est une simple partie de piste. Hein.
La preuve qu'une F1...
Ça vole.
Mais tout le monde dit qu'il a fait une magnifique pub pour Red Bull.
Bah oui.
Tu l'as dit d'ailleurs en intro.
Oui, c'est la blague du moment en F1, parce que voilà, sur les Red Bull, il y a marqué ce qu'on voit dans les pubs en français. Hein. Red Bull vous donne des ailes. Bon, bah voilà, quoi.
D'ailleurs, je crois que c'était sur un site d'actu, il y avait un titre qui était très joli, c'était « Weber et Vettel, taureau ailé ».
Le service après-vente de la F1 représente...
Bonsoir. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de phénomènes étranges et mystérieux. Peut-être même que certains d'entre vous en ont vécu. Je veux parler des phénomènes de voyance, de télépathie, de transmission de pensée, de phénomènes d'apparition, de contact avec l'au-delà, de guérisons inexpliquées, de phénomènes d'esprits frappeurs, ce que l'on appelle les fameux poltergeists. Eh bien, c'est à ces phénomènes que ce trophée des SAV d'or est consacré. Ce soir, nous allons aborder un phénomène qui dépasse l'entendement humain. Ce soir, c'est la limite même entre le physique et la métaphysique qui va être remise en cause. Plus terrifiant que les pommes volantes, plus intrigant que les maisons qui saignent, plus fascinant que le chat sur YouTube qui se tient debout. Imaginez. Ils sont 24, ils sont jeunes, ils sont insouciants. Ils ont cette lumière de la jeunesse et la chance de pratiquer leur passion, la course automobile. Presque tous les week-ends, c'est avec fougue que ces jeunes hommes pratiquent leur discipline, leur art. Et pourtant, tout n'est pas rose dans ce décor idyllique. Car depuis plusieurs années, une menace gronde, tapie dans l'ombre, dont le seul but semble être de malmener ses victimes. Cette force, chers auditeurs, est capable de manipuler l'espace et le temps en ralentissant les voitures, en faisant disparaître de l'argent du budget des équipes, mais plus incroyable encore, est capable de manipuler le temps en rajoutant des secondes d'une manière complètement inexpliquée pour nos plus grands spécialistes scientifiques. Pour seul indice, trois lettres. Un F, un I et un A. Est-ce en réalité les symboles d'une race ancienne qui a vécu des millions d'années sur cette planète ? Peut-être est-ce le bonjour d'une société extraterrestre qui souhaite communiquer avec nous ? À moins que nous soyons en réalité en face d'une organisation bien humaine, d'êtres supérieurs au pouvoir psionique dont le seul but est de dominer la planète et la race humaine. En cette fin d'année, le SAV de la F1 a fait une sélection des phénomènes les plus étranges arrivés cette année, en attendant qu'un jour, la vérité éclate sur cette conspiration. Alors, qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Qu'est-ce que tu bois, Doudou Didon ? Président, c'est à vous.
Les nominés pour le SAV d'or de la pénalité mystère récompensant la pénalité la plus absurde sont...
La pénalité de 5 secondes pour non-respect du temps imposé sous safety car à Valence. La pénalité non pénalisante de Lewis Hamilton pour dépassement non autorisé de la safety car à Valence. La pénalité de Michael Schumacher pour dépassement non autorisé dans le dernier tour à Monaco.
Le SAV d'or de la pénalité mystère récompensant la pénalité la plus absurde est attribué à...
Alors...
C'est dur pour son courrier ce soir.
C'est toujours la même lettre.
Il va réussir à la lire un jour.
Le vainqueur est la pénalité non pénalisante de Lewis Hamilton pour dépassement non autorisé de la safety car à Valence.
What the fuck ?
Moi aussi, je pensais que ce serait
alors
passé.
Là, honnêtement, alors là, je suis surpris.
J'ai envie de dire, tu es sur le cul.
Sur le cul.
C'est vrai que, enfin, quand on l'a faite, c'était pas spécialement notre favori.
Moi, personnellement, je pensais vraiment que le favori, c'était Michael Schumacher.
Moi aussi, je pensais à Schumi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ce souci-là. C'est vrai qu'il y avait eu les pénalités de 5 secondes aussi. Celle qui a gagné, je pensais vraiment pas que ce soit celle-là. Je pensais qu'elle finirait 3e. Parce que même les 5 secondes en rafale, c'était quand même quelque chose.
Je pense vraiment que le truc aussi, c'est que les pénalités de 5 secondes et la pénalité de Michael Schumacher, même si on ne les comprend pas, même si certains ne les comprennent pas, à chaque fois, il y avait toujours quand même une base dans le règlement. Alors que c'est vrai que la pénalité de Lewis Hamilton, alors déjà la règle de la safety car déjà était un peu obscure et il a fallu connaître la base du règlement, donc comme les autres.
Était, mais il est toujours obscur.
Et en plus, ce qui s'est rajouté à ça, c'est qu'il a fallu une éternité avant qu'il y ait pénalité. Contrairement aux deux autres où finalement il y a infraction au règlement, la pénalité était appliquée tout de suite ou après la course comme c'est prévu dans le règlement. Donc, finalement, il y avait que la surprise de cette règle qu'on connaissait pas ou qu'on connaissait mal. Dans le cas d'Hamilton, c'est d'abord il y a la surprise de l'arrêt qu'on connaît pas ou qu'on connaît mal, mais en plus il y a la surprise de ils ont mis une demi-heure avant de pénaliser le pilote quoi. Et quels ont été les scores exactement, Shinji?
Donc le vainqueur a gagné avec 47,1%. Donc la pénalité de Schumacher a eu 29,4 et la pénalité de 5 secondes à Valence 23,5. Donc c'est quand même assez serré même derrière. Et par contre le vainqueur ressort bien justement alors que c'était pas spécialement le favori nous de notre côté. Il y en avait quand même deux qui concernaient Valence.
C'est vrai que ça a été un peu un petit bilan, je sais pas, c'est l'émission d'Abu Dhabi je crois avec Bilo où j'avais fait un petit bilan des pénalités
et c'était à Valence qu'on avait plus
non mais en termes de nombre de pénalités dans le week-end, le nombre de pilotes pénalisés etc, c'était Valence où il y en avait quasiment le plus.
Mais peut-être qu'il aurait fallu mettre dans l'intitulé de Schumi dépassement non autorisé sous drapeau vert, parce que c'est quand même ça le paradoxe.
Voilà, c'est le problème, c'est que c'est même là finalement, parce que c'est toujours le problème, c'est que c'était sous drapeau vert parce que le drapeau vert était agité, mais c'était dans le règlement, c'est encore sous le régime du drapeau jaune. C'est tout le problème de cette pénalité, quoi. C'est qu'on est visuellement sous drapeau vert, techniquement.
Là encore, c'était quelque chose qu'on ne comprenait pas.
Bon, c'est des pénalités qu'on a déjà beaucoup sur lesquelles on a déjà beaucoup glosé. Hein.
Encore, je pense qu'en comparaison, on a plus parlé de Schumi que de celle de Lewis. Enfin, Lewis, on a beaucoup parlé. Mais...
Moi, je me rappelle. Non, c'était pas un drive-through, c'était pour le sondage que j'avais dit la pénalité non pénalisante.
Ouais.
D'ailleurs, je me rappelle même plus. Ça sera intéressant de voir. Il faudrait que j'aille voir combien avait fait cette proposition dans le sondage. Donc, c'était à Valence.
Oui, c'est Valence.
Alors, ce qui est étonnant en plus, c'est que cette cette proposition n'avait pas gagné dans le sondage puisqu'il y avait eu 34 votes.
Ah.
Et c'était comme c'était la course où il y avait eu le looping de Weber, donc le looping de Weber avait réuni 53% des votes. La plus de pénalités non pénalisantes avait fait c'était un ensemble pour Valence, ça avait fait 26% la plus de pénalités non pénalisantes, donc il n'y avait pas que Hamilton, il y avait aussi les 5 secondes qui finalement ne pénalisaient personne.
Les 5 secondes, ouais.
Et il y avait la bonne course des Ferrari ruinée par la safety car, 21%. Mais ça c'était quand même un Grand Prix de Valence cette année qui avait été marqué par pas mal d'événements, un Grand Prix très mystérieux.
Bah, il s'est passé des choses.
Il faudrait que tu envoies tes enquêteurs à Valence. Avec, je sais pas, des sourciers, des magnétiseurs, des gourous et compagnie.
Il y a peut-être un cimetière de paella maudite, c'est de Valence.
Une fois n'est pas coutume, hein, on n'a pas trop d'idées sur l'extrait qu'on va vous passer, mais il y en aura peut-être un.
Oui, il y en aura peut-être un.
On sait dans quelle émission ça se trouve.
Oui, ça au moins, c'est sûr.
Maintenant, il faudra trouver.
En même temps, vous en foutez, vous. Vous allez l'entendre tout de suite. C'est nous qui allons devoir chercher. Non, c'est vrai, hein, faut se mettre à la place de l'auditeur. À la quatrième place, et là, attention, il faudrait que c'est un jingle, c'est le gros morceau de l'émission.
Lewis Hamilton.
D'ailleurs, le gros morceau de l'émission tourne autour de Lewis Hamilton cette année.
C'est vrai.
Et donc, oui, c'est Lewis Hamilton que j'ai mis sixième. Non, qu'est-ce que je dis? Je l'ai pas mis sixième, je l'ai même mis cinquième. Que Dino, tu as mis quatrième. Que les auditeurs ont mis troisième. Pour le coup, on pourra rien reprocher aux éditeurs.
Ah ouais.
Et Enzo. Ouais, mais j'ai envie de le comprendre, Enzo. Je veux dire, moi, son vote, je le comprends.
Parce que moi aussi, Enzo... je me comprends.
Oui. Parce que Enzo l'a mis dixième.
Ah, c'est beau, Enzo.
Oui, tout à fait. C'est beau.
Bah, honnêtement,
j'ai osé faire ce que...
Non, mais moi, je comprends, quoi.
En fait, non, c'est... Bon. Il y peut rien. On va dire, il y peut rien que la FIA donne une pénalité qui n'est pas à la mesure de ce qu'il a gagné. Et de ce qu'il aurait pu perdre et qu'il a pas perdu, on va dire quand même.
Disons que c'est pas tant sur la pénalité. C'est vrai qu'il a eu la pénalité standard dans ce genre de cas. Mais le problème, c'est que ça a été pris 20 minutes après l'incident.
C'est ça,
alors
c'est que
les images sont sans conteste.
Non, c'est plus que, encore une fois, c'est Hamilton.
Oui.
Et là, moi, depuis le début de l'année, ça commence à faire beaucoup, je pense. Et là, ça plaisante plus. Déjà, quand c'était dans les stands, bon, moi, j'avais dit que c'était, il y avait personne, donc c'était pas trop grave, etc. Mais là, c'est la voiture de sécurité. Et moi, je dis, faut pas rigoler ça. Il y avait un gros crash. Donc, il y a même la voiture de médicale, il me semble, derrière.
Ouais.
C'était un peu limite.
Oui, parce que je me souviens, enfin, c'était pas exactement la même chose, mais il y avait eu, je crois que c'était Rosberg à Singapour, vous vous souvenez? Et vous vous souvenez, il avait pris sa pénalité, mais le plus tard possible. C'est-à-dire que le drive-through, c'est quelque chose, c'est dans les 5 minutes qu'il faut que ça soit appliqué. Sinon, c'est trop tard.
Et ce que je comprends pas, moi, j'ai un peu... Le drive-through, ok, je suis bien. Bon, c'est pas mal. Mais pourquoi on ne refait plus les pénalités comme il y avait avant? C'était 25 secondes d'attente de pénalité.
Il y avait le stop and go.
Un stop and go. Le drive-through, moi, je trouve ça ridicule.
Mais même, moi, j'en viens même à me dire que, notamment pour le cas des... Alors, on a eu les fameuses pénalités là de 5 secondes, parce qu'il y a un temps imposé, etc. Pourquoi, alors qu'il y a un système électronique embarqué qui est unique désormais, pourquoi est-ce que la FIA ne prend pas le contrôle de ces systèmes-là pour automatiquement, dès qu'il y a une voiture de sécurité, caler toutes les voitures sur un régime moteur maximal, on va dire 15 000 tours? Les voitures, elles font des tours en 2 minutes parce que c'est le maximum que ce qu'elles pourront faire. Mmh. Et on n'en parlera plus.
Il y a bien un bouton de limiteur de vitesse, donc c'est possible.
Hein. Oui, voilà. C'est pas de la commande à distance non plus, quoi. Le limiteur, c'est quand même. Il faut laisser la possibilité au pilote d'agir lui-même dans sa voiture. Tu peux pas dire.
Non, mais
t'as un système qui bloque à distance, c'est trop dangereux. Non, ça peut.
Disons que, attention, je dis pas, faut tout d'un coup, dès qu'il y a le safety car, on appuie sur le bouton sans prévenir les pilotes. Faut prévenir les pilotes, attention, dans 10 secondes, déploiement de la safety car, dans 10 secondes, vous allez réduire votre régime moteur, et soit c'est eux qui les réduisent, soit.
Pourquoi pas,
on le réduit pour leur compte. Pourquoi je pense qu'il faut... La mauvaise idée de la FIA, ça a été de dire, oui, pendant la safety car, il y a un temps imposé qui sera décidé par rapport au temps qui sera réalisé pendant la troisième séance d'essai libre à la 12e minute, en fonction de la règle des 107%.
Faut pas aller trop lentement, faut pas aller trop vite.
Il faut dire, voilà, une voiture aujourd'hui, elle est limitée à 18 000 tours. Quand il y a safety car, on la limite à 15 000 tours. Voilà, on prévient les pilotes avant, soit ils le réduisent eux-mêmes à 15 000 tours, soit c'est nous qui le réduisons. Dans ce cas-là, ils sont au courant. Et il n'y a plus de polémique, il n'y a plus de Vettel qui est devant la safety car, d'Hamilton, parce que c'est ça aussi. En même temps, Hamilton, on le comprend. J'ai envie de le comprendre. Pourquoi il dépasse la safety car? Il est juste à côté. Il tente sa chance, parce qu'il sait très bien que lui va se faire coincer et pas Vettel.
Bah, il a voulu jouer sur le fait que la safety car était encore dans la voie de sortie des stands, donc pas encore réellement sur la piste. Et on voit bien, ils sont en parallèle, et voyant ça, Hamilton accélère. Mais non, ça n'a pas marché.
Non mais moi j'ai vraiment le sentiment, c'est un peu et bon c'est du Hamilton tout craché, mais quelque part t'es sur la route et puis t'as une voie d'accélération à ta droite et t'as une ambulance qui veut passer, je suis désolé, mais tu laisses passer, tu n'accélères pas pour qu'elle passe derrière quoi.
Oui.
Et pour moi c'est la même image quoi.
Le service après-vente de la F1 vous présente le SAV d'or d'honneur.
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs,
reprenez...
Non, j'ai dit, ne reprenez pas avec moi tout son cœur. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un homme d'exception. Mais avant cela, j'aimerais revenir, si vous me le permettez, au commencement. Au commencement, il y avait Jean-Pierre. On va l'appeler comme ça, sinon, vu qu'il y a un nom facilement identifiable, ça risque de tuer un peu le suspense sur le lauréat de ce SAV d'or d'honneur. Donc voilà, au commencement, il y avait Jean-Pierre. Donc, au commencement... Jean-Pierre créa le sable et l'eau. Oui, c'était un lundi et Jean-Pierre n'avait pas grand-chose à faire ce jour-là, et en plus, ça n'était pas le jour du bain. Heureusement d'ailleurs, parce que quand on y réfléchit, il n'aurait pas eu d'eau pour mettre dans son bain. Donc il aurait eu l'air con, parce qu'il aurait pris un bain sans eau, puisque s'il avait pris son bain, eh ben il n'aurait pas créé l'eau et le sable. D'ailleurs, j'y pense... Comment qu'il crée le bain ? Non, je recommence, excusez-moi, je recommence. Donc, au commencement, Jean-Pierre créa la baignoire. Oui, parce que je viens juste de vous expliquer que, enfin, si vous avez suivi, que Jean-Pierre, en fait, c'est-à-dire que s'il crée la, normalement, c'est pas jour du pain. Mais il faut qu'il, enfin, c'est pour créer, enfin, bref, hein. Il crée la baignoire. Un point, c'est tout. Donc, le deuxième jour, parce qu'il a dormi entre temps, le deuxième jour, il créa le sable et l'eau. C'était un mardi, hein, normal, puisque ça vient après lundi. Et d'ailleurs, c'était toujours pas le jour du pain. Mais bon, ça, tout le monde s'en fout, hein, puisque tout le monde s'en fout. Toujours est-il donc que Jean-Pierre avait décidé de créer le sable et l'eau. Mais bon, il avait décidé ça comme ça, il ne savait pas trop quoi en faire, donc il a fait la sieste. Et comme il était un petit peu crevé de, déjà qu'il avait créé la baignoire, le sable et l'eau, et ben la sieste elle s'est transformée en une nuit et il se réveilla au matin du troisième jour. Et au matin du troisième jour, Dieu sait, enfin Jean-Pierre sait comment, l'eau et le sable avaient formé du ciment. Jean-Pierre décida donc de créer des briques, des tonnes de briques. Et comme il y avait beaucoup de briques, vraiment beaucoup, de quoi construire un truc, Jean-Pierre décida d'appeler des potes à l'aide. Il attendit donc le quatrième jour et créa le téléphone pour appeler ses potes. Un seul répondit à l'appel, hein, normal, le téléphone vient juste d'être créé, donc le temps que l'innovation se propage, etc., c'est pas encore un truc de masse, il y a que quelques-uns de ses potes qui ont le téléphone, certains sont sur messagerie, bon, bref, il y en a qu'un seul qui répond, et il s'appelait Chris, le pote, hein, pas le téléphone, parce que le téléphone, lui, il s'appelait téléphone, enfin, voilà, quand Jean-Pierre, il a créé le téléphone, il a dit, voilà, je crée le téléphone. Donc, Chris vient, et devant ce tas de briques, il s'exclame, tu t'appelles Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon usine. Et là, Jean-Pierre lui a répondu, moi c'est Jean-Pierre. Parce que si vous avez suivi l'histoire, Chris il a dit que tu t'appelles Pierre. Mais en fait, il s'appelle pas Pierre, il s'appelle Jean-Pierre. D'accord? Enfin voilà, donc, Jean-Pierre il est énervé. Donc du coup, il vire son pote parce qu'il est trop énervé. Et comme il était pas mal énervé, hein, Jean-Pierre, mais moi je m'y perds. Et comme cette brouille avec Chris l'avait pas mal fatigué, Jean-Pierre préféra arrêter là sa journée qui, avouons-le, en dehors de la création du téléphone, qui n'apporte pas grand-chose à notre histoire, n'avait pas forcément été très, très, très prolifique. Donc Jean-Pierre se réveilla au matin du cinquième jour, en ayant repensé toute la nuit à ce que lui avait dit Chris. C'était un vendredi, il faisait plutôt beau. Jean-Pierre décida, comme l'avait suggéré la veille Chris, de créer une usine. Alors ça lui a pris la journée entière. Il avait d'abord fallu dessiner des plans, ce qui avait poussé malheureusement Jean-Pierre à créer Hermantilk, ce qu'il n'allait pas tarder à regretter. Il avait dû ensuite créer des ouvriers, pas des Coréens, parce que bon, Jean-Pierre, il est pas con non plus. Il a vu le Grand Prix de Corée, il sait que les Coréens sont pas forcément super raccord dans les délais. Et vers 16h, allez, 16h20 à tout casser, Hermantilk était venu le voir en lui disant qu'il manquait de matériaux pour la construction, que le chantier allait prendre du retard, etc. Enfin, et puis là, Jean-Pierre, il dit, oh, allez, donc, il est 16h, les gars, le chantier il ferme à 18h, on va pas avoir le temps de finir. Donc, vite, il se précipita et il créa de l'acier, du béton, du bois, du carbone, des carottes, des courgettes, un gros oignon, 500 grammes de viande hachée, du sel, du poivre, mélangé tout dans un robot mixeur, versé dans une grande terrine et enfourné thermostat 7 pendant 2 bonnes heures. À la fin de la journée, Jean-Pierre put admirer son usine flambant neuve. Normal, elle vient juste d'être créée en même temps. Et comme il avait déjà créé le téléphone, il n'eut pas besoin d'attendre le matin du 6e jour pour appeler Chris et l'inviter à voir le travail accompli depuis le 4e jour. On sait très bien qu'entre potes, on s'engueule et puis bon, le lendemain, c'est oublié. Le lendemain, donc, le 6e jour, Jean-Pierre se réveilla sur les coups de 15h avec la gueule de bois. Normal, lui et Chris avaient quand même bien fêté ça la veille, à grands coups de pinard, de vodka, de whisky, que Jean-Pierre avait trouvé quand même quelques minutes pour créer rapidement. Et Jean-Pierre fit une dernière fois le tour en s'étant réveillé, en ayant pris tout ce qu'il fallait pour que le mal de tête passe. Il fit le tour de son usine en se demandant ce qu'elle allait bien pouvoir produire. Et il resta là dans son usine à marcher comme ça, à errer, tel des Hébreux dans un désert à la recherche d'un je sais pas. Et il errait comme ça, en se disant mais qu'est-ce que mon usine va pouvoir produire. Il réfléchissait intensément. Et c'est sur les coups de 23h50 et quelques qu'il eut l'idée de construire des formules. Parce qu'il faut dire, c'était un gros fan de bagnole. Même si ça n'existait pas encore, il avait décidé que ce serait un gros fan de bagnole, donc il voulait construire des formules. Mais bon, il est déjà 23h50 et quelques. Il a plus beaucoup de temps pour créer des formules. Hein. Sinon, sa journée, elle est foutue. Il n'a rien foutu, sa journée-là. Donc, il faut qu'il trouve une solution pas trop longue à créer, mais assez efficace. Et c'est ainsi qu'il créa Adrian Newey. Le 7e jour, après avoir créé la baignoire, le sable et l'eau, les briques, le téléphone, Hermantilk, des ouvriers, mais pas des Coréens, de l'acier, du béton, du bois, du carbone, des carottes, des courgettes, un gros oignon, 500 grammes de viande hachée, du sel, du poivre, un robot mixeur, une grande terrine, un four et une pendule pour surveiller le temps de cuisson, et Adrian Newey, Jean-Pierre put admirer le fruit de son dur labeur. Ainsi décida-t-il que le 7e jour aurait lieu les Grands Prix, où les bolides d'Adrian Newey feraient des merveilles pendant que lui se reposerait devant la télé. Sauf que il a créé quand la télé? Ah merde. C'est pas grave, je recommence pas, donc voilà. Et ils vécurent heureux, et qu'est-ce que... Enfin, bref. Donc, le SAV d'or d'honneur 2010 est attribué à l'unanimité des animateurs du SAV, et pour l'ensemble de son œuvre, non pas à Jean-Pierre, mais à Herman... pas à Hermantilk non plus.
Non.
À Adrian Newey.
Adrian
Reviens chez Ferrari, même si t'en es jamais parti. Adrian Newey et SAV d'or d'honneur 2010.
Pour son année 2010, il faut le dire, pourquoi aussi on le donne à Ali, c'est que on met souvent en avant les pilotes, on met souvent en avant les directeurs d'équipe, mais la F1, je pense que vous ne serez pas les derniers à le dire, c'est aussi une discipline d'ingénieurs. Et donc Adrian Newey, pour cette année, mais aussi pour son boulot depuis 20 ans, méritait bien un SAV d'or d'honneur, puisque c'est vrai que avec Ross Brawn, ce sont les deux meilleurs ingénieurs de la F1 de ces 10-15 dernières années.
T'as qu'à regarder les titres qu'ils ont vus, quoi.
Oui, les grandes années Williams, c'est lui. Les titres McLaren avec Hakkinen, c'est lui. Il est resté très longtemps chez McLaren avant de passer chez Red Bull, où en effet, il a permis à Red Bull d'être le Red Bull qu'on connaît aujourd'hui. Alors qu'il a commencé il y a, encore je dis 20 ans, mais plus loin encore que ça. Hein. Donc, il a commencé chez March. March qui...
Leighton House après, non ?
Est devenu Leighton House. C'est là où vraiment il s'est distingué, hein, avec déjà les premières qualités de ses voitures. Sauf que bon, comme c'était que Leighton House, il a fini par quitter l'écurie. Et c'est là que Williams a eu du nez de le recruter pour concevoir ses voitures. Et c'est intéressant parce que on est en plus dans une époque où les voitures sont plus conçues comme avant. Où c'est vrai que t'avais un Colin Chapman derrière un modèle, par exemple. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus des équipes. C'est plus compliqué de mettre derrière une voiture un homme.
C'est assez symbolique parce que finalement, quand on prend, si on prend depuis 90, on va se considérer nous comme des fans de F1 lambda. Il y a des ingénieurs, s'il y a deux noms d'ingénieurs qui nous viennent à l'esprit dès qu'on parle d'un ingénieur, c'est Brawn et c'est Newey, c'est des vrais créatifs quoi. Quand on voit
c'est de la trempe de Chapman parce que c'est le modèle quand même ou d'un John Barnard.
Oui, aussi.
Barnard, hein, qui est quand même la première F1 en fibre de carbone, enfin tout en fibre de carbone.
Et d'ailleurs, ce qui est significatif, c'est que quand tu regardes par exemple la F2008, qu'est-ce qu'elle a de révolutionnaire? Pas grand-chose. Quand tu regardes la BGP 01, elle a le double diffuseur. Quand tu regardes cette année la Red Bull, il y a le diffuseur soufflé, il y a les suspensions, enfin il y a tout un tas de choses.
Même toutes les choses genre les suspensions à poussoir sont déjà arrivées l'an dernier, le moteur qui est dans une coque, alors que tu vois par exemple, c'est vrai que chez McLaren, alors qu'ils ont pensé le F-Duct, qui est quand même une belle invention d'un point de vue aéro et justement nouveauté, on n'a pas forcément nom d'ingénieur derrière. Donc, et d'ailleurs, je crois que Newey, c'est derrière les pilotes, ça doit être le plus gros salaire de chez Red Bull. Hein. Peut-être même devant Horner. Hein.
Ouais, et puis on sent pour un ingénieur qu'il a une... C'est pas un simple ingénieur, quoi. Il a une aura...
Ce qui était intéressant, il avait donné une interview à FR Racing et il a aussi un côté un peu à l'ancienne. Parce qu'on... On a parlé lors d'un des SAV d'or de Virgin et de la voiture complètement faite par ordinateur. Et je crois d'ailleurs que c'était la une du F1 Racing. Newey continue à dessiner sur une planche à dessin. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des ingénieurs travaillent avec une tablette graphique sur ordinateur. Et ben non, lui, il continue quand même à concevoir et à dessiner des choses sur papier. Qu'ensuite, bien évidemment, il transfère sur ordinateur. Mais voilà, ça lui donne un côté à l'ancienne... Qui lui convient bien d'ailleurs, je trouve.
Ouais, et puis c'est il y a un signe révélateur quoi. Il a eu une offre de Ferrari.
Chez Ferrari, il aurait peut-être pas autant les mains libres.
Mais c'est ça. Mais moi, c'est ce que je pense et je pense que ça sert à rien de chercher le débauché. Je pense que il est très bien chez Red Bull. Ouais. Il a les mains libres.
D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé pas cette année, mais l'an dernier. Il a ce côté d'ailleurs un peu Colin Chapman, mais Colin Chapman en plus avait un côté sécurité. C'est qu'il a ce côté, je vais tellement loin que parfois il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui pour lui dire
ouais.
Stop, parce que c'est quelqu'un voilà qui ça va être un bouillonnement d'idées. Donc suffit de voir par exemple ce qu'il a fait pour Gran Turismo 5. Et en plus vous notez qu'il a une petite carrière de pilote amateur. Oui. Donc notamment en 2006. Alors c'est quand même, on va dire, c'est significatif d'une carrière de pilote, hein, puisqu'il a détruit une Ford GT40.
Il aime bien détruire la voiture, sauf qu'il a eu un accident cette année au mois d'août ou au mois de juillet.
Oui, il a tendance, à beaucoup cracher les bagnoles. Enfin, n'empêche qu'en 2007, il a pas fait la tournée nord-américaine de F1 parce qu'il a participé aux 24 heures du Mans au volant d'une Ferrari F430.
Ah.
Comme quoi, hein. Et il a terminé à une 22e place, 4e de la catégorie ouais. GT2. Et ben franchement, pour quelqu'un qui n'est pas un pilote professionnel, même si il est dans l'univers du sport auto, c'est pas mal, je veux dire, pour un pilote amateur, 4e de sa catégorie, 22e au moment.
Mais par
c'est
certains côtés, il fait penser à un ingénieur. Un patron d'écurie dont t'as fait le portrait en cours de saison, c'est Alfred Neubauer. qui était capable de prendre le volant de sa voiture pour qui n'était pas un pilote extraordinaire, mais qui était capable de prendre le volant de sa voiture pour prendre conscience de ce que vivait le pilote et vraiment prendre la mesure de des indications du pilote. Et voilà, c'est New West, c'est ça aussi. Je pense que s'il est bon aussi en voiture, c'est que il a une passion pour la voiture, que il a compris qu'il n'avait peut-être pas forcément, comme Neubauer, il a compris qu'il n'avait pas forcément le talent pour être un pilote, mais qu'il aime tellement les voitures et qu'il a la fibre technique que il a un lien spécial avec les pilotes, avec la voiture. Il sent les choses. Là où certains ingénieurs parfois sont un peu trop techniques.
Une des forces de Newey, c'est sa capacité d'adaptation au règlement.
Quand on voit l'année dernière, hein, 2009,
voilà, exactement.
La manière dont il s'est adapté au double diffuseur, et dont finalement il est passé d'une voiture qui était sans doute la meilleure voiture sans double diffuseur, et qui, s'il n'avait pas eu le double diffuseur, aurait sans doute été champion du monde. La manière dont il a réussi à adapter cette voiture et à changer complètement la philosophie sur certains aspects, et à garder une voiture qui restait quand même ultra compétitive, quoi.
Même sans parler de l'évolution dans la saison, mais entre les saisons. Parce que surtout, bah là, par exemple, en 2009, il y avait des grosses évolutions techniques. Il arrive parfois que des équipes et des ingénieurs qui avaient le coup avec certaines réglementations se retrouvent complètement perdus parce que, voilà, ça leur convient plus trop. Et lui, c'est le contraire. C'est-à-dire que justement, de la dernière réglementation technique, il a su parfaitement l'analyser et l'exploiter. Et ça, c'est quand même une grande force de s'adapter. C'est-à-dire que, bon, si on parle de 2013,
c'est un atout pour Red Bull.
Voilà, on va pas trop s'inquiéter pour Adrian Newey. Je veux dire, pour d'autres, on sait jamais. Va peut-être y avoir de mauvaises surprises. C'est tout sur Adrian Newey.
Bah oui, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il reste plus qu'à trouver un extrait quelque part.
Ouh, ça va être dur.
J'aimerais savoir pour quelle raison, quoi qu'il arrive, Sébastien Vettel ne pourra pas battre son record personnel sur le circuit de Suzuka au Japon dans 15 jours.
C'est par rapport à son âge ?
Non.
Est-ce que c'est le nombre de fois qu'il a abandonné, le pourcentage qu'il a abandonné par rapport... Non. C'est une question de date ?
Non.
Ah, il aura fini son Suzuku ?
Non.
C'est son nombre de victoires par saison ?
Non. C'est un record spécifique à Suzuka. Elle est tordue cette question, en fait. Ça faisait une bonne question. Ouais.
Carrément.
Mais j'avais peur que ça se sache. Surtout que je te connais et que tu es assez cultivé et que je pense que tu l'aurais su entre-temps. Il a profité qu'il était en Asie pour aller à un endroit où il a fait ce record sur Suzuka.
C'est lié à côté de la course ou c'est vraiment un record lié à la F1?
Bah, ça n'a aucun rapport avec la course.
Ouais.
Mais c'est un rapport intime avec Suzuka. Mais ça n'a aucun rapport avec...
C'est la grande roue?
Non.
Il va faire du shopping à Tokyo, c'est pas...
Ah, c'est à Tokyo qu'il est allé.
Ah, c'est quand même pas encore le Tokyo Game Show.
Ah, c'est lié au Tokyo Game Show.
C'est lié à GT5?
Oui.
Ah, oui. Ah. C'est pas lié à la Red Bull, je sais pas comment elle s'appelle,
oui,
là.
Le prototype Red Bull X1.
Qui est donc une voiture qui n'existe pas.
Une voiture qui n'existe pas. Qui
ne va exister que dans GT5.
Oui, un peu comme la plupart des GT5 ces dernières années, c'est-à-dire qu'ils ont un modèle un peu exceptionnel. Alors, on se rappelle par exemple même si lui il a existé, l'espace F1 dans, je crois que c'est le premier ou le deuxième.
Il existait avant la série.
Oui, voilà, lui il existait avant.
Il a été mis dedans, mais il y a le Citroën GT par exemple.
Dans le prologue par exemple. Et là donc effectivement il y aura le Red Bull X1. C'est un prototype à la fois entre un prototype du Mans et une Formule 1, puisque il a... Voilà.
Et donc, le circuit de Suzuka est dans Gran Turismo 5. Et il me semble que cette voiture fait un temps de malade.
Sébastien Vettel a battu le record du tour de Suzuka de 20 secondes avec cette voiture.
20 secondes.
Après, là, on avait parlé du générique et de la bande-annonce du jeu.
Bande-annonce, oui.
Et que dedans, on avait remarqué la présence un peu mystérieuse de Adrian Newey et de Sébastien Vettel. Et on s'était dit, ça se trouve, c'est que la Red Bull va être la Formule 1 à gagner. Comme c'est souvent le cas.
Ça serait pas étonnant qu'il y soit, parce que s'il y a ce modèle-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir un constructeur Red Bull.
Oui.
Donc, s'il y a ça, il y aura peut-être juste à côté la Formule 1.
Voilà. Et en fait, non. C'est parce que le Gran Turismo a demandé à Adrian Newey, lui ont demandé si ça lui ferait plaisir de concevoir une voiture avec aucune limite.
Ah bah oui.
La seule limite, c'est d'être réaliste. Mais oui. Aucune contrainte réglementaire de poids, de voilà, faut juste que cette voiture voilà. Techniquement puisse rouler. Et donc ils ont eu aussi l'idée de demander en partenariat avec Red Bull, de demander à Sébastien Vettel d'être le pilote de cette voiture à la fois dans le jeu et aussi de faire un test lors du Tokyo Game Show où il a battu de 20 secondes le tour de Suzuka.
Le service après-vente de la F1 vous présente le SAV d'or. Chut, vous allez le réveiller.
La F1, on le sait, ce sont des grands prix qui sont passionnants, mais aussi ce sont des grands prix qui sont ennuyeux. Et qui dit ennui dit sommeil. Qui dit sommeil dit matelas. Hein, parce que déjà qu'on se fait chier à regarder certaines courses, autant roupiller en faisant un bon choix de literie. Alors pourquoi ne pas vous offrir pour Noël un bon matelas pour regarder les grands prix chiants? Et donc, parce que au SAV de la F1, hein, on est aussi un peu service conso, c'est notre côté un peu Julien Courbet. Nous avons décidé de vous prodiguer quelques conseils pour acheter votre futur matelas, accessoire indispensable du fan de F1. Donc, matelas, conseils pratiques, hein, des conseils en provenance du site fichepratique.net, qui est un site expert en je ne sais pas quoi, mais qui est expert. La régénération du corps au cours de la nuit passe par un corps soutenu tout au long du sommeil. Le critère important dans le choix d'un matelas est, si vous dormez habituellement sur le côté, que la colonne vertébrale soit droite, et dans les autres cas, si vous dormez sur le dos ou sur le ventre, que la forme naturelle en S soit respectée. Pour bien dormir, un bon matelas doit vous être adapté. Il faut donc choisir son matelas en fonction de son profil. Si vous avez le dos sensible, votre matelas idéal a une épaisseur de 24 à 27 cm. C'est précis comme une pièce de F1. Son confort est assez ferme, avec un sommier soit à latte fixe ou soit articulé. Si vous souffrez d'allergie, comme beaucoup d'ailleurs, le latex est la matière idéale. C'est une matière saine, sans microbes ni bactéries, mais son coût est plus élevé. Un matelas à ressort a aussi l'avantage d'être naturellement aéré et donc de donner moins de prise aux acariens et autres poussières. Si jamais il existe une différence de poids entre les deux occupants du lit, privilégiez un matelas à ressort qui maintient bien le corps point par point sans se déformer. De plus, il accompagne bien les mouvements. Si vous voulez un petit prix, optez pour un matelas en mousse de polyéther ou polyéthane. Cette mousse perforée permet l'aération et donc évacue l'humidité. Donc si vous suivez beaucoup pendant la nuit, ça peut être intéressant. À noter que le matelas, c'est un outil de haute technologie et donc il y a des nouveautés. Oui, comme les téléphones portables, les télés, les F1, il y a des nouveautés en matelas. Et par exemple, pour la régulation thermique, des matelas à ressort équipés d'aérateurs et même de cassettes anti-humidité avec des produits antibactériens. Ils pensent à tout, hein. Toujours pour la lutte anti-acarien, une housse en tencel à poser sur le matelas. Chacun son confort, avec les matelas en mousse avec soutien différencié, par exemple un côté est ferme, l'autre souple, ou grâce à des petits ressorts, 700 par matelas. Tu te rends compte, il y a 700 ressorts dans un matelas. Enfin, en tout cas, on peut en mettre 700, en sachet individuellement. Et le must, c'est le confort global, avec des mousses viscoélastiques, dites mousse à mémoire qui accompagne tous les mouvements et favorise la circulation sanguine. Alors, il est conseillé de choisir du matelas de marque. Donc, personnellement, puisque vous êtes fan de sport automobile, je vous conseillerais les Dunlopilo, puisque c'est Dunlop, et que Epeda n'a jamais fait de pneus de F1. Alors, en attendant que vous couriez tous dans votre Conforama le plus proche, cher président, pouvez-vous nous donner les nominés? Et cher Dino, pouvez-vous nous donner les nominés, si vous êtes réveillé?
Hein?
Dino?
Oui, excuse-moi, désolé. C'était passionnant, j'ai dit. C'était vraiment... D'ailleurs, on peut peut-être même aller plus loin que tu dis que l'on est une émission de service. On peut indiquer, par exemple, que chez Conforama, vous aurez des matelas allant de 49 à 1329 euros. dans toutes les sortes de matelas. Chez But, vous aurez des matelas allant de 48 euros, donc à peu près même début de fourchette, mais un peu moins cher sur le haut de la fourchette, 1000 euros. Voilà. Oui.
Mais c'est de la viscose élastique ou du polyéthane?
C'est un petit peu tout, ça intègre tout ce qui est matelas, donc matelas mousse, matelas ressort, sur matelas, sous matelas, matelas du milieu, matelas interchangeable.
C'est quand même de la technologie à portée de fesses, j'ai envie de dire, parce que vous mettez vos fesses dessus. Alors, cher président.
Les nominés pour le SAV d'or, chut, vous allez le réveiller, récompensant la course la plus barbante, sont...
Le Grand Prix de Bahreïn pour Voyage au bout de l'ennui. Le Grand Prix du Brésil pour Z. Le Grand Prix du Japon pour Suzuka, à la Vallée du Sommeil.
Le SAV d'or, chut, vous allez le réveiller, récompensant la course la plus barbante est attribuée à...
Alors, le vainqueur, s'il ne s'est pas endormi, et...
Les Grands Prix ne dorment pas, Cindy.
Nous, oui, par contre.
Oui, c'est vrai. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont fous d'être barbants.
Et c'est avec un immense plaisir que je vais annoncer le Grand Prix de Bahreïn pour Voyage au bout de l'ennui.
Waouh, quelle surprise!
Avec 64,7%, deux tiers quand même, ouais. Devant le Grand Prix du Brésil, 29,4%, et le Grand Prix du Japon, 5,9% seulement.
Le Grand Prix du Japon qui a été sauvé par Kamui Kobayashi.
C'est con, il aurait dû pleuvoir dimanche. Pourquoi il a plus que samedi?
Mais alors, pour tout dire, le Grand Prix du Brésil a failli faire une petite surprise sur le début des votes. Vraiment, sur le début des votes, le Grand Prix du Brésil était en tête, et c'est sur la fin des votes que le Grand Prix de Bahreïn a pris le large.
Ah, que... Eh oui, le Grand Prix de Bahreïn, même quand on rajoute une grosse kikette dedans,
Ouais. Bah
non,
mais tu vois,
ça sauve rien.
J'ai même pas envie d'en parler, parce que j'ai peur qu'on s'ennuie, quoi.
Grosse kékette qui sera supprimée l'an prochain, rappelons-le.
Ouais. Fort heureusement.
Oui, bah en même temps, vu ce que ça a apporté...
Ouais, voilà. Puis, enfin, le circuit en soi est pas trop mal, enfin, il est pas inintéressant, moi j'aime, ouais, j'aime assez. Voilà, ça, la nouvelle portion apporte pas grand-chose. S'il y a des... Petit passage sympa, notamment le tout début de la portion qui est assez sympa, juste avant la chicane. Mais bon, sur le reste, il n'y a pas d'opportunité de dépassement, il n'y a pas de... ça apporte rien de plus. Ce qui manque vraiment, finalement, à Bahreïn, c'est des opportunités de dépassement. Et la nouvelle portion n'en rajoute pas. Au contraire, elle en supprime une. C'est le grand freinage en montée avant la nouvelle portion.
Et partout, du sable et du sable.
Ouais, et du sable.
Oui.
Et Lewis.
Et des émirs.
Et du sable. Et Lewis.
Et des...
Et du sable.
Et du pétrole.
Et du pétrole. Et Jensen. Et du sable. Et Fernando. Et du sable. Et du sable. Et du sable.
Et des émirs.
En même temps, c'est normal que Bahreïn soit SAV d'or. Chut, vous allez le réveiller, parce que bon, en même temps, c'est le pays du marchand de sable.
Bah oui.
Donc voilà.
Alors, je me pose une question. C'est quand le marchand de sable va chercher son stock de sable. Est-ce qu'il y va avec Nounours? Parce que Nounours, quand même, il est super poilu, donc il doit quand même être super mal à l'aise à Bahreïn, parce qu'il fait super chaud.
Ah oui, là, c'est une question...
Ça veut dire que Nounours peut pas l'aider.
Oui, voilà, c'est vrai. Être chaud.
Ou alors, il lui faut du super déo, mais du super déo pour Nounours.
Mais pas ça du... Oui, mais en plus, pas du déo bille, parce que après ça colle et ça fait un gros poil, quoi.
Bon, je sais pas. Ah ouais? Non, mais sinon, oui, ça fait comme s'il était tout lustré, ça ferait moche.
Ouais, voilà.
Ça ferait peur à Nicolas et Pimprenel.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. C'est triste. Parce que même un ours devrait avoir le droit d'aller à Bahreïn.
Bah, oui. Non, mais il y a des eaux quand même là-bas.
Ouais, mais il fait chaud quand même.
Ouais,
toi, un ours, mais... il se balade, quoi, genre à une altitude de combien 250, 300 mètres de hauteur dans l'atmosphère. Sachant que la température baisse. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même un nounours qui est quand même habitué à travailler dans un milieu... on va dire, pas frigorifié, mais quand même, assez froid.
Ouais. Bah, à la limite, il pourrait peut-être adopter un système de climatisation sur nuage, quoi, ou monter un ventilateur pour le rafraîchir, tu vois, enfin, je sais pas, se faire une combinaison avec des glaçons.
De toute façon, il doit bien y avoir un moteur dans le nuage, parce qu'il bouge.
Non, en fait, ça, c'est le vent qui le pousse.
En même temps, bien qu'il ait un moteur, Tu sais, comme les voiliers sont obligés d'avoir un moteur pour entrer dans les ports. Il faut bien qu'il ait un moteur pour qu'il puisse s'arrêter et descendre dans le, dans la chambre de Nicolas et Pimprenel.
Oui, parce que, non, mais c'est aussi parce que le comment s'appelle, le marchand de sable, c'est aussi, il peut aussi, avec sa petite flûte, faire endormir les enfants et faire se soulever le vent. Donc, comme ça, quand il souffle, le vent se
soulève. Je te rappelle que le marchand de sable fait endort les gamins en leur balançant du sable dans la gueule. Ce qui, logiquement, n'est pas logique.
Tu voudrais dire que le marchand de sable est au service de la Fédération Internationale des Ophtalmos ?
Peut-être. Peut-être qu'en fait, il endort les gamins en réalité avec la flûte, en faisant croire que c'est avec le sable.
Ouais.
Et en fait, il balance le sable sur les gamins pour leur bousiller les yeux, pour que les gamins aillent chez l'ophtalmo changer de lunettes. Parce que si ça se trouve, le marchand de sable, il a des parts chez Chris ou Atoll.
Ouais. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas, c'est une question fondamentale, est-ce qu'il vaut mieux pas se prendre du sable de Bahreïn dans la gueule qui doit être, parce que comme c'est bien frotté, c'est un sable fin, plutôt que de se prendre du sable de Dieppe par exemple? Ah non, c'est des galets. Tu te prends du sable de Dieppe dans la gueule.
C'est toujours possible, mais c'est plus difficile d'endormir un gamin avec. Mais c'est possible.
Mais tu vois, du gros sable des plages du nord de la France, enfin voilà, c'est...
Ouais, là, puis en plus,
effectivement, c'est dégueulasse si c'est ça. Moi, je préfère qu'il aille au Qatar.
Le sable de plage, c'est du sable humide, donc c'est un peu dégueu. Enfin, c'est pas dégueu, mais enfin, tu vois, tu sais, c'est pâteux. Alors que c'est vrai que le sable de Bahreïn, c'est du sable fin, c'est quand même plus agréable dans les yeux.
Mais il n'y a pas un mec qui a inventé la presque sécheuse à sable ?
Si, en 1412... Mais là encore, lui, on n'a même pas retenu le nom.
Ouais, c'est dommage. Ouais, mais aujourd'hui, on a quand même d'autres moyens techniques pour sécher du sable.
On a des éventails.
Ah ouais.
Oui, mais des très grands. Parce qu'il y a beaucoup de sable, donc il faut un très grand éventail.
Mais pas construit par des ouvriers coréens, c'est ça le problème.
Ah non, parce qu'ils seraient en retard.
Ah voilà.
Donc s'ils sont en retard, ils font pas l'éventail.
Ouais.
Donc s'ils font pas l'éventail,
le sable
on
est
sèche
pas,
pas
sec.
Le sable. Et si le sable est pas prêt, on peut pas endormir les gamins.
Donc c'est pour ça qu'en fait il va à Bahreïn chercher son sable, parce qu'en fait le sable du nord de la France, comme il est mouillé, il peut pas le jeter à la gueule des gamins. Et en plus, finalement c'est pas plus mal parce que le sable de Bahreïn est plus fin.
Oui, et comme il est plus fin, il est plus léger, donc il peut y aller tout seul. Donc voilà. Il a pas besoin de l'aide de Nounours. Mais là la question dans ce cas-là, c'est qu'est-ce que fait Nounours pendant ce temps-là? Est-ce qu'il joue au baby?
Est-ce qu'il mange des Nounours?
Bah non, ça serait du cannibalisme.
Mais non, les bonbons là, les c'est les Nounours.
Ça serait quand même du cannibalisme.
Ouais, non, mais on mange bien des bonhommes en pain d'épices, Shinji.
C'est vrai. Mais les bonhommes en pain d'épices ont des nœuds papillons. Nous, on n'en a pas.
Ouais.
Tu vois, ça, c'est pas pareil. C'est pas du cannibalisme.
Ah, mais tu me diras, les bonhommes en pain d'épices, ils jouent dans Shrek, alors que nous, on joue pas dans Shrek. On peut pas. C'est pas possible.
C'est comme... Ne confonds pas Nounours et le marchand de sable avec des ogres. Les ogres, ça n'existe pas.
C'est vrai. D'ailleurs, faut que je te laisse, Shinji, parce qu'il faut que j'aille acheter du sable chez le marchand de sable.
Ouais.
Non, mais sérieusement, Shinji, là, tu crois que ça y est, on a réussi à les endormir, là?
Sans doute.
Ouais.
Bon, je pense que trouver un extrait sur le Grand Prix de Bahreïn ennuyeux ne sera pas difficile.
Bah, je pense que c'est la seule truc qu'on a dû dire pendant l'émission.
Certainement. Donc là encore, on va essayer de ne pas mettre toute l'émission.
Mais voilà, ça va être dur. Allez.
Bonne nuit,
les petits.
Suite à un excès caractérisé de scientitude du Grand Prix de Bahreïn, les animateurs du SAV de la F1 se sont endormis avant d'en avoir pu trouver l'extrait. Veuillez nous en excuser. Suite à un excès caractérisé de scientitude du Grand Prix de Bahreïn, les animateurs du SAV de la F1 se sont endormis avant d'en avoir pu trouver l'extrait. Veuillez nous en excuser. Bon, là ils sont bien partis pour faire la nuit, alors vous pouvez arrêter. Non mais sérieux, appuyez sur stop, hein. Vu comme ils ronflent, ils sont pas prêts de se réveiller, alors... Allez, salut à tous. Ah, et puis,
S'il vous plaît, ne faites pas de bruit, parce que pour une fois que Dino dort, on aimerait en profiter pour pouvoir parler tranquillement, sans que personne nous interrompe, donc voilà, merci d'avance. Le service après-vente de la F1 vous présente le SAV d'or du club 153.
Rebonjour à tous et donc bienvenue sur le site du SAV de la F1. Nous allons revenir cette fois-ci sur le SAV d'or du club 153 et nous avons la chance cette fois-ci d'être en présence de Bouchard, l'un des membres du club 153.
L'éléphant de la terre.
Alors vous aviez fait avec Fab un petit texte sur les romances, etc. Et je me suis dit, il existe sur Internet des sites qui vous permettent de découvrir la compatibilité entre deux personnes. Et donc, l'intérêt, c'est de voir si les prédictions, alors c'est une espèce de gourou asiatique qui fait ses prédictions, c'est de voir si ces prédictions en matière de vie de couple se confirment. Et donc, je me suis d'abord intéressé, on va commencer par ceux qui sont peut-être les moins clinquants, c'est-à-dire les pilotes de chez HRT.
Alors, comment t'as fait? Parce que c'est par deux, oui. Là, il y en a quatre.
Oui, c'est quatre.
T'as fait toutes les combinaisons?
J'ai fait toutes les combinaisons, mais heureusement, j'ai été aidé parce que le prénom de Karun Shondok n'existe pas sur ce site.
Ah.
Donc,
Parce que t'as trouvé sa conne.
J'ai trouvé sa conne. Mais Karun n'existe pas, mais j'ai demandé à ce qu'il crée le prénom Karun. Et d'ici 48 heures, il y aura des prédictions pour tous les mélanges avec Karun. Donc, si d'ici là le prénom Karun est en ligne, je rajouterai dans l'article, je rajouterai les relations entre les différents mecs de chez HR. Donc, j'ai seulement pris les mecs qui avaient piloté au moins une fois ensemble.
Ok.
Donc, on va commencer par Bruno et Sakon, parce qu'entre Sakon, Sakon et. Donc attention, je vous lis ce que nous dit le grand gourou. Il nous dit « Sakon et Bruno ne sont absolument pas faits pour s'entendre. Tous les spécialistes le confirmeront. Soyez certains que leur union en amour nous donnera une idée précise de ce à quoi l'enfer ressemble. » Plaut disait, il se fait aussi assister des mecs, hein. « L'amour est très riche en miel et en fiel. Mais pour le cas qui nous occupe, il n'y aura que du fiel et point de miel. »
J'en reste sans voix.
Oui.
Ah oui.
Moi aussi. Maintenant, Bruno et Christian. Christian et Bruno peuvent parfaitement être heureux ensemble, à condition qu'ils sachent se faire des illusions l'un sur l'autre. Doués d'une grande perspicacité, ils n'ont aucun mal à découvrir instantanément les intentions, les qualités et surtout les faiblesses de tous ceux qu'ils rencontrent. D'une grande utilité dans la vie en général, cette faculté de percevoir constitue un handicap dans le domaine de l'amour. Il n'est un secret pour personne que la bonne entente a besoin de l'idéalisation et que l'idéalisation a besoin du brouillard. Retenez bien ça, hein, pour impressionner vos copines. Tu sais, chérie, la bonne entente a besoin d'idéalisation et l'idéalisation a besoin de brouillard. Et tu vois dehors, il neige, donc il n'y aura pas de bonne entente aujourd'hui, chérie. Et rajoute derrière, Christian et Bruno courent le risque constant de se lasser mutuellement, parce qu'ils peuvent être sans mystère l'un pour l'autre. Ils auront donc intérêt à ne pas tout se dire, à faire chacun un métier différent. Manque de bol, ils sont tous les deux pilotes. Ah, peut-être plus pour longtemps. À posséder chacun une certaine vie privée. De fréquentes absences seront aussi à conseiller, l'essentiel étant qu'ils aient toujours à se comprendre et à se deviner. Le jour où ils n'auront plus besoin de se comprendre ni de se deviner, leur amour s'effritera. C'est beau, hein? Alors ensuite, vous voulez voir nos amis Lewis et Button? Alors, Marc et Sébastien? Ou Lotus et Lotus?
Allez, Lotus et Lotus.
Ah, Lotus et Lotus.
Alors attends, je vais me dire que Lotus était dedans.
Oui, Lotus était dedans. Je ne me demande pas, Lotus était dedans. Attention. L'union de Lotus et Lotus revient à la rencontre, ou plutôt à la confrontation de deux natures excessivement passionnées, souvent irréfléchies et superbement égocentriques.
Ça résume parfaitement la situation.
Elle ne présage rien de vraiment encourageant, aussi les spectateurs ont-ils généralement tendance à la déconseiller, Dans une telle union, virgule, pourquoi je dis virgule, moi?
Ouais.
Dans une telle union, qui fera le premier pas en avant? Qui se soumettra à l'autre? Le risque de rivalité stérile mais destructive étant grand, il est conseillé aux amoureux de poursuivre chacun une profession complètement différente. Et là, je me dis, ben, monsieur gourou, alors c'est N'Gog et Nguyen, monsieur N'Gog et Nguyen, bravo.
Ouais, c'est clair.
Il a tout compris. Si mais il a pas pris.
Non. Il est, c'est clair. C'est clair.
Ensuite, Lewis Jensen ou Marc et Sébastien?
Je te laisse choisir, Cindy.
Oh, Marc et Sébastien.
Ah. Le plus grand obstacle à la bonne entente du couple Sébastien et Marc est sans aucun doute le manque d'imagination et d'un bon grain de folie. Ce n'est pas un secret que Sébastien détient la clé de la réussite ou de l'échec de l'union, car c'est lui qui commandera. Ce que Marc fera sera fonction du comportement de son partenaire plutôt que de sa propre initiative.
T'es sûr que c'est machin N'Gog et Nguyen et pas toi qui a écrit?
Non, c'est clair, ce que j'allais dire, c'est pas possible.
Je tiens à assurer, vous pouvez vérifier, c'est site flashasia.net ou plan.org, et vous pouvez essayer, vous aurez exactement le texte que je viens de vous dire. Je n'ai rien inventé. Et je le rajouterai d'ailleurs à propos de Sébastien et Marc. Sébastien essaiera de faire preuve d'autorité et d'austérité, mais ne résistera pas au charme de Marc. Ce dernier aura l'astuce de céder sur tous les points secondaires afin de gagner sur les points essentiels, à savoir la table et le lit.
Oh.
Sébastien sera entraîné, malgré lui, dans un grand tourbillon de sensualité. Le couple connaîtra ainsi tour à tour des moments de félicité extatique et des moments d'entente laborieuse. Et donc enfin, on passe à l'épouse de Jensen.
Oui. Tu vas me dire encore que Jensen, ça y était.
Oui, Jensen, ça y était. Jensen et Lewis ont beaucoup de chances d'être heureux ensemble. Mais leur bonheur dépendra uniquement de Lewis. Jensen n'y a en général aucun mérite. Le jour peu probable, mais possible, où le premier ne supportera plus le second, la rupture sera inévitable et leur bonheur s'envolera pour de bon.
J'en reste pantois. C'est bien comme c'est pas possible.
Non, c'est pas lui qui l'a écrit. Si c'était lui qui l'avait écrit, il y aurait beaucoup plus de bits.
Oui, c'est vrai. Cependant, dans de nombreux cas, Jensen et Lewis feraient un bon petit couple. Malgré les infidélités plus que probables de Jensen, et encore une fois, j'ai rien écrit moi-même, Lewis le supportera bien. Lewis fait partie des hommes dont la patience et la résignation sont entrés dans la légende. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que je n'ai rien écrit et que c'est que des conneries. Parce que niveau patience, c'est pas Lewis auquel on pense en premier.
Non, t'as dit sûr.
Comme on peut s'en douter, l'attitude de Lewis est susceptible d'émouvoir Jensen et de le ramener dans la voie de la raison et de la responsabilité. Dès lors, leur bonheur sera construit et consolidé sur de nouvelles bases, mais Jensen n'est pas toujours aussi raisonnable, et la patience de Lewis a tout de même des limites.
Oui, ça, est, plus que, oui, il est limité, très limité.
Oui.
Sa patience.
Oui. Donc, on peut
d'un côté, c'est sûr.
On peut applaudir monsieur N'Gog et Nguyen.
Ouais.
Qui s'est pas trompé.
Ouais, c'est juste un fan de F1. Hein.
Mais voilà. Mais je me suis quand même dit, c'est pas suffisant, faut que j'aille plus loin. Il y a un couple auquel j'ai pas pensé. Donc j'ai cherché la compatibilité entre Bussard et Fab 007.
Je le voyais venir gros comme une maison, celui-là.
Donc, bien sûr, je n'ai pas pris vos pseudos, j'ai pris vos prénoms pour vraiment que ce soit juste.
Oui.
Hein. Et voilà ce que N'Gog et Nguyen nous dit. Les partenaires amoureux Bussard et Fab, aussi conservateurs et moralisateurs l'un que l'autre, feront tout pour donner à leur union un semblant de réussite. Il leur importe moins d'être réellement heureux que d'avoir l'air de s'entendre. Ils accorderont une importance capitale au qu'en dira-t-on et se soucieront à l'extrême de donner un bon exemple à leur entourage. Ça, c'est un couple. Ils aimeraient bien entendre les gens faire ce genre de commentaires à leur sujet. Quoi qu'il arrive, ils essaieront de faire mine de rien et de garder le sourire en présence des autres. Quant à leur vie commune au foyer, elle sera pleine d'embûches à cause de la tension permanente entre les parties.
Tu la sens, ta tension permanente entre tes parties?
Là, c'est pour ça, toujours.
On l'a perdu. On l'a perdu. Inspire, allez.
L'un s'efforcera toujours de s'imposer à l'autre. Charles Perrault ne disait-il pas « Or, je suis convaincu que dans le mariage, on ne peut jamais vivre heureux quand on y commande tous les deux. » Ils sont le plus souvent incapables de donner à leur relation un certain romantisme, une certaine illusion. Pourtant, la part du rêve est aussi indispensable à l'amour que le soleil aux fleurs. Passant tout leur temps à faire des économies, du ménage, du soir et femme, risqueront de se lasser l'un de l'autre un jour. On ne saurait trop leur répéter que la monotonie, la banalité et le prosaïsme sont les pires ennemis de l'amour. Donc en fait, vous n'êtes pas vraiment homosexuel. Vous faites croire que vous l'êtes, pour donner le bon exemple.
Mais non, c'est un petit couple en crise, c'est tout.
C'est juste afin d'éviter toute tension entre les partenaires. Et je vous jure que je n'ai rien écrit.
Même pas une petite retouche ou deux?
Non, rien du tout. Et donc, bah voilà, c'était mon petit discours d'introduction. Je pense que maintenant, il est nécessaire de s'intéresser au choix des auditeurs et aux nominés, monsieur le président.
Nominé pour le SAV d'or du Club 153, récompensant le feuilleton de l'année, sont
Lewis Hamilton et Jenson Button dans Retour à Walking Mountain, Lotus et Lotus dans Lotus contre Lotus, Sébastien Vettel et Mark Webber dans Le Patient Australien, Karen Chandhok, Christian Klien, Bruno Senna et Sakon Yamamoto dans 4 pilotes et une F1.
Et le SAV d'or du Club 153 récompensant le feuilleton de l'année est décerné à
Sébastien Vettel et Mark Webber dans Le Patient Australien.
Ouais, félicitations.
Wow.
Bah.
Avec un score total de 52,9% des voix.
Ouais. Sachant qu'il y avait 4 nominés, donc c'est vraiment pas mal.
Oui, ils sont suivis très très loin par Lotus et Lotus dans Lotus contre Lotus, 17,6%. Ouais. Karen Chandhok, Christian Klien, Bruno Senna et Sakon Yamamoto dans 4 pilotes et une F1, 17,6% également. Et enfin, dernière position, c'est assez étonnant, Lewis Hamilton et Jenson Button dans Retour à Walking Mountain. J'ai une belle petite relation cette année.
Ben oui, en fait, ça, justement, c'est qu'il ne s'est rien passé entre eux. C'est nous qui en avons fait un feuilleton, mais...
Tu te rends compte que les gens, en fait, préfèrent le yaoi, tu vois, les trucs comme ça. Ils veulent pas des amours homosexuels, comme ça, gentillettes, entre deux gars. Non, ce qu'ils préfèrent, tu vois, c'est tout le concept du hooké et du sémé, c'est-à-dire le dominant et le dominé. Tu vois, cette relation spéciale entre deux hommes.
Ouais, le « je t'aime, moi non plus ».
Voilà.
Le « je te rends dedans »,
c'est ça qu'il faut lire dans ce résultat. «
Je te rends dedans », »,« je te rends dedans », »,« je te rends dedans », »,« je te rends
dedans ». Oui, on le connaît. Si t'as pas, si tu as que, comment tu
que... Non, en plus, c'est
relation conflictuelle.
Y a des oui, c'est vrai qu'on a des mineurs qui nous écoutent.
Voilà.
C'est à ton cas. Bouge-toi les oreilles.
Et c'est vrai que c'est une surprise, parce que vous pouvez penser quand même que les pilotes McLaren sont un petit peu plus hauts, au moins, et pas du tout. Pas du tout, du tout.
Oui, c'est vrai.
Même Lotus, ça fait mieux.
Alors qu'ils sont arrivés sur le tard.
Lotus, voilà, ils ont été boostés parce qu'on est encore en plein feuilleton, Lotus.
Bah oui.
Ouais, voilà.
Donc,
Non, et puis tu remarques que c'est ceux qui prêtent la polémique qui fait du score. Pas ce qui se passe bien.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui, bien sûr. L'an prochain chez Red Bull, parce que ils ont toute l'année dit oui, on va les traiter à égalité. Mais là, cette fois-ci, c'est bon. Ils ont un champion du monde et un autre pilote.
Bah, d'ailleurs, on peut leur rendre hommage parce qu'on a passé toute l'année à dire qu'ils cherchaient à privilégier Vettel et que alors là, ils ont l'occasion de dire, de légitimer
voilà,
la position numéro 1 de Vettel. Ils disent, non, l'année prochaine, ça recommencera, il y aura deux, ils sont à égalité, ce sera deux de se battre.
C'est ce qu'ils disent. Attends, parce que... Attends, j'étais mort de rire parce que c'était, je sais plus si c'était un début de semaine là ou la fin de semaine dernière. Alors maintenant, il y a des journalistes qui commencent à dire, mais en fait, non,
Parce que si ils avaient été traités à égalité, vu l'avance qu'avait Marc Weber au championnat, il aurait dû clairement être traité en pilote numéro 1. Et en fait, Sébastien Vettel a été avantagé parce qu'ils ont été traités à égalité.
Ah, voilà. C'est intéressant.
Non, mais les mecs, ils cherchent vraiment n'importe quoi pour faire des
articles. Parce qu'ils ont été traités à égalité, en fait, ils étaient traités inéquitablement.
Voilà.
Parce qu'en fait, on aurait dû en privilégier un. Et c'est les mêmes qui, il y a 6 mois, gueulaient parce que on avait fait passer Alonso devant Massa, quoi.
Ouais, exactement. Mais tu comprends, la différence, elle se joue à quelques mois après.
Tout à fait.
C'est là. Voilà. Ils vont te dire, oui, mais en milieu de saison, il ne doit pas y avoir un numéro 1. Ah, par contre, à 3 grands prix de la fin, oui, clairement, là, il doit y avoir un numéro 1.
Ouais. Bon, tu vois quel extrait on pourra mettre pour cette catégorie? Déjà ou pas?
Bah, je pense comme extrait, bah oui, l'extrait d'après l'incident soit de l'aileron, soit l'incident de la Turquie.
Ah bah oui, encore mieux. Oui, la Turquie.
Je pense que plus significatif, c'est peut-être.
Ouais. Oui, la Turquie. Clairement. Voilà. Oui.
Non mais par contre c'est con parce que je me disais ah merde je vais être le seul à défendre Vettel et j'étais content directement.
Bah, pareil.
Et en fait non, ça se trouve on va tous les trois me défendre et on n'aura personne pour nous dire mais non vous avez tort, vous êtes des cons, etc.
Moi je le défends pas vraiment, je l'ai mis 5e parce que si ça avait pas été de sa faute je l'aurais mis plus haut.
Parce que c'est de sa faute.
Écoute, contrairement à ce que tu as écrit sur les commentaires du site, hein, que tu as dit que c'était un peu la faute de l'équipe, j'ai envie de dire que c'est pas l'équipe qui lui a dit de tourner son volant à droite.
Il a pas tourné son volant.
Si. Hey, si.
Si.
Non.
Si.
Non. Sérieusement, regardez, il y a une différence entre donner un coup de volant et légèrement tourner son volant. Voilà.
Il a donné un coup de volant comme il a fait sur Hamilton dans le.
Non, sport. C'était pas aussi sec. C'était pas un coup de volant.
Je dis pas qu'il a fait un.
Oui, il donne un petit coup de volant, il tourne légèrement parce qu'il arrive au point de freinage et que si il donne pas le coup de volant, le freinage risque d'être catastrophique pour les deux Red Bull et derrière il y a Hamilton qui a 2 secondes, même pas. Donc ça risque de plutôt tourner à l'avantage d'Hamilton. Donc il fait une manœuvre autoritaire, voilà, où il dit à Weber, voilà, attention, je me décale, suis mon mouvement, voilà, tu seras deuxième, tu peux te récupérer plus tard.
Moi je pense qu'il est responsable de l'accrochage. Par contre, je l'ai mis si haut parce qu'au moins, il y est allé.
Ah oui,
et
ça...
Et il s'est pas contenté d'être deuxième et à dire, voilà, c'est mon coéquipier, il ne faut surtout pas que je l'attaque, etc.
Ah non, on ne peut pas lui reprocher d'avoir osé doubler, ça...
Alors en plus,
certainement pas.
Je pense qu'il a 100%... Je pense qu'il est en tort sur l'accrochage. Il n'a pas bougé de sa ligne tant qu'il est sûr que Weber n'est plus là.
Oui, mais ils sont entre coéquipiers, enfin, je sais pas, mais, alors surtout que, à ce moment-là, Red Bull nous a expliqué, et le fait que derrière, on ait aussi eu des messages un peu similaires du côté de McLaren peut laisser à penser que c'est vrai. On nous a signalé, en fait, que Weber et Vettel sont partis avec les mêmes quantités d'essence. Mais il se trouve que les mecs sur le muret se sont rendus compte que les deux pilotes avaient un petit peu trop surconsommé. Ce qui est, il est vrai, étonnant pour le moteur Renault, mais on avait déjà évoqué il y a au Grand Prix de Bahreïn le fait que peut-être qu'ils avaient un peu surestimé la consommation, sous-estimé la consommation du Renault et qu'ils avaient peut-être vu un petit peu trop juste leur réservoir et leur charge en essence.
Et puis ne pas oublier ce qu'on a dit au début de l'émission, avec les petits écarts, c'est qu'on a eu un rythme de course incroyable pendant... Voilà, très élevé pendant la moitié, voire les 3/4 de la course.
Donc, apparemment, on a demandé à Vettel et Weber de se mettre en mode économie, entre guillemets. Légère économie, puisqu'il faut quand même, derrière, soutenir le rythme d'Hamilton qui était en chasse. Et c'est vrai que quelques tours avant, on se rend compte quand même qu'Hamilton se rapproche, et il y a notamment une passe d'armes entre Hamilton et Vettel, qui se justifie par le fait que Hamilton, lui, n'est pas en mode économie, là où Vettel est sans doute en mode économie. Sauf que le problème, c'est que, en nombre de tours, Weber avait un tour de plus à économiser que Vettel. Donc Vettel, lui, s'est dit, c'est mon opportunité, je dois y aller, c'est tout de suite ou c'est jamais. Donc il s'est rapproché, il l'a passé à l'extérieur. À ce moment-là, les deux le savent très bien. Vettel sait que lui, il est à pleine vitesse, et Weber sait que lui, il est en mode économie, et qu'il peut donc pas résister à Vettel. Et que, à la limite, le plus sage, si vraiment il est plus rapide, c'est de lui passer après. Moi, mon point de vue, c'est que, certes, Vettel le tasse pour lui dire, voilà, laisse-moi passer, voilà. Mais mon point de vue, c'est aussi que il y a celui qui tasse et il y a celui qui garde sa ligne. Si Weber avait eu un tout petit peu d'intelligence de course, il aurait compris que finalement, s'il reste sur sa ligne, c'est l'accrochage qui va se passer. Donc, même si Vettel fait ça, c'est le même réflexe qu'a eu Lewis Hamilton dans les stands à Shanghai, bah, lui aussi se décale. À un moment donné, Lewis Hamilton, il a dû céder. Et là, en arrivant au freinage, un gros freinage en plus, après une ligne droite où on est en pleine charge, il doit freiner. S'il change pas sa ligne, c'est parce que il se dit, je dois pas le laisser passer. Donc, il est dans la même condition que Vettel. Il se dit, voilà, c'est là que ça joue ou jamais. Donc, pour moi, les deux ont des torts. 50-50.
Par rapport à d'habitude, Weber, il a été très réglo.
De manière, voilà, on sait que Weber, il est super dur à dépasser.
Voilà.
Franchement, le fait qu'il reste sur sa ligne, c'est très sage de la part de Weber. Hein.
Oui.
Oui, non, mais
parce
voilà.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place entre l'herbe et Weber, mais il y avait la place quand même pour passer pour Vettel.
Le service après-vente de la F1 vous présente le SAV d'or du paillasson qui ne s'est pas laissé marcher dessus.
Je suis très fier de présenter cette catégorie, qui est en quelque sorte la catégorie de l'espoir. Chaque jour, je me balade dans la rue et l'on me demande le plus spontanément du monde. Mais Shinji, est-ce que ça sert de faire des dons à des associations? Eh bien oui, car comme dirait Gérard Holtz, la recherche avance. Depuis des années, le fléau de la barrichellite touche les pilotes de F1. Cette maladie qui transforme les coéquipiers en pauvres loques incapables de s'imposer dans leur équipe. Eh bien, pour la première fois, la recherche a permis de soigner des pilotes à qui nous avons décidé de rendre hommage aujourd'hui. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est là que c'est fantastique. C'est grâce aux cellules souches et la découverte récente de cellules souches T. T pour talent, que nous possédons tous à la naissance, mais qui ensuite se spécialisent et disparaissent, les plus malchanceux devenant des gros nuls, puisqu'ils n'ont aucun talent. Eh bien, la recherche a permis de retrouver ces cellules souches. Elles sont extraites, puis élevées en culture avant d'être réinjectées aux patients, c'est fantastique. Alors, le traitement ne s'arrête pas là, puisque l'on pratique aussi le principe du cordon sanitaire thérapeutique. Car soigner le patient seul a des limites. On va donc aussi donner à toute l'équipe un traitement au TE-ZEPAM, TE pour traitement équitable. Et cette année, enfin, après plusieurs années d'échecs, des pilotes ont pu être soignés et faire jeu égal, voire mieux que leurs coéquipiers, au-delà parfois de rémissions spontanées qu'on avait pu aussi apercevoir dans le passé. Mais attention, car si la recherche avance, si une bataille a été gagnée, il faut continuer à se mobiliser. Car le combat contre la barrichellite n'a pas encore été gagné. La preuve, l'an dernier, une souche très virulente provenant d'Espagne a été détectée dans le nord de l'Italie, une région déjà gravement touchée par le passé, par cette pandémie. Mais aujourd'hui, c'est la fête. Alors, c'est à vous, Président, quels ont été nos trois patients miraculeusement soigné cette année.
Les nominés pour le SAV d'or du paillasson qui ne s'est pas laissé marcher dessus, récompensant le pilote qui était censé se faire laminer par son coéquipier, sont
Jenson Button dans Grise, Nico Rosberg dans La guerre des teutons, Mark Webber dans Valse avec Vettel.
Le SAV d'or du paillasson qui ne s'est pas laissé marcher dessus, récompensant le pilote qui était censé se faire laminer par son coéquipier, est attribué à
Vite, dépêche-toi, je suis dit, j'en peux plus, là. Quel suspense!
Pour le dernier trophée, en plus.
Ah ouais.
Allez.
Et d'ailleurs, on peut déjà en profiter hein, pour vous souhaiter à tous un bon réveillon. Hein, puisque, oui. À l'heure où sera publié cet extrait, vous serez pas très loin de vous en aller pour votre réveillon. Ou alors, on sera peut-être déjà en 2011, donc on vous souhaite déjà bonne année.
Ouais, même déjà bonne année 2012.
Ouais, voilà, anticipons.
Soyons en avance.
Ouais.
Et c'est la fête c'est la fête aujourd'hui. Ouais. Et c'est la fête cette année. parce que c'est l'année quand même des ex-aequo.
Il y en a trois. Non, je déconne.
C'est pas si loin que ça. Arrête. Puisque on remportait le SAV d'or du paillasson, Nico Rosberg dans La Guerre des Teutons et Mark Webber dans Valse avec Vettel.
Oh la vache.
Les deux avec 35,3%. Ouais. Donc là encore, Jenson Button dans Grease a eu quand même 29,4%. Ça a été serré encore une fois.
Très très serré. Ça s'est décidé sur le dernier vote.
Ouh, sur un vote près.
Ouais.
Que dire. Nico Rosberg quand même, bon. C'est vrai que bon, c'est pas le grand Schumi, mais quand même.
Bah, c'est quand... Enfin, il y a un an, on avait quand même un discours. Enfin, il y avait quand même Barrichello qui invitait Nico Rosberg à courir. Ouais, tout le monde avait quand même un discours assez défaitiste. Et est-ce que c'est Rosberg qui vraiment a explosé, ou est-ce que c'est au contraire finalement le verdict a été relativement juste? C'est juste qu'on avait été un peu aveuglé par le fait que Schumacher était un septuple champion du monde.
Vu tout ce qu'on a vu du talent de Rosberg, j'ai envie de dire, on a la réponse.
Oui, voilà. Enfin,
c'est pas mauvais, mais...
Ah, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une vengeance de Rosberg. Je me demande si Rosberg n'a pas voté. Juste pour nous forcer à trouver un extrait où on parlerait de Rosberg sans dire qu'il avait fait le course à la Rosberg. Parce que c'est le grand challenge. Ça va être un grand challenge. Heureusement, c'est la dernière catégorie. Ça va nous laisser le temps
de chercher. Tu pourras mettre ton fameux coup de gueule.
Ah non.
C'est un coup de gueule. Oui, il y en a marre de voter pour Rosberg. Et la semaine d'après, tu votais pour lui. C'est Nico Rosberg que j'ai mis cinquième, que les auditeurs ont mis cinquième. Et toi, j'ai envie de dire pas vu, pas pris.
Ah mais c'est même plus que ça. C'est même pas vu, pas pris.
C'est t'en as marre.
J'en ai marre d'avoir à le mettre parce que je l'ai pas vu et que pourtant il a fait une bonne course, quoi. Non, il a pas fait une bonne course. À part dépasser Barrichello, il a rien fait. C'est un bon sur une piste sur circuit urbain. C'est un très bon pilote. Il domine son coéquipier.
C'est un bon à Singapour.
Okay. Oui, c'est un bon. Bah, pour moi, il est vainqueur à Singapour. Enfin, je l'ai dit sur le Twitter. J'ai souligné que c'était pour moi la première victoire méritée d'Alonso à Singapour, et que par conséquent, automatiquement, moi, je pense sincèrement que Rosberg, il a déjà une victoire à son compteur, même si elle est pas officielle. Pour moi, Rosberg, il a gagné à Singapour en 2008. Mais voilà, moi, j'en ai ras-le-bol. On en est à la 15e Grand Prix. J'en ai ras-le-bol à chaque fois de dire. Ah oui, mais Rosberg, bon, je l'ai pas vu, mais quand même,
mais,
il a fait une bonne course.
Mais il se classe bien à chaque fois. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Je veux dire, c'est pas de sa faute si on le voit pas.
Il se classe bien. Honnêtement, il se classe bien au niveau de honnêtement, il est au niveau de la Mercedes.
On ne le met pas non plus deuxième, troisième, voire premier. Mais... On le met souvent quatrième, cinquième, sixième, c'est ces niveaux-là. C'est les niveaux de la Mercedes.
Moi, j'en viens même à me dire, est-ce que finalement, Michael Schumacher est un bon barème? Est-ce que finalement, Michael Schumacher qui fait un mauvais retour, est-ce que c'est une bonne référence pour dire que Rosberg fait sa meilleure saison? Je suis pas sûr. Voilà, et moi honnêtement, c'est vrai que là j'arrive, je suis fatigué d'avoir à dire, ah, il a fait une course à la Rosberg. Et d'ailleurs, on trouve plus rien d'autre à dire sur Rosberg.
Bah
à
non.
part, il a fait une course à la Rosberg.
Mais après, c'est la réalisation. Enfin, non, on voit bien.
Non, faut arrêter de dire c'est la réalisation. Oui, la réalisation, elle le montre pas. Pourquoi elle le montre pas? Parce qu'il fait rien de spectaculaire en piste, parce qu'il est pas en train de dépasser quelqu'un, parce qu'il est pas en train de se défendre, parce qu'il fait rien. Non mais c'est ça aussi le truc.
Oui.
On peut accuser la réalisation, mais il ne fait rien en piste qui permette, qui fasse dire au mec qui a le bouton sur la caméra, ah oui, faut peut-être qu'on monte 10 secondes de Rosberg. Pendant le Grand Prix, il a eu le droit à 10 petites secondes. Je sais même pas ce qu'il a fait pour mériter 10 petites secondes.
On passe à la 9e place. Et là je suis presque énervé parce que tu nous as quand même balancé un speech la semaine dernière. En nous disant, j'en ai marre, on le voit jamais, faut pas lui mettre de points, il y en a marre qu'on dise pas parce qu'il fait des choses à la Rosberg. Hein. Et qui c'est qui met une 7e place à Rosberg? C'est pas moi, c'est les auditeurs.
Ouais, non mais t'es pas gentil parce que les auditeurs, ils l'ont quand même mis Rosberg, hein.
Oui, ils l'ont mis, mais...
Je ne suis pas seul, hein, puisque... Ah non, même pas. Je suis le seul qui vient avoir mis Rosberg.
Eh oui.
Donc, c'est vrai que je vous ai fait un speech. Là, pour le coup, il a montré des choses quand même. Voilà, alors que c'était mal parti. Bon, il a foiré son départ. Mais quand même, à la régulière, bah, il a devancé Schumacher, qui fait une très bonne course, Schumacher.
Oui.
En même temps, j'avoue, j'ai pas été super passionné par la course, en dehors certaines choses, et donc j'ai peu ou prou respecté le classement de la course.
On a tellement parlé de Nico Rosberg, on a quand même plus parlé, parce que, en rapport, hein, on a quand même parlé environ 13 à 14 heures sur Rosberg, alors qu'on l'a vu environ 8 secondes pendant toute la saison. C'est un peu ce ratio, hein, qu'on a. C'est tellement étendu sur lui, tellement étendu sur son talent, cette capacité à faire une course où il part cinquième et il finit cinquième. Cette capacité à éloigner les objectifs de caméra de sa voiture, c'est quand même incroyable.
C'est un super pouvoir.
Ah oui.
C'est super Rosberg en fait, c'est un super héros. Faudra lui faire une cape.
Ouais, bleu et jaune.
Ouais.
Parce que ça, c'est con, il a changé son casque cette année, il est tout moche.
Bah, ça reste fondamentalement le même.
Oui, mais il a changé le bleu en gris. Voilà. Donc là encore, il a changé pour des couleurs qui se voyaient bien, je veux dire, bleu et jaune, ça se voit bien, pour du gris et jaune, sur une voiture grise. Donc un truc quand même qu'on voit vachement moins. C'est-à-dire qu'au moins, Schumi, tu vois, lui, il a gardé son casque rouge, au moins on le voyait, lui, son casque. Non, c'est quoi ? On devrait faire 30 secondes de silence sur Nico Rosberg. Là, c'est un silence symbolique pour sa saison. Mais si ça se trouve, l'an prochain, il va tout déchirer.
Et t'as remarqué que, alors que pendant 30 secondes, je me suis tué, il en a même pas profité pour se montrer, quoi.
Bah non.
Alors qu'il avait une opportunité en or de bénéficier d'une audience rien qu'à lui, bah non.
C'est bien la preuve, hein. Il sait même pas de quelle nationalité il est, alors bon. Il est un peu perdu, hein.
Ah, pourvu qu'il se découvre un parent français.
Ne t'inquiète pas, on aura D'Ambrosio pour se consoler l'an prochain.
Ah ouais la vache. Enfin, on va vachement se
consoler. Parce qu'on aura de proches, hein. Nous, ça va encore. On est de Normandie, donc la Belgique, c'est pas encore trop loin.
Ouais.
C'est sûr que, bon, quand t'habites dans le Languedoc, la Belgique...
Ouais, bah le plus proche pour eux,
autant c'est... On est vers les Espagnols, hein.
C'est bizarre, hein. Tout d'un coup, j'ai envie de vivre à Tarbes.
Et donc, parlons de Marc Weber. Hein, celui qui est bon pour un numéro 2, d'ailleurs, il l'a dit. Celui qui veut pas qu'on lui pique ses ailerons avant. Mais celui qui a un peu bien merdé sa fin de saison, faut le dire.
Ouais.
Même si on a appris que c'est un surhomme, Marc Weber. C'est-à-dire qu'il se pète plein de trucs.
Ouais, mais lui-même l'a dit, hein, il avait c'est pas vraiment une fracture, mais c'est une fissure, enfin un début de fracture. Et qu'il a dit qu'en fait ça change rien à son pilotage, que voilà, ça avait pas eu de conséquences sur son pilotage, donc voilà, il y a pas d'excuse à avoir sur la fin de saison, il a été tout simplement moins bon.
Marc Weber qui sera numéro 2, mais là pour le coup, ça sera marqué sur la voiture.
Voilà. On pourra pas dire l'année prochaine, je ne suis pas numéro 2.
Il a peut-être laissé passer la chance de sa vie.
Bah c'est ce qu'on disait de Massa. Hein. Il y a 2 ans, Massa, on disait, c'était peut-être la chance de sa vie. Et,
ouais, bah, t'as vu,
et on voit aujourd'hui que c'était effectivement peut-être la chance de sa vie. Quoi.
Ouais.
Plus que de se demander est-ce que Weber aura l'occasion de le refaire, c'est se demander est-ce que Vettel lui laissera la place. On sait très bien, tous les pilotes le disent, dans son autobiographie de 1986-88, je crois. Alain Prost le dit très bien, une fois qu'il est devenu champion du monde, ce qui lui semblait être un objectif ultime est devenu tout d'un coup quelque chose de simple, quelque chose de d'évident. Voilà. Mmh. Et que... À partir de là, il est rentré dans un autre univers, quoi. Est-ce qu'il va pas rentrer dans une autre dimension? C'est toute la question. C'est plus de savoir est-ce que Weber pourra être encore bon. Je pense qu'il sera encore bon. La question, c'est est-ce que le titre ne va pas transformer Vettel comme ça a transformé, par exemple, par Lewis Hamilton.
Allez, on passe à la première place.
Ah, mais qui c'est la petite bien-être?
Au grand chelem, parce que c'est un grand chelem cette semaine, puisque tout le monde l'ami premier.
Même moi.
Même toi, même Fab, même Maël, même tout le monde. Grand chelem pour Marc Weber, hein, qui donc nous apprend qu'il ne faut jamais piquer un aileron avant un Australien. Quand même, hein. Il avait les boules tout le week-end.
Mais apparemment, ils l'ont vraiment fait, moi, je pensais qu'ils en avaient discuté avant, etc., mais non. Apparemment, non, ils ont pris l'aileron, ils l'ont mis sur la voiture de Vettel, et ils ont oublié de lui expliquer qu'il avait pris l'aileron.
Voilà. D'ailleurs, oui, c'est ça, et donc ils ont discuté après, d'ailleurs, bon, parce qu'officiellement, ils se sont réconciliés, bien évidemment, hein.
Bien sûr.
Et quand même, sur le coup, on peut quand même comprendre l'énervement de Weber, hein, qui avait quand même théoriquement l'assurance d'être à égalité.
Oh.
Hein. Bah, c'était d'assurance qu'on lui donnait, qu'on lui donne. Il a même dit, oui, si j'avais su qu'on me traitait comme ça, j'aurais pas re-signé une année.
Faut arrêter avec cette histoire. Moi, ça m'a gonflé tout le week-end. Cette histoire de ces limites, on avait donné une voiture défectueuse à Weber.
Ah, mais on est d'accord que Marc, il n'était pas content.
Oui, ça, non, il n'était pas content. Maintenant, toute cette espèce de d'agitation médiatique autour de ce fait-là, honnêtement, oui. Je n'en ai bah, déjà
c'est
parlé.
C'est lui qui l'a fait tout seul, hein.
Oui, voilà.
Oui.
Mais derrière, tout le monde en a parlé, tout le monde en a relayé. Honnêtement, moi, j'aimerais qu'on me prouve mathématiquement quelle était la différence réelle entre ces deux
aileron. S'ils font une évolution, c'est pas qu'elle va moins vite.
Oui, non, mais je suis bien d'accord, c'est pas qu'elle va moins vite, mais quel était vraiment l'apport. Moi, j'ai sur le site, j'ai laissé un commentaire où je faisais l'analyse de la Q1, Q2, Q3. En Q1, il fait quasiment jeu égal avec Weber, avec Vettel. Il a déjà le vieil aileron. Il fait quasiment jeu égal avec Vettel, je crois que ça joue à, ça doit être 17 millièmes. En Q2, il le bat, je crois, de... Non, il le bat pas, mais il est pas très loin. Non, il le bat en Q2. Il le bat de un dixième ou un truc dans le genre. Et en Q3, il est à un dixième. Il avait qu'à faire
oui.
Ce qu'il a fait en Q2. Là, il n'y a pas d'excuse du plein d'essence, etc. Il n'y a pas l'excuse de l'aileron. Il avait le même aileron en Q2 et en Q3. Donc, honnêtement, oui, c'est sûr qu'il y a une différence. On est bien d'accord, ils font pas une évolution pour... Mais dans une écurie comme Red Bull, qui est au sommet de son art en ce moment, toute évolution, ça n'apporte pas des dixièmes de seconde. Ça apporte des millièmes de seconde. Ça apporte du confort. Ça apporte pas des dixièmes. Faut arrêter de... Moi, quand j'entends les gens dire « Il n'a pas été traité à égalité », mais oui, il a été traité à égalité. Honnêtement, chez Red Bull, face à Vettel, qui est un produit Red Bull, qui a rapporté sa première victoire à Red Bull chez Toro Rosso, qui a rapporté sa première victoire à l'écurie Red Bull au bout de trois courses où il est arrivé, qui a fait des pôles. Il y avait tous les motifs pour que Red Bull dise « Bon, d'accord, maintenant, Vettel, il est numéro 1, Weber, t'es numéro 2. » Et pourtant, on est à la deuxième saison de collaboration, et Weber a toujours la même voiture. Il a toujours des stratégies. Il a pu gagner 3 victoires cette saison. Il a le même traitement. Il se trouve que là, ils ont pris une décision maladroite qui s'est faite au détriment de Weber, et que, voilà, en Allemagne, bah, s'il y a une décision pareille à prendre, elle sera faite au détriment de Vettel. Faut arrêter de dramatiser cette histoire. Oui, c'est sûr que Weber, lui, l'a mal pris. Je comprends. Maintenant, faut un petit peu aussi que les mecs de TF1, les médias, etc., arrêtent de dramatiser, de chercher le drame, et commencent un petit peu à aussi analyser les situations et dire, voilà, c'est la réaction d'un homme frustré qui se sent désavantagé, mais qui ne l'est pas forcément.
Faut comprendre cette frustration. Cette année, c'est quand même peut-être la seule... Bon, il sera encore là l'an prochain. Mais c'est peut-être la chance de sa vie cette année.
Ah, bien sûr.
Donc, et si c'était comprendre... McLaren qui avait mis de l'huile sur le feu.
C'était notre dernier SAV d'or.
Ouais.
C'est donc la fin de cette cérémonie. On peut se quitter quand même en remerciant tous ceux qui ont voté.
Oui. Donc merci à toi. Et même tous ceux qui ont...
Et on remercie même ceux qui n'ont pas voté mais qui nous écoutent.
Oui, voilà.
Même si on aurait préféré qu'ils votent.
On remercie particulièrement notre partenaire Revue de Presse F1.com qui avait mis une petite pub sur le site et qui a permis de faire venir quelques votants. Donc on le remercie et on le retrouvera avec plaisir l'année prochaine dans les SAV en tant que partenaire du podium de l'actu.
Voilà. Nous quittons l'œil vers 2011. Enfin, là encore, c'est pareil. Quand vous nous écoutez, a priori, vous êtes déjà en 2011.
Oui.
Ou presque. Je préciserai quand même que cette émission a été faite sans alcool, malgré toutes les conneries que peuvent dire les commentateurs,
oui.
les présentateurs.
Mais elle est faite avec beaucoup de fatigue aussi, c'est ça qu'il faut dire.
Oui. C'est aussi notre première émission tournée sur 2 jours, faut le dire.
Oui.
Enfin, non, même pas, non. C'est notre première émission tournée sur 24 heures.
C'est vrai.
De minuit à 23 heures.
Voilà.
C'était les SAV d'or 2010. Et sur ce... comment on pourrait finir?
Moi, j'ai envie de dire, Shinji, pour ceux qui nous écoutent, et vu que 2011 approche, attention au poteau de 2011.
C'est nul. Mais tu sais quoi? On va quand même finir là-dessus.
Ah non, Shinji, non, je veux pas finir 2010 comme ça.